des gens qui partagent nos idées. Et puis c'est bien aussi de, d'engager un débat avec des personnes qui ont des points de vue qui peuvent être un peu différents de ceux de la PMAF. On verra comment le débat évolue après. Donc, quand on m'a demandé de venir, je ne savais pas trop comment parler. Bon, c'est vrai que la PMAF lutte contre l'élevage intensif, contre les transports d'animaux sur de longues distances, et contre, enfin, pour améliorer les conditions d'abattage des animaux. J'ai pensé que le plus simple serait peut-être de me concentrer sur un thème particulier, et en l'occurrence en ce moment le transport des animaux, parce que ces deux dernières années, on a surtout travaillé sur le problème du transport des animaux. Bon, j'aimerais bien qu'en septembre prochain, on se reconcentre un peu plus sur les problèmes liés à l'élevage intensif, et notamment des poulets de chair. Mais bon, en tout cas, ces deux dernières années, on a beaucoup travaillé sur le transport des animaux et on a obtenu quelques résultats, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc là, en fait, au sein de l'Union européenne, il y a énormément de transports d'animaux, ça se chiffre en millions. Beaucoup, par exemple, de porcs sont transportés depuis les Pays-Bas jusqu'en Espagne. Dans cette région, depuis le Massif central, il y a énormément de bovins qui partent en Italie, parce qu'en Italie, ils consomment beaucoup de viande de bœuf, mais ils n'ont pas beaucoup de prairies. Donc, on fait naître les jeunes veaux dans le Massif central et on les exporte en Italie quand ils ont 8 ou 9 mois, où ils sont finis, engraissés, si je puis dire, au maïs. On importe aussi beaucoup de moutons du Royaume-Uni, on en exporte aussi en Italie, enfin bon, tout ça c'est un va-et-vient vraisemblable. Et au fil des années, la réglementation qui protège les animaux en cours de transport a évolué, grâce, sous la pression des associations de défense des animaux françaises et surtout européennes, anglaises, etc. Alors la réglementation actuelle, elle n'est pas assez efficace, les animaux ne sont pas suffisamment protégés quand ils sont transportés. Toujours est-il qu'il y a une réglementation et que le minimum, ça serait qu'elle soit au moins respectée. Or, la réglementation actuelle, elle est très très mal respectée. Alors, ce que nous avons souhaité faire ces deux dernières années, c'est œuvrer pour une meilleure application de la réglementation et dans le même temps, suivre des camions qui transportent des animaux pour recueillir les preuves que les animaux sont souvent, souffrent pendant les transports, que bien souvent ils n'arrivent pas vivants parce qu'ils périssent. Bon, alors en ce moment, je ne vous raconte pas avec la chaleur, surtout les porcs, il y en a beaucoup qui meurent. Donc nous suivons depuis 2 ans en collaboration avec l'association Animal Angel régulièrement des camions qui transportent des animaux sur de longues distances. Alors je voudrais vous citer quelques exemples de suivi de camions qu'on a fait. Depuis 2 ans, on s'est rendu à 5 reprises à la foire aux chevaux de Maurs qui se trouve dans le Cantal. C'est une foire qui présente environ 2000 chevaux 2 ou 3 fois par an. Et concernant les chevaux spécifiquement, la réglementation précise qu'ils doivent être abreuvés toutes les 8 heures. C'est-à-dire que les chevaux peuvent être transportés 8 heures. Au bout de 8 heures, le chauffeur doit s'arrêter, leur donner à boire. Il peut repartir 8 heures, il doit à nouveau leur donner à boire. Il peut repartir 8 heures. Et là, au bout de ces 3 fois 8 heures, les chevaux doivent être déchargés et se reposer pendant 24 heures, être nourris, abreuvés, etc. Donc, à titre d'exemple, en mars dernier, nous avons pris en filature un camion qui a transporté donc 27 chevaux depuis donc cette foire, fameuse foire de Maurs. Ces chevaux étaient destinés à un abattoir à Bari, qui se trouve dans le sud de l'Italie. Alors, dès le début du voyage, on me demandait tout à l'heure, on parlait de si les chauffeurs se rendent compte qu'on les suit. Bon. Malheureusement, les camions, ils roulent pas très vite, hein, ils roulent à 90 à l'heure, et puis alors quand il y a des montagnes, c'est du style 60 à l'heure. Alors si on est derrière, ils se rendent compte qu'on les suit. Donc bien souvent, ils s'arrêtent, ils nous demandent qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on est derrière, etc. Donc nous, on se présente ouvertement, on dit on fait partie d'une association de défense des animaux, on voudrait savoir si vous allez appliquer correctement la réglementation, est-ce que vous allez donner à boire aux animaux, etc. Le chauffeur nous a précisé, moi je donne jamais à boire aux chevaux quand je vais vers l'Italie, la réglementation c'est la réglementation mais je m'en fous, de toute façon personne ne la respecte. Donc on lui a précisé qu'il allait avoir des problèmes parce qu'on allait appeler les gendarmes si au bout de 8 heures il n'abreuvait pas les chevaux. De toute évidence effectivement il n'avait pas l'intention d'abreuver les chevaux puisqu'il n'y avait qu'un seul abreuvoir dans le camion pour abreuver les 27 chevaux. Et de plus, l'abreuvoir était absolument écœurant, dégoûtant, donc il était clair qu'il n'avait jamais été utilisé, et il n'y avait pas d'eau dans le réservoir. Alors quand on l'a mis en garde, il s'est rendu à une espèce de station essence, il a rempli son réservoir d'eau, et après 8 heures, effectivement, il a abreuvé les chevaux, on l'a d'ailleurs aidé, avec un seul abreuvoir, donc ça a pris beaucoup de temps. Et les chevaux avaient si soif qu'il n'y a malheureusement pas eu assez d'eau pour tous les chevaux. Il faut savoir qu'un cheval boit 40 litres d'eau par jour. Hein, donc, bon, on a suivi le camion jusqu'au bout. Au total, ça a duré 27 heures, ce qui est très très long. Hein. Vous imaginez rester debout pendant 27 heures sans dormir. Bon, les chevaux, c'est comme nous, hein, ils ont besoin de dormir et ils ne peuvent pas dormir quand, quand ils sont transportés comme ça avec un camion qui zigzague. Au cours de ce voyage, il y a 3 chevaux qui sont tombés. Alors ça, c'est très fréquent chez les chevaux qu'ils chutent, et c'est catastrophique pour les chevaux quand ils tombent parce qu'ils se retrouvent surplombés par leurs congénères et ils peuvent pas se relever parce qu'ils ont leurs d'autres chevaux qui sont au-dessus d'eux. Donc bon, là, ils ont eu la chance qu'on était derrière eux, donc dès qu'il y avait un arrêt, on regardait dans le camion, on demandait au chauffeur de faire en sorte que le cheval puisse se relever en poussant les animaux, etc. Mais c'est vrai que c'est un véritable problème pour les chevaux, ces transports, parce que quand ils chutent, ils peuvent se retrouver avec des coups de sabot dans la gueule, dans les côtes, etc. Et on a bien souvent vu, enfin surtout depuis les pays de l'Est, des chevaux qui sont morts en cours de transport parce qu'ils sont tombés et ils ont eu des coups de leurs congénères. Alors c'est une des raisons pour laquelle la PMF, entre autres demandes, souhaiterait que les chevaux ne soient transportés que dans des compartiments individuels, de façon à ce que s'ils chutent, ils soient isolés, quoi. Ils ne tombent pas sous les coups de leurs congénères. Bon, alors autre exemple de transport d'animaux. En septembre dernier, on a suivi un camion qui a transporté une centaine de veaux d'environ une dizaine de jours depuis le marché aux bestiaux de Château-Gontier. Ces veaux se rendaient jusqu'à à Vic, en Espagne, dans le nord de l'Espagne, où ils devaient être engraissés dans ces boxes sans veaux, ces petits boxes individuels pour les veaux, qui seront interdits malheureusement qu'en 2007. La réglementation précise que les veaux doivent être abreuvés toutes les 9 heures. Or, dans ce cas-là, après 14 heures, les veaux n'avaient toujours pas été abreuvés. Alors on a appelé les gendarmes, une brigade de gendarmerie, 2 brigades de gendarmerie, 3 brigades de gendarmerie, ils ne voulaient pas venir, soi-disant, alors ils vous inventent toujours des tas d'histoires, hein, bon, c'est peut-être vrai, alors on peut pas les engueuler, ils nous disent qu'il y a un accident, etc. Bon, mais toujours est-il que ce jour-là, on avait Canal+ avec nous, donc c'était un coup de peau parce qu'on a réussi à convaincre les gendarmes de venir, les gendarmes de Perpignan sur l'autoroute, et bon, le chauffeur a eu un... Ils n'ont pas voulu leur donner une amende, mais ils ont pris une espèce de plainte qui a été transmise, si j'ai bien compris, au procureur de la République. Bon, le problème, un des problèmes qu'il y avait par rapport à ce camion, c'est que les veaux étaient transportés dans un camion où il n'y avait que des bols. Parce qu'il faut savoir que les bovins, par exemple, les bovins adultes, ils boivent dans des bols, vous savez, comme ce qu'on voit dans les champs, quoi, ils appuient dessus. Bon, les petits veaux, eux, ils ne boivent qu'à des tétines. Et ce camion n'était pas équipé de tétines. Donc, de toute façon, les services vétérinaires n'auraient jamais dû laisser... le camion quittait le marché parce qu'il n'était pas conforme pour le transport des veaux.
C'est où Château-Gontier ?
C'est dans la Mayenne. Alors, la Mayenne, ça touche, c'est près de... C'est près du Mans, ouais, c'est près de la Bretagne, ouais, absolument. Alors, entre autres problèmes, sur le marché de Château-Gontier, il y a... Ouais, c'est en France. Entre autres problèmes sur le marché de Château-Gontier, c'est que c'est un des plus gros marchés aux veaux de France. Et franchement, ils ne sont pas très tendres là-bas pour les veaux. Et moi, quand j'y suis allé, on a vu des veaux être tirés par les oreilles, tirés par la queue, tirés par une patte, jetés violemment comme ça à terre, comme des sacs de pommes de terre. Donc là, il y a vraiment des mentalités à faire évoluer encore chez les professionnels qui manipulent les animaux. Bon, cela dit, ils ont pris conscience de la nécessité de prendre en compte le bien-être animal à Château-Gontier parce qu'ils ont demandé, ils ont un programme particulier en ce moment pour le bien-être animal. Et c'est si les professionnels commencent à s'intéresser au bien-être animal, c'est aussi parce qu'ils se rendent compte que quand on filme sur les marchés aux bestiaux, quand on filme des images sur le transport des animaux, et que ça passe à la télé, ça nuit à leur image de marque, et bon, ils ont très peur de ça et commencent à essayer de faire en sorte que ça aille un petit peu mieux. Alors, on s'est également rendu il y a quelques mois sur le marché aux bovins, un marché aux bestiaux à Fougères, ça c'est en Bretagne. Bon, il faut savoir qu'avant d'être transporté, beaucoup d'animaux transitent sur les marchés aux bestiaux. Et ça ajoute énormément de stress et d'heures au temps de transport. Parce que les animaux, ils partent à 5h du matin, par exemple, de la ferme, ils sont transportés sur le marché, qui est très stressant, ils sont déchargés une première fois, ils sont manipulés avec des gens qui connaissent pas, avec du bruit, etc. Là, il y a des camions qui viennent parfois d'Italie ou d'Espagne qui chargent les animaux. Et au niveau réglementaire, le transport ne commence que quand les animaux quittent le marché. Alors déjà, ils passent par exemple 10-15 heures, on va dire, sur le marché, ils ne sont pas abreuvés. Et après, quand ils quittent le marché, et encore bien souvent sur les plans de route, ils marquent tant de départ que quand le camion démarre. Quand ils quittent le marché, bon bah théoriquement ils ne doivent être abreuvés qu'au bout de 14 heures si c'est des bovins. Bon, bien souvent ils s'en foutent, ils sont même pas abreuvés, mais bon, théoriquement ils doivent être abreuvés qu'au bout de 14 heures. Et donc ça ajoute beaucoup d'heures quoi au temps de transport. Or en l'occurrence, quand on s'est rendu sur ce marché, on s'est rendu compte que le soir, à la fin du marché, il y avait une quinzaine ou une vingtaine de vaches qui étaient restées sur le marché. Qui n'avaient pas d'eau. Bon, normalement sur les marchés, les animaux doivent être abreuvés toutes les, je crois que c'est toutes les 12 heures ou 13 heures, il faudrait que je vérifie. Mais là, ils n'avaient pas d'eau, donc le marché est en infraction. Et un camion n'est venu que le lendemain matin à 9 heures pour charger les animaux, bon, et les amener. Donc ça fait vraiment un temps de transport, un temps très long sans être abreuvés. Et ils n'ont pas été abreuvés pendant leur temps de transport jusqu'à Bordeaux, on a suivi le camion, parce que les vaches, il fallait moins de 14 heures pour aller jusqu'à Bordeaux, donc le type, il respectait la réglementation, on ne pouvait rien faire, quoi. Bon, et encore une fois, une vache, là aussi, elle peut boire 40 litres d'eau par jour, donc une vache en lactation peut boire jusqu'à 180 litres d'eau par jour. Ça, c'est important, parce que les gens ne réalisent pas toujours à quel point c'est important pour les animaux de boire. Mais quand on sait que des animaux boivent autant, c'est aussi un problème. Alors, d'une façon plus générale, les problèmes qu'on rencontre régulièrement quand on suit des camions, c'est par exemple des transports de moutons entre les essieux. En venant, tenez aujourd'hui, sur l'autoroute, j'ai vu un camion de porc où il n'y avait pas de ventilateur, ce qui est complètement illégal. C'était un camion hollandais. Et j'ai vu un camion qui transportait des moutons qui allaient vers le sud, où il y avait des moutons qui étaient dans un petit box qu'on transportait entre les roues du camion. Vous regarderez, vous en verrez peut-être. Entre les roues du camion, ils ont parfois des petites cages et ils mettent des moutons là. Et ça, c'est complètement illégal. La législation l'interdit parce que les animaux, ils sont bon, au ras du sol pratiquement. Ils ne sont pas protégés des intempéries, ils ne sont pas protégés des gaz d'échappement. Donc, ça, c'est pas autorisé. Bon. On voit aussi souvent des animaux qui sont trop jeunes pour être transportés. La réglementation précise que seuls peuvent être transportés des veaux dont l'ombilique n'est pas cicatrisé. Non, pardon, les veaux dont l'ombilique n'est pas cicatrisé ne peuvent pas être transportés. On en voit parfois être transportés. C'est des animaux qui ont quelques jours, ça, hein, 3 ou 4 jours. Bien souvent, les camions n'ont pas de cloison pour séparer les animaux. Ça, c'est un véritable problème parce que quand vous avez un camion, ça fait quoi 17 mètres carrés, en général il y a 17 mètres carrés, ça fait peut-être, je sais pas, 10-15 mètres de long. Et bon, par exemple, quand les camions qui partent d'ici, hein, qui montent les montagnes là pour aller vers l'Italie, quand les camions sont sur des côtes, bon, tous les animaux qui sont à l'avant, les bovins, peuvent se retrouver avec la force de gravitation, peuvent écraser les derniers, quoi. Et puis si en plus il y en a un qui tombe, alors là c'est la catastrophe. Donc c'est très important qu'il y ait des cloisons pour séparer les animaux, c'est obligatoire, et bien souvent ils ne mettent pas de cloison. Donc là aussi on voit souvent ce genre d'infraction. Bien souvent on voit des animaux qui sont transportés avec trop peu d'espace entre la tête des animaux et le plafond, ça on le voit fréquemment chez les moutons, parce que chez les moutons ils mettent 3 étages, et il y a très peu d'espace entre la tête et le plafond, et là l'air circule très mal. Alors quand il fait chaud comme ça aussi, c'est un véritable problème. Je disais tout à l'heure, au mois de juin, on a fait un contrôle à Valtimir, j'arrive jamais à le dire, à la frontière italienne, là près de Nice. Et on a vu un camion qui a transporté des chevaux sur 2 étages. qui est complètement illégal. Les chevaux venaient d'Espagne et ils allaient en Italie, je crois que c'était près de Rome, si j'ai bon souvenir. Et c'est complètement illégal de transporter les chevaux sur deux étages, parce que les chevaux, dans leur position naturelle, c'est bon, la tête dressée, quoi, il leur faut un certain espace. Et là, les pauvres chevaux, ils gardaient la tête comme ça, baissée. Ça peut causer beaucoup de problèmes respiratoires, c'est pas une position naturelle. Et quand les chevaux voyagent comme ça pendant 15-20 heures, c'est absolument inacceptable. Bon, toujours est-il que dans ce cas-là, on a appelé les gendarmes italiens qui ont bien voulu venir, qui ont donné une amende de 3000 euros au chauffeur, et je pense qu'il n'est pas prêt de recommencer cet imbécile. Ce qu'on voit aussi, c'est des camions surchargés. Surtout, par exemple, les ports hollandais, alors là, ils sont très souvent surchargés. Cette semaine-là, on a fait des contrôles avec la police italienne et avec les vétérinaires italiens au tunnel du Fréjus-Batia. C'est Sylvie Grison qui est voilà, de Savoie. Donc cette fois-ci, on travaille parfois avec les gendarmes du côté français, mais là, on a travaillé avec les gendarmes et les vétérinaires du côté italien. À ma grande surprise, les vétérinaires italiens sont hyper motivés et ils étaient plus, on va dire, radicaux que nous, quoi, au niveau des exigences. Au niveau de la réglementation. Et bon, pratiquement tous les camions qu'on a vus étaient en infraction. Alors, pour une raison ou pour une autre, soit absence de ventilateur, soit absence d'eau, soit pour les ports, absence de. Enfin, camion surchargé. Et en l'occurrence, là, il y avait plusieurs camions. Bon, vous savez, souvent, c'est de remorques. Et il y avait certains compartiments où les truies étaient en trop grand nombre. Et donc, ils ont eu une amende. Et surtout, les compartiments à l'avant du camion, c'est là où il fait le plus chaud, et on a vu deux truies qui étaient mortes. Quand on a fait ces contrôles, j'ai discuté avec un chauffeur français qui me disait que cette semaine, il était allé dans un abattoir dans le 03, je ne sais plus où c'est. L'Allier ?
Non, c'est pas...
Le 03, ouais.
L'Allier,
Bon, c'était dans un abattoir, et il me disait qu'il avait vu un camion qui était arrivé avec un chargement de porcs et qui avait 38 porcs qui étaient morts. En général, ils mettent, je pense, aux alentours de 150 porcs, donc 38 porcs sur 150. Et c'est vrai que, bon, ça me fait plaisir parce que ce chauffeur était vraiment révolté parce qu'il disait, il faut penser à la souffrance de ces pauvres animaux qui ont dû mourir. Ce que l'on a fait, nous, au début, quand on a commencé à travailler avec l'association Animal Angel, on a commencé à appeler les gendarmes, etc. Et on s'est rendu compte que, de temps en temps, les gendarmes... en fait, moi, la première fois qu'on a appelé avec ma collègue d'Animal Angel, les gendarmes, ils ne sont pas venus. Bon. Donc, on s'est dit, on va prendre le problème à la base. Si les gendarmes ne sont pas venus, ils ne font pas leur boulot, on va aller les voir. Et puis, on ne va pas leur dire, vous êtes des connards, vous ne faites pas votre boulot. On va aller leur dire, écoutez, on est désolé, on aimerait bien comprendre pourquoi vous n'êtes pas venus, parce qu'on a vraiment besoin de nous, de vous, et on veut travailler avec vous. Donc, on a été reçus au tunnel du Fréjus par un lieutenant de gendarmerie qui nous a très bien accueillis, qui a été très honnête, qui nous a dit, moi, je veux bien vous aider, mais je ne connais pas la réglementation qui protège les animaux en cours de transport, on n'a pas les textes de loi. On n'a pas les textes de loi et on ne les connaît pas. Et une des difficultés qu'on a, il nous a expliqué, c'est qu'on doit appliquer 5 codes, le code rural, le code forestier, le code ceci, cela. Et on peut pas connaître toutes les lois. C'est trop bon. Donc, on s'est dit qu'il fallait prendre le problème à la base et donner aux gendarmes un outil de travail qui leur permette leur donner les textes de loi, mais les textes de loi, vous savez, sur le transport des animaux, il y a 20 pages. C'est absolument indigeste, la réglementation qui protège les animaux en cours de transport. Donc on s'est dit, ils ne vont jamais les lire. Donc, avec ma collègue Leslie, on a travaillé, on s'est dit, un gendarme, quand il arrête un camion, si on souhaite qu'il... Il observe le camion et qu'il inspecte le camion pour voir s'il est conforme par rapport à la réglementation propre au bien-être animal. Qu'est-ce qu'il va regarder ? Ben, il va regarder est-ce que le camion était trop surchargé ? Il faut qu'il regarde est-ce qu'il y a des cloisons ? Est-ce qu'il y a des ventilateurs ? Est-ce qu'il y a un système d'abreuvement ? Il faut qu'il regarde est-ce qu'il y a de l'eau dans le réservoir ? Il faut qu'il regarde le disque pour voir si le camion a fait les temps d'arrêt réglementaires pour donner aux animaux... les temps de repos réglementaires, etc. Donc finalement, on s'est dit, il faut faire un truc très simple Et pendant une année, on a travaillé à la réalisation d'un petit dépliant que je vous laisserai, qui présente en 8 points les principaux aspects sur lesquels il faut se concentrer quand on arrête un camion. Alors, par exemple, on n'a pas le droit de transporter des animaux qui sont inaptes au transport. Qu'est-ce qu'un animal inapte au transport? Comment on peut savoir si un animal est inapte au transport? Quels sont les intervalles auxquels doivent être abreuvés les animaux? Quels documents doivent accompagner les animaux? Par exemple, maintenant, les chauffeurs doivent suivre une formation. S'ils n'ont pas 5 ans d'expérience, ils doivent suivre une formation spécifique au transport des animaux. Et ils doivent avoir un papier qui certifie que, ils ont suivi, cette formation. Enfin, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, de toute façon, j'ai ramené quelques dépliants, que vous pourrez prendre si vous êtes intéressé. Et on a également fait une petite brochure qui vient de sortir, hein, là, le mois dernier, qui fait à peu près 60 pages, qui présente aussi. On a mis notre photo, pas pour frimer, je le dis parce que je suis embarrassé, on me dit des fois qu'on me voit partout en photo. Mais c'est parce que quand on voit les gens, on va voir les gendarmes, c'est bien qu'ils voient qu'on est, bon, on est dans la brochure, qu'on n'est pas des rigolos, vous voyez, ce que bon. Et donc, la brochure, elle commence avec un checklist, avec une vingtaine de questions que doivent se poser les gendarmes quand eux, ils sont devant un camion. Par exemple, une question, le système pour abreuver les animaux fonctionne-t-il? Oui, non, voire page 14 et 15. Donc ça les renvoie à la page 14 et 15 qui précise que dit la réglementation. Elle précise que bon bah le camion qui voyage plus de 8 heures doit être équipé d'un système pour abreuver les animaux. Et elle précise que les animaux doivent être abreuvés bah, si c'est des veaux toutes les 9 heures, si c'est des chevaux toutes les 8 heures, si c'est des agneaux tous les 9 heures, etc. Donc, si vous voulez, on a essayé de faire les choses d'une façon relativement simple et on a essayé de le mettre en langage de gendarme. Parce que les gendarmes, quand on a commencé à travailler avec eux, ils nous ont demandé bon, ok, on veut bien leur donner une amende, mais c'est quoi le code NATEF? Bon, code NATEF, c'est quoi ça? De quoi vous me parlez là? Je suis charabia, bon. Et puis, bon, à force de travailler avec les gendarmes, on a appris que le code NATEF, en fait, à chaque infraction correspond un code. Alors, les gendarmes, ils tapent le code NATEF. Alors, moi, je le connais par cœur, je le joue même maintenant au loto, c'est le 6903. Donc, oui, ils tapent sur leur ordinateur 6903 et puis ils voient que, bon, bah, dans le cadre d'une infraction par rapport au transport des animaux et à leur protection, c'est le code NATA 6903, c'est une amende de quatrième classe, donc une amende ridicule de 80 €, et que, bon, bah, avec ça, ils ont de quoi remplir l'amende, ils ont le texte réglementaire qui concerne cette infraction, etc. Donc, en travaillant avec les gendarmes, on a adapté le. On a fait cette brochure. Et à la fin de la brochure, on a aussi mis les coordonnées de toutes les directions départementales des services vétérinaires. Parce que si par exemple il y a des animaux qui sont blessés, qui ne peuvent pas se lever, par exemple un animal qui boite, qui ne peut pas marcher, bah, le gendarme, lui, il ne sait pas si on peut considérer que l'animal est apte ou pas à continuer le transport. Et donc là, il faut qu'ils appellent les directions des services vétérinaires. Le vétérinaire viendra et décidera si oui ou non l'animal est apte. Bon, pour répondre clairement à cette question que vous ne m'avez pas posée, un animal qui ne peut pas marcher sur ses 4 pattes ne peut pas être transporté. Hein, ça, c'est au niveau de la réglementation, c'est illégal. Ce qu'on a mis aussi dans la brochure en dernière page, c'est la liste des points d'arrêt agréés où les animaux peuvent. Parce que, bon, après un certain temps, les animaux doivent se reposer 24 heures, être déchargés du camion et recevoir à boire, à manger, etc. Donc, on a mis la liste de ces points d'arrêt qui sont hélas bien trop insuffisants. Il n'y en a pas, par exemple, en Moselle, où il y a le siège de la PMAF. Et ça, c'est important parce que les gendarmes, quand on leur demande de faire plus de contrôle, ils nous disent oui, mais si on arrête un camion qui a un problème, nous, on ne sait pas où l'envoyer pour décharger les animaux. Donc, en mettant cette liste des points d'arrêt, au moins ils ont la liste des points d'arrêt. Alors, bon voilà pour ce qui est du transport des animaux. Bon, ce que moi je voudrais dire, c'est que ça c'est la partie réglementaire. C'est important de s'en préoccuper parce que même si la législation elle est loin d'être efficace, suffisante et que de mon point de vue on ne devrait pas du tout transporter les animaux. Il n'empêche qu'au moins si cette réglementation elle est appliquée, ça peut améliorer un peu le sort des animaux. C'est pour ça qu'on a voulu même si la réglementation ne donne pas satisfaction, faire ce que l'on peut pour qu'au moins la réglementation soit mieux appliquée. Alors, pour terminer par rapport à cette brochure, une fois qu'on a fait la brochure, on a décidé de l'envoyer à toutes les brigades de gendarmerie en France. Il y en a 3600. Bon, alors imprimer une brochure comme ça et à des clients, ça coûte très cher, et à la PMF, on n'avait pas l'argent. Alors, on a demandé à la Fondation Bardot s'ils voulaient bien la financer. Ils ont accepté. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, dernière chose, on a demandé au ministère de l'Agriculture s'ils voulaient bien mettre leur logo et à la Direction nationale de la Gendarmerie nationale. Alors, à ma grande surprise, au ministère de l'Agriculture, on a été très bien accueillis par le Bureau de la Protection animale qui a dit que c'était une idée très géniale, qu'ils étaient tout à fait favorables au fait de mettre le logo. Mais à ma grande déception, visiblement, le ministre ne nous a pas du tout soutenus. Et visiblement, tout en haut, là, au niveau cabinet et ministre, le ministre n'a pas voulu que ce soit mettre le logo ou mettre un éditorial dans la brochure. Bon.
C'était lequel ?
Le ministre actuel, là, Hervé Guémard, qui n'a pas l'air d'être un grand sympathisant de la cause animale, visiblement, mais bon.
On le voit très souvent dans les magazines
nationaux
d'élevage de
porc. Ouais. Mais pas pour parler de bien-être animal, ouais. Donc, voilà. Bon, par contre, vous savez que les ministères, bizarrement, ils communiquent pas toujours entre eux. Bon, c'est un peu étrange. Bon, alors, par contre, au niveau du ministère de l'Intérieur, on a été très, très bien accueillis. Et on a eu une réponse du chef de cabinet du ministre de l'Intérieur qui nous a demandé de prendre contact avec le grand chef du CIRPA, là, de la Direction de la Communication de la Gendarmerie Nationale. Et là, par contre, à notre plus grand plaisir, la Gendarmerie nationale a très, très bien accueilli cette brochure. Ils nous ont dit que c'était vraiment une très bonne initiative, que ça répondait vraiment à un besoin. Et ils ont décidé de distribuer eux-mêmes à leurs 3600, on va dire 4000 brigades de gendarmerie, parce qu'ils veulent les distribuer aussi au centre opérationnel. En septembre, ils vont distribuer la brochure à toutes les brigades de gendarmerie à travers la France avec une note de service officielle qui est très très bien, qui rappelle la réglementation qui protège les animaux en cours de transport, qui rappelle que bon, il faut faire des contrôles aussi par rapport à ça, qu'on peut donner des amendes, etc. Donc ça, on est très très content et on espère que ça va avoir vraiment un impact pour renforcer les contrôles sur les routes, quoi. Alors, autre merveilleuse surprise... c'est que la Commission européenne a eu connaissance de cette brochure et il y a un comité, je ne sais pas comment ça s'appelle, Standing Committee for Animal Welfare, donc comité, je ne sais pas quoi, scientifique pour le bien-être animal, qui réunit tous les chefs vétérinaires responsables de la protection animale au niveau européen, où ce projet a été présenté. Et la Commission européenne nous a demandé une copie de la brochure pour en donner à tous les chefs vétérinaires à la prochaine réunion, pour les distribuer à tous les chefs vétérinaires. Donc, la petite PMF, là on se retrouve projeté tout en haut. Et alors ce qui est aussi merveilleux, c'est que cette idée, bon apparemment elle est vraiment appréciée par tout le monde. Et du coup Animal Angels, qui travaille dans plusieurs pays de l'Union européenne, va la traduire, elle a déjà été traduite en italien, elle a été traduite en portugais, elle va être imprimée par le gouvernement portugais et distribuée par le gouvernement portugais à tous les gendarmes. Elle va être traduite, je l'ai appris tout récemment, en grec et être distribuée en Grèce. Notre bureau irlandais veut la traduire et la distribuer en Irlande. Enfin bref, c'est un projet qui finalement est en train de prendre une dimension super, alors on est hyper contents. Et puis, donc c'est formidable. Pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que nous, de notre expérience, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que plus les transports sont longs, plus les animaux sont fatigués et plus les animaux sont déshydratés. Et donc, quand les animaux sont fatigués, sont déshydratés, ils chutent, ils commencent à se retrouver piétinés par leurs congénères, etc. Et donc, c'est là où il commence à y avoir des problèmes. C'est pour ça que nous, on demande une limitation de la durée des transports au maximum à 8 heures, parce que bon, je dirais que même en 8 heures, c'est déjà bien trop, mais enfin, au moins en 8 heures, on peut atteindre un abattoir, etc. Et puis, une fois qu'on aura les 8 heures, on pourra essayer de gratter un peu plus. Mais, donc, les problèmes, c'est vraiment les transports sur de longues distances. C'est là où il y a surtout des problèmes. Bon, nous, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est qu'il y ait un vétérinaire qui soit présent à chaque fois au moment du chargement. On souhaiterait que tous les véhicules disposent d'un système de ventilation forcée, c'est-à-dire que, de façon à ce que même quand les animaux, les camions sont à l'arrêt, que les que le système de ventilation puisse être mis en marche. Parce que vous imaginez en ce moment, quand dans les embouteillages et tout, les animaux qui se retrouvent bloqués, si les... bon, quand ils roulent, il y a de l'aération, mais quand ils sont à l'arrêt, c'est une vraie catastrophe. Tous les animaux devraient avoir assez d'espace pour se coucher en même temps. C'est important pour les bovins, pour les porcs, puis pour tous les animaux. Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai vu encore cette semaine, les porcs sont hyper entassés. Quand ils sont couchés, ils sont tous serrés les uns contre les autres. Il y en a toujours un ou deux qui est obligé de se coucher sur les autres. Et par cette température, c'est un véritable problème. Dans le camion, je pense que ça peut atteindre 40, 50, voire 60. Oui, oui, ça c'est sûr. Il faut voir à ce que bon, ça dégage la chaleur. Hein. Et puis les porcs, les animaux, quand ils sont couchés les uns sur les autres, ils ont d'autant plus de difficultés pour évacuer la chaleur. Hein. Nous, je veux dire, là, on essaye tous de tenir une distance les uns par rapport aux autres pour avoir de l'air. Ben, les animaux, c'est pareil. Les amendes devraient être beaucoup plus élevées. Hein. Je le disais tout à l'heure, 80 euros, c'est pas ça qui va les inciter à faire un peu plus attention. Par contre, en Italie, ils ont des amendes de 3000 euros. Aux Pays-Bas, c'est pareil, c'est de l'ordre de 2000, 20 000 francs, 30 000 francs. Enfin bon, en France, franchement, on est encore en retard par rapport à ce niveau-là. On va essayer de corriger la situation. Je crois que c'est tout. Je vais pas aller plus loin. Donc voilà pour ce qui est du travail de la PMF sur le transport des animaux. Je vous laisserai donc des brochures tout à l'heure. Je vous ai ramené aussi le bulletin de la PMF pour que vous puissiez le prendre si ça vous intéresse. Un petit dépliant de présentation de la PMF. Je vous ai ramené aussi une brochure qui présente les problèmes les menaces que font peser pour le bien-être animal l'Organisation mondiale du commerce. Voilà. Voilà pour ce qui est du transport des animaux. Je ne sais pas si vous voulez que je vous parle d'autre chose ou...
La PMF en tant qu'organisation...
D'accord.
En tous les cas, il y a des progrès. Et puis vraiment, tu fais ça à temps complet, la suite des transports et tout ça.
Ouais, ça demande beaucoup de temps. Ça, c'est un peu un problème parce que... Ouais. Enfin, pour nous, c'est un peu un problème parce que quand on suit les camions, ça veut dire qu'on part une semaine, on sait où on va, on ne sait pas où on atterrit. On peut atterrir dans le sud de l'Italie, en Grèce et autres. Et ça prend beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent. Mais les résultats sont là, ouais. Donc ça vaut le coup de le faire de mon point de vue. Donc pour l'histoire de la PMF, je vous raconte un peu la PMF depuis le début, son origine, son historique, etc. Moi j'ai fondé la PMF en 1994. Ce qui s'est passé, c'est que je m'occupe de protection animale depuis tout jeune et j'ai fait mon service militaire à la SPA à Paris. À la SPA, je leur ai demandé de se préoccuper un peu plus du bien-être des animaux d'élevage parce qu'en France, à l'époque, il y a une dizaine d'années, on en parlait très peu. On parlait beaucoup des chiens et des chats, mais alors les animaux d'élevage, hein, personne ne s'en occupait et pas beaucoup la SPA. Bon, la SPA n'avait pas de moyens financiers, la SPA voulait surtout s'occuper des chiens et des chats, la SPA ne voulait jamais faire de communiqué de presse, la SPA est une lourde machine, ça a 5 minutes, j'en ai marre. Donc quand mon service militaire s'est terminé, je me suis dit, il y a des organisations qui sont très efficaces au sein de l'Union Européenne pour protéger les animaux, c'est les associations anglaises. Et en plus, la protection animale aujourd'hui évolue surtout à travers l'Europe, donc il faut absolument parler correctement anglais. Alors j'ai eu la chance d'être lauréat de la Fondation de France, donc j'ai eu un petit prix de 25 000 francs qui m'a permis de réaliser quelques projets. Et en l'occurrence, grâce à ce prix, je me suis dit, finalement, je pourrais partir en Angleterre 3 mois ou 4 mois, faire du bénévolat dans une association de défense des animaux pour voir comment ils bossent, pour apprendre un peu mieux à parler anglais. Et puis j'ai décidé, j'avais le choix soit d'aller à la FPA anglaise, la grosse machine, 1000 employés, etc., soit d'aller dans une association qui est un peu plus à taille humaine. Et c'est pour ça que j'ai préféré l'association à taille humaine, et en l'occurrence une association anglaise qui s'appelle Compassion in World Farming. J'avais passé un an en Angleterre, mais je parle très mal anglais. Donc je suis allé à Compassion in World Farming, qui est la plus grande association de défense des animaux de ferme au Royaume-Uni. Alors j'y suis allé, j'y suis resté un mois. Bon, je leur ai dit, moi je viens chez vous, je vais voir comment vous faites pour bosser, etc., pour faire le même travail que vous faites en France. Alors Compassion in World Farming était fou de joie de me voir arriver. Ils se sont dit, enfin un Français qui s'intéresse aux animaux d'élevage. Parce qu'ils avaient écrit à la SPA, enfin aux grosses associations, sans avoir de réponse parce qu'ils écrivaient en anglais, etc. Et donc, ils m'ont dit, écoute, nous, on est prêt à t'aider à créer une association en France, mais on pense qu'il faut que tu sois salarié parce qu'il faut que tu fasses ça à plein temps. Et puis, on est prêt à te donner des moyens financiers pour commencer l'association, à t'aider un peu financièrement les premières années. Et à terme, au bout de 6-7 ans, il faut que ton association elle s'autofinance, mais enfin, on peut t'aider à débuter. Alors voilà comment l'histoire a commencé. Donc, je suis resté finalement un an en Angleterre. Bon, alors à accompagner les Anglais, mes collègues anglais, au ministère de l'Agriculture, à la chambre, comment appelle ça là, à la chambre des Lords, et puis à Westminster, au Parlement britannique, c'était hyper intéressant, à faire le zouave déguisé en poule et machin dans les rues britanniques, etc. Et donc, je suis revenu en mars 1994 pour lancer la PMF. Et depuis, la PMF elle a suivi un peu son chemin. Maintenant, l'association compte 5300 membres et donateurs en France. Et elle a 5-6 salariés, dont 2 salariés en contrat emploi consolidé, vous savez, donc c'est des contrats aidés. Et l'association, elle a mené plusieurs campagnes. Une campagne contre l'élevage détruit en stall individuel, une campagne contre l'élevage des veaux en box individuel, une campagne contre l'élevage en batterie des poules pondeuses, bon, dans les petites cages, une campagne contre le transport des animaux qui se poursuit, et qu'est-ce que j'ai oublié, et alors en ce moment les grandes campagnes que l'on mène, c'est toujours le transport des animaux. En ce moment on va commencer à travailler beaucoup sur les poulets de chair qui sont élevés au sol, qui ne sont pas élevés en cage. Et puis on s'occupe un peu, bon moi je m'en occupe pas trop parce que j'ai pas trop le temps, mais on s'occupe un peu de l'OMC. Parce que, en fait, pour en dire deux mots, tous les acquis qu'on a eus au niveau européen pour le bien-être animal, au niveau réglementaire, sont remis en cause à cause de l'OMC. Parce que l'OMC empêche un pays d'interdire l'importation de produits qui ont été de produits d'origine animale qui ont été conçus ou fabriqués, je n'aime pas ce mot fabriqué, mais enfin bon, qui ont été conçus sans respecter les normes de bien-être animal du pays importateur. C'est-à-dire, donc pour faire simple, l'Europe a interdit les cages en batterie pour les poules pondeuses, enfin, non, pas les cages en batterie conventionnelles pour les poules pondeuses seront interdites au sein de l'Union européenne en 2012. Donc les poules, bon, on est absolument contre, mais enfin, c'est un petit progrès. Les poules, à partir de 2012, devront être élevées avec un petit nid, un perchoir, un grattoir, bon, et tout ça, ça coûte de l'argent. Évidemment, nous, on préférait que les cages soient complètement interdites. La bataille n'est pas terminée, mais bon. Bon, toujours est-il que ça coûte de l'argent. Les poules auront 750 cm², etc. Bon. Par contre, aux États-Unis, les poules, elles ont 350 cm², donc 400 cm² de moins, donc on en met plus dans une cage. Elles n'ont pas de perchoir, pas de grattoir, pas de ceci, pas de cela. Donc, les œufs qui proviennent des États-Unis ou des pays frontaliers à l'Union européenne, quand ils sont produits, ils coûtent beaucoup moins cher que les œufs produits au sein de l'Union européenne. Et donc, ce que souhaiterait faire l'Union européenne, c'est pouvoir interdire les importations d'œufs de pays extérieurs à l'Union européenne si les pays, là où ils ont été produits, dans ces pays, les normes de bien-être animal européennes n'ont pas été respectées. Parce que sinon, les producteurs européens se retrouvent désavantagés sur le plan économique. Et il y a une énorme pression des producteurs européens qui est faite sur la Commission européenne, qui est obligée de la prendre en compte. Or, à cause de l'OMC, l'Union européenne ne peut pas interdire ses importations. Alors, en ce moment, il y a des tas d'imbéciles, de députés qui défendent les agriculteurs de pays, etc., qui disent qu'il faut remettre en cause toutes ces normes européennes de bien-être animal, il faut tout supprimer, il faut tout remettre à zéro, il faut revenir en arrière, parce que sinon, toute l'agriculture européenne va s'écrouler. Va faire faillite à cause de ces normes de bien-être animal qui nous désavantagent sur le plan économique par rapport aux importations bon marché des pays tiers à l'Union européenne. Donc en ce moment, on fait une campagne à cause de ce problème de façon à ce que l'OMC autorise un pays à refuser les importations de produits pour des raisons de bien-être animal. C'est un peu compliqué, mais enfin...
un grand combat.
C'est un gros combat parce que alors l'OMC, c'est compliqué. Enfin bon, les gens n'y comprennent rien. L'OMC pour les gens c'est loin. Mais c'est un véritable problème. Je veux dire, même si c'est loin, c'est le mondial, c'est ceci, c'est cela, je veux dire, au quotidien, nos animaux, la poule, là, elle va, nos petites poules, elles vont en souffrir, quoi. Donc on est obligé de se préoccuper de ce problème, parce qu'au final, ce sont les animaux qui sont chez nous qui vont en souffrir, quoi. Donc on est obligé de s'intéresser à tous ces aspects mondiaux, parce que c'est vrai que maintenant, il ne faut plus rester dans son petit coin, il faut vraiment voir mondial, quoi. Et bon, alors là, sur ce dossier, le gouvernement français nous soutient. Mais je pense que... parce qu'il y voit l'intérêt des agriculteurs, quoi, français. Mais je pense qu'il y a vraiment une campagne, on a vraiment besoin de mettre de sensibiliser le grand public pour qu'ils mettent la pression sur le gouvernement français, sur la Commission européenne, pour qu'elle défende bec et ongles devant ces idiots d'Américains, le bien-être animal. Parce que alors, le bien-être animal aux États-Unis, c'est une catastrophe. Puis alors aux États-Unis, vous savez comment c'est ? Il ne faut pas de réglementation, il ne faut rien du tout, il ne faut que des codes de pratique, des référentiels, des machins, donc dire des codes de bonne conduite, et après chacun les suit ou les suit pas s'ils veulent, parce que les États-Unis c'est le pays de la liberté. Ah, alors il ne faut pas de loi, il ne faut pas de règles, on fait ce qu'on veut, et chacun, bon, alors les États-Unis, c'est pour ça aussi que, à cause de l'OMC, que donc le Compassion in Wild Farming, donc cette association britannique, est devenue de plus en plus internationale. Maintenant, donc, on a un bureau en France. Compassion in Wild Farming a ouvert un bureau en Irlande. Ils ont un bureau aux Pays-Bas. On a plusieurs représentants dans les pays de l'Est, parce qu'à cause de l'Europe... À l'heure actuelle, il y a une espèce d'équilibre au sein de l'Union européenne. Il y a les pays du Nord qui ont à peu près la moitié des voix qui sont assez sensibles au bien-être des animaux, et les pays du Nord, du Sud, qui ne sont pas sensibles. Donc l'Espagne, l'Italie, la Grèce, c'est la catastrophe. La France est entre les deux, ça commence à évoluer grâce aux campagnes qu'on mène tous. La France commence à se préoccuper un peu du bien-être animal. On commence à en parler dans les journaux agricoles, ils commencent à parler un peu du bien-être animal, alors qu'il y a 10 ans, ils n'en parlaient pas du tout, donc on voit quand même une évolution. Donc il y a une espèce d'équilibre, quoi. Mais alors si les pays de l'Est arrivent, il va y avoir un déséquilibre au niveau du nombre de voix au sein du Conseil européen des ministres de l'agriculture. C'est pour ça qu'il faut absolument mettre les pays de l'Est de notre côté. C'est pour ça qu'on a ouvert des bureaux là-bas dans les pays de l'Est, en République tchèque, en Hongrie, etc. Et maintenant, on a un représentant qui est en Afrique du Sud. On a un représentant qui est en Nouvelle-Zélande, qui s'occupe de tout c'est l'Asie par là-bas, pratiquement, l'Océanie. Donc le combat, il devient vraiment mondial, et on travaille de plus en plus donc, sur des dossiers comme l'OMC. On se rapproche d'organismes internationaux comme la FAO, qui est la Food Agriculture Organization, l'organisation mondiale pour l'agriculture et l'alimentation. Enfin bref, nous on s'occupe de la France, hein. Enfin moi personnellement on a fait affaire avec la France, mais c'est vrai que maintenant il faut vraiment penser mondial, quoi, malheureusement, parce que c'est comme ça. C'est pour ça que c'est bien aussi que PETA s'occupe de grands groupes internationaux comme Kentucky Fried Chicken, KFC et McDonald's et compagnie. Ouais. Donc voilà pour ce qui est... pour ce qui est de la PMF. Alors, suite aux campagnes qu'on en a menées, jusqu'à présent, toutes les campagnes qu'on a menées, on les a toutes gagnées. Alors, c'est pas c'est pas la PMF qui les a gagnées, c'est la PMF et l'ensemble des organisations de défense des animaux en France et au sein de l'Union européenne. Bon, en France, la PMF, de mon point de vue, a été un peu à la pointe au niveau des campagnes pour ce qui est de l'élevage. Mais bon, il faut redire ce qui est. La FPA s'y est mis un peu, et d'autres organisations, c'est pas trop tôt. Enfin, c'est plutôt un peu tard, mais bon. Donc, par exemple, l'élevage en batterie des veaux dans des boxes individuelles, ça sera interdit à partir de 2007 au sein de l'Union européenne. Donc, à partir de 2007, les veaux devront être élevés en groupe, avec... Donc ils pourront avoir des contacts sociaux, ils pourront marcher, se battre, jouer librement, etc. Ils doivent avoir une certaine quantité de fer, parce que vous savez, on donnait très peu de fer, enfin encore maintenant, très peu de fer aux veaux pour avoir de la viande blanche, parce que les consommateurs, ces idiots, ils veulent de la viande blanche à cause de la tradition. Or, la viande blanche, c'est de la viande d'un veau qui est anémié, qui est malade. Bon, là, maintenant, ils doivent obligatoirement donner du fer et des fibres, parce que les veaux leur donnaient très peu de fibres, de foie, etc., pour pas que la viande soit trop blanche, trop rouge. Et les veaux ont besoin d'avoir des fibres pour le développement normal de l'estomac. Donc ça, c'est un acquis, l'acquis pour les veaux. Pour ce qui est des poules pondeuses, à partir de 2012, les cages en batterie conventionnelles seront interdites. Et elles devront obligatoirement, les poules devront avoir, au lieu de 450 cm², 750 cm². Ça me gêne un peu de le dire parce que bon, ça paraît tellement dérisoire, mais enfin, c'est un plus et surtout ça augmente le coût de la production en cage. Donc il y en aura moins. Donc les poules devront donc avoir 750 cm², un perchoir, un nid, un grattoir pour gratter les. Pour s'user un peu les griffes. Etc. Bon, c'est bien pour les poules parce que pour les poules, c'est instinctivement. Vous savez, moi, je suis allé visiter il y a quelques mois un refuge pour poules pondeuses qui sont sorties des élevages en batterie. C'était intéressant parce que. Alors, je me souviens, il y avait. Je suis allé sauver là, des poules dans un élevage. Et puis, on a ramené ces poules. Et puis, il y avait d'énormes bouviers des flancs, dont même moi, je me fiais un peu parce qu'ils étaient tellement gros. Puis, quand je les aboyais. Et puis il y avait ces poules là qui n'avaient jamais rien vu d'autre, qui étaient là, qui regardaient les bouviers des Flandres là, et puis qui n'avaient pas du tout peur, parce que si tu demandais bien ce que c'était que cet être bizarre. Bon, toujours est-il qu'il y avait 1000 ou 2000 poules qui étaient là en liberté. Et le soir, quand la nuit a tombé, toutes les poules se sont perchées sur les différents perchoirs qu'il y avait. Alors c'était vraiment la bataille pour se percher, quoi. Donc ces poules qui n'avaient jamais eu la possibilité de se percher, avaient gardé leurs instincts, et la nuit tombée, automatiquement, elles se perchaient. Alors c'est pour ça, quand souvent on nous dit « Oui, mais enfin, les poules, elles ont toujours connu que les cages, elles sont heureuses dans les cages, bon, elles savent pas ce que c'est, que l'herbe, que se percher, qu'un nid, elles construiraient même pas un nid, etc. Ben, » c'est pas vrai, quand on sort des poules des cages en batterie, on voit bien qu'elles retrouvent très très rapidement tous leurs instincts. Elles se perchent, elles grattent, elles construisent un nid, elles font ceci, cela. Pourquoi je parlais de ça? Oui, pour dire que c'était un petit progrès quand même, qu'elles aient des perchoirs, etc. Bon, nous, de notre point de vue, ça va coûter pratiquement aussi cher de garder les poules dans des cages aménagées que de les élever en volière, ce qui n'est pas non plus l'idéal, parce que quand elles sont en volière, elles n'ont pas accès au plein air. L'idéal, c'est quand même qu'elles aient accès au plein air, etc. Mais on pense que beaucoup d'éleveurs vont abandonner en 2012 les cages pour utiliser des systèmes alternatifs, ce qui est quand même une bonne chose. Bon, pour ce qui est des truies, on a mené donc une campagne pour que les truies, durant la gestation, ne soient plus élevées dans des stalles. Vous savez, c'est les petites cages, là. Ah, je ne l'ai pas en photo, là. Voilà, c'est ça. Les truies, quand elles sont en gestation deux fois dans l'année, enfin, pour être précis, 2,2 fois... durant chaque gestation qui dure combien ça dure, enfin bon, peu importe, ça dure 2 mois, je crois, je m'en souviens plus maintenant, ou 16, bon bref, c'est une campagne un peu vieille, mais bon, durant chaque gestation, elles sont mises dans des petites cages très étroites dans lesquelles elles peuvent pas se retourner, elles peuvent pas marcher, elles peuvent pas avoir de contacts sociaux, enfin elles peuvent pas, les porcs sont des animaux très très propres. Qui font toujours leurs besoins au même endroit, contrairement à ce qu'on croit, c'est des animaux très intelligents, aussi intelligents qu'un chien, et c'est des animaux extrêmement propres. Et le fait de faire leurs excréments sur eux-mêmes, bah, c'est franchement pas très agréable pour ces pauvres animaux. Donc c'est vraiment un mode d'élevage qui est cruel, et là les stalles seront interdites à partir de 2013. Malheureusement, durant les 4 premières semaines de la gestation, elles resteront quand même isolées dans des stalles. Parce que, bon, ça, c'est, ils disent que les truies, quand on les réintroduit dans des groupes, il y a des cons, elles se battent entre elles. On n'est pas trop d'accord avec ça, mais durant la plus grande partie de la gestation, elles ne seront plus dans des stalles. Elles devront être élevées en groupe, donc avoir des contacts sociaux avec leurs congénères. Bon, vivre leur vie de cochon, quoi. Parce que ce qui est intéressant chez tous les animaux, c'est hyper intéressant, l'éthologie des animaux, c'est qu'on se rend compte que quand les animaux ils vivent ensemble, même chez les poules, ils se reconnaissent les uns les autres, il y a vraiment une hiérarchie qui s'établit. Et une poule, par exemple, peut reconnaître quelque chose comme 90-95 individus. Il y a vraiment, les animaux ont vraiment une vie sociale très, 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 très importante, très développée. Donc c'est aussi important qu'ils ne soient pas élevés, isolés dans leur petite cage, là. Bon. Puis moi, comme je dis toujours, la vie ne vaut le coup d'être vécue que si on peut connaître des moments de bonheur, quoi. Si on est pour être toute sa vie dans une cage, je vois pas à quoi ça. Enfin, je veux dire, c'est le minimum qu'on doit aux animaux, c'est le droit de vivre à tant soit peu heureux. À tant soit peu, parce que même l'élevage alternatif, c'est pas toujours l'idéal, mais enfin bon. J'ai cité oui, les veaux, les poules, les truies. Qu'est-ce qui reste? Je crois que c'est tout. Hein. Les moutons sont pas vraiment élevés intensivement. Au niveau du transport des animaux, la réglementation a quand même un peu évolué, même si on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. Sur les marchés aux bestiaux, les animaux sont encore malheureusement malmenés bien souvent. Mais on voit quand même une évolution. Quand on va sur les marchés aux bestiaux, les gens sont quand même moins brutaux avec les animaux qu'ils ne l'étaient par le passé. On voit quand même beaucoup moins rarement, beaucoup plus rarement, les gars qui prennent les coups de bâton puis qui tapent comme des saglés sur les têtes des bovins, etc. On le voit encore. Hein. Bon, moi je serais tenté de dire que sur les marchés aux bestiaux, les animaux qui souffrent le plus, c'est les petits animaux. Donc les veaux, les moutons. Je suis allé sur le marché de Requista dans le Lot, pas trop loin d'ici, il y a quelques temps. Écoutez, franchement, on a envie de leur taper dessus, les mecs, tellement ils sont stupides. Par exemple, ils ont des aiguillons électriques. Il y a un groupe de moutons. Bon, ils utilisent les aiguillons électriques. Déjà, ils ne devraient pas utiliser d'aiguillons électriques tout court. Mais en plus, ils utilisent l'aiguillon électrique sur le dernier mouton. Bon, le mouton, il a 40 individus devant lui. Il ne peut pas aller plus vite que la musique. Il ne peut pas avancer. Alors, ça ne sert à rien de donner des coups d'aiguillon électrique au pauvre mouton qui est tout derrière. Alors ça, c'est des trucs bêtes, mais c'est des trucs qu'il faut expliquer aux professionnels. Parce que en leur disant que c'est inacceptable, on peut les amener à évoluer, à réfléchir. Et puis on peut aussi les amener à comprendre qu'ils peuvent faire leur travail intelligemment. Et quelque part, ils sont valorisés parce qu'ils feront leur travail d'une façon plus intelligente, et, etc.
C'est même dans la loi, en fait. Dans la loi qui régit les conditions d'abattage des animaux, il est marqué explicitement qu'on peut leur taper dessus pour les faire avancer, mais qu'on ne peut leur taper dessus pour les faire avancer, à certains endroits de l'animal, mais à la condition qu'il y ait la possibilité d'avancer.
Absolument. Et la loi n'est pas respectée sur les marchés. Alors, ce qu'on voit aussi, par exemple, vous savez, les moutons, c'est des animaux très, très grégaires. Alors, s'il y a un mouton, dans les marchés, ils ont les moutons par groupe de, je ne sais pas, peut-être 30 individus. Et s'il y a un mouton qui avance, il y a tout le groupe qui va les suivre, qui va suivre le mouton. Bon, alors, c'est très facile de faire monter des moutons dans un camion, parce que vous prenez un mouton, vous l'amenez dans le camion, ils suivent tous. Alors, c'est facile, hein, ça, au moins. Mais alors, ces imbéciles de transporteurs ou de maquignons ou de ce qu'on veut, ils attrapent un mouton par la patte avant et ils le tirent comme ça jusque dans le camion. Et puis, il y a tous les moutons qui suivent. Et ça aussi, c'est absolument inacceptable parce que, bon, le pauvre mouton, il a la patte, il peut être complètement déhanché et arraché. Puis, de toute façon, c'est pas comme ça qu'on traite un mouton, quoi. Alors, ce qu'il faut aussi, c'est qu'ils tirent les moutons par la laine. Alors la laine, c'est quand on tire les moutons par la laine, ça peut créer des hématomes, c'est extrêmement douloureux. Et en plus, là, j'en ai rien à foutre, mais en fait, ça les intéresse un peu plus. Ça peut faire la viande peut être déclassée, parce que quand il y a un hématome, bon, la viande peut pas être commercialisée, etc. Alors moi, je vais vous dire, j'en ai rien à foutre que la viande soit déclassée. Mais par contre, c'est vrai que c'est des arguments qui peuvent inciter les transporteurs ou les marchands à faire plus attention à ce genre d'aspect. Donc, mais globalement, je serais tenté de dire qu'il y a une petite évolution sur les marchés aux bestiaux. On a une ingénieure agronome là qui fait un stage en ce moment à la PMAF, qui, de mon point de vue, n'allait pas lui répéter, mais s'est fait bien monter la tête par les maquignons. Bon, donc, c'était sensible au bien-être animal, mais les gens qui sont dans le milieu agricole, je crois que c'est pas chez eux qu'on va aller chercher. Il faut aller les chercher pour se soucier du bien-être animal. Parce que, bon, toujours est-il qu'elle a fait quand même, elle a visité plusieurs marchés aux bestiaux et je suis allé avec elle. C'est vrai que ça passe toujours très bien. En plus, quand on vient avec des étudiants, ingénieurs agronomes, bon, c'est plus facile de se faire ouvrir les portes. Et on a quand même constaté une évolution sur les marchés. Ça va un peu mieux, quoi, quand même. Mais il y a encore beaucoup de problèmes. Il y a encore énormément de problèmes. Il y a encore un gros travail à faire. Normalement, c'est le transporteur. Ouais. Normalement, c'est le transporteur qui est assuré. Donc, c'est pas bien grave parce qu'il a l'assurance. Alors ça fait partie de nos demandes, c'est qu'on ne puisse plus assurer les animaux, la perte d'animaux. Parce que les animaux, quand ils meurent, ils étaient pas remboursés, le transporteur, il ferait peut-être un peu plus attention, puis il éviterait peut-être de les charger. Alors, vous savez, il y a beaucoup d'animaux qui partent aussi. Ça, c'est. Les gens, ils réalisent pas. Moi, ça me fait de la peine quand je vois les vaches dans les champs. Quand je vais dans le nord de la France, par exemple, il y a beaucoup de bovins qui partent du nord de la France, qui sont exportés vers le Moyen-Orient. La France exporte chaque année 70 000 bovins vers le Moyen-Orient, donc surtout le Liban et l'Égypte. Et même moi, quand je vais dans les champs et que je vois des vaches, et je me dis, cette pauvre vache, elle va peut-être se retrouver égorgée dans un abattoir à Beyrouth et autres. On a quand même du mal à le réaliser, hein. Pauvre bête. Et alors bon, ces pauvres bêtes, ils partent du nord de la France ou de Nancy, hein, même près de Metz, etc. Ils sont transportés jusqu'à Sète. À Sète, ils prennent le bateau dans les bateaux. Alors c'est des vieux rafiaux qui risquent de couler. C'est absolument scandaleux parce que là aussi, même pour les marins eux-mêmes, c'est inacceptable. J'ai un type qui travaille pour un syndicat des marins qui m'a appelé il y a quelques semaines pour attirer mon attention là-dessus, parce qu'il disait ces vieux rafiaux sont absolument dans l'illégalité et la capitainerie ne devrait même pas les laisser partir, ils le laissent faire parce que bon, c'est important pour le Liban, bon, économiquement, etc. Mais bon, sur le plan juridique, ils ne devraient même pas partir, quoi. C'est ce qu'on appelle les camions poubelles, hein. Bon. Alors il me disait, bon, comme on n'arrive pas à faire évoluer les choses... pour les marins, par rapport à la réglementation pour protéger les marins, je vous contacte parce que peut-être que par rapport au bien-être des animaux, on arrivera peut-être à faire bouger les choses de ce point de vue. Bon, c'est un angle d'attaque aussi à utiliser. Mais j'ai discuté avec alors vous savez, là-dedans, c'est que des Philippins, des machins, des gens sous-payés, évidemment, qui travaillent là. Donc j'ai discuté avec un type qui venait des Philippines, là, un marin, et il me disait que quand les animaux traversent la Méditerranée, je crois que ça dure 7 jours, si j'ai bon souvenir. Ça doit durer 7 jours, hein, depuis 7. À chaque fois, il y a un ou deux bovins, une ou deux vaches qui meurent. Donc déjà, il y a des souffrances sur le bateau lui-même. Puis, quand ils arrivent là-bas, dans ces pays chauds, c'est terrible, parce que alors, au niveau des camions, alors c'est pas du tout comme chez nous, ils sont pas du tout adaptés au transport des animaux. Et en plus, alors parfois, il n'y a pas de rampe de chargement et de déchargement. Et en plus, ils doivent parfois faire voyager encore plusieurs heures dans le désert, en pleine chaleur, sans être protégés par un toit. Et ils ne sont pas abreuvés. Puis alors, quand ils arrivent à l'abattoir, alors c'est des petits abattoirs. Parce que le problème dans ces pays, c'est qu'ils n'ont pas de système pour réfrigérer. Ils n'ont pas de système de réfrigération. C'est pour ça qu'ils veulent des animaux vivants. Enfin, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est qu'ils veulent les abattre rituellement. Donc, ils vont dans tous ces petits abattoirs qui sont absolument rudimentaires, ils sont abattus d'une façon absolument déplorable pour commencer rituellement, ce qui est déjà un problème en soi. Mais en plus, il y a Leslie, là, ma collègue, vous avez vu Arte, qui est allée filmer dans un abattoir à Beyrouth, où on voit par exemple un bovin, des vaches ou des taureaux qui sont attachés par une patte, qui sont suspendus en l'air. Alors, pour un animal aussi lourd, c'est pas du tout naturel de se retrouver. Retourner sur lui-même. Et puis vous imaginez un animal aussi lourd, avoir tout son corps suspendu à une patte, la patte peut se retrouver complètement déhanchée, la patte qui est arrachée, le corps qui s'arrache, enfin, c'est absolument inacceptable. Et là, une fois que l'animal est suspendu par la patte, il est égorgé, alors il met une minute à mourir, bon, enfin, ça, je passerai les détails. Donc c'est absolument scandaleux que la France et l'Union européenne exportent ces animaux vers ces pays-là, ça devrait être absolument interdit. Et en plus, chose encore plus scandaleuse, parce qu'on a trop de viande de bœuf au sein de l'Union européenne, on subventionne les exportations d'animaux vivants. L'Union européenne donne des primes pour encourager l'exportation de ces animaux. Et nous, on voudrait vraiment que les subventions soient retirées ou qu'elles ne soient données que pour les carcasses. Ce qui est aussi assez attristant, c'est que, comme nous disent les transporteurs, on n'en voit que les mauvaises bêtes là-bas, c'est-à-dire les bêtes qui sont rachitiques, les bêtes qui sont pas trop grasses, qui sont bon, donc les moins résistantes sans doute. C'est elles qui partent vers le Liban parce qu'en Europe personne n'en veut, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même attristant le sort de ces pauvres animaux. Quelque part, moi je dis toujours, ce sont nos animaux, ils sont de notre pays. Sous notre responsabilité, on ne devrait pas tolérer qu'ils soient exportés là-bas. Donc voilà.
Tu parlais de la île. On a des discussions à propos de la haie, tu vois, il y en a qui disent de toute façon c'est horrible dans les abattoirs en France. Pourquoi se focaliser sur cette pratique qui peut, à travers ça, on peut être raciste, enfin, on peut soupçonner les gens de... Je sais ce que je viens de dire, je m'exprime mal, mais...
Il y a deux aspects dans l'Aïd. Il y a l'aspect abattage rituel, donc il y a un problème en soi. Nous, on est... Bon, j'ai pas envie de dire que je suis contre l'abattage rituel, parce que moi, bon... Je suis contre l'abattage, l'égorgement sans étourdissement préalable. Parce que l'abattage rituel, bon, à mon avis, il pourrait très bien faire de l'abattage rituel en étourdissant les animaux préalablement, et ça serait conforme à leur religion, de mon point de vue. Mais bon, il y en a certains qui l'acceptent. Il y a des musulmans qui acceptent l'étourdissement, par exemple, par choc électrique, et il y en a d'autres qui ne l'acceptent pas. Et puis, il y a un autre problème, c'est... Donc, il y a le problème de l'abattage rituel lui-même. Pas trop près. Et il y a le problème de l'égorgement dans des sites d'abattage dérogatoires, enfin en plein champ, quoi. Et moi je suis assez d'accord avec vous que ça se passe en plein champ ou que ça se passe dans un abattoir, la différence elle doit pas être énorme, hein. Ça se passe peut-être un peu mieux en abattoir, parce que le problème de l'abattage rituel en plein champ, c'est que, bon, moi je suis allé voir comment ça se passe, c'est quand même assez horrible, parce qu'il y a des mares de sang partout, les moutons, ils voient leurs copains se faire égorger les uns devant les autres, bon, ils comprennent quand même ce qui se passe. Je pense que dans les abattoirs, moi je suis pas allé, j'ai vu très peu d'abattoirs, donc je connais pas grand-chose sur l'abattage, mais je pense qu'en général, on veille quand même à ce que les animaux... ne voit quand même pas trop les animaux qui les précèdent se faire égorger, donc je pense que ça se passe quand même un peu mieux. Bon, cela dit, la différence, elle n'est pas géniale. Bon, de mon point de vue, il faut quand même être contre les abattages dérogatoires en plein air. Bon, premièrement, pour une question de principe, parce que la réglementation qui protège les animaux autorise l'abattage rituel que dans les abattoirs et pas à l'extérieur. Donc, il y a une réglementation qui protège les animaux, il faut qu'elle soit respectée, et c'est notre rôle de veiller à ce qu'elle soit respectée par principe. Bon, ça, c'est déjà une question de principe. Et maintenant, mon autre point de vue, c'est que plus ce sera difficile pour les musulmans d'égorger un animal le jour de l'Aïd el-Kébir, plus ce sera plus compliqué, plus ils finiront par accepter d'aller à la boucherie plutôt que de faire 100 km pour trouver un abattoir. Donc, je pense que l'un dans l'autre, parce que il y a de plus en plus chez les jeunes, de plus en plus, ils acceptent de ne pas abattre un mouton le jour de l'Aïd el-Kébir et d'aller chez le boucher acheter un morceau de viande et puis de fêter ça en famille comme nous on fête Noël. Donc c'est une tradition qui tend quand même à se perdre dans les jeunes générations. C'est pour ça que moi je suis assez favorable au fait de rendre plus compliqué l'abattage le jour de l'Aïd el-Kébir. Alors c'est vrai que, à côté de ça, s'il n'y a pas de site d'abattage dérogatoire, ils seront peut-être tentés d'aller abattre les moutons illégalement dans la cuisine, ou enfin dans la baignoire, ou dans le jardin, etc. Mais l'un dans l'autre, je pense que les animaux auront quand même plus à y gagner... si on ferme les abattages en plein air, si on veille à ce qu'il n'y ait plus d'abattage, de sites d'abattage dérogatoires légalisés en quelque sorte. Donc c'est pour ça que nous on a soutenu cette position, quoi.
Est-ce qu'on peut faire quelque chose, nous, si on a des voisins marocains et des voisins turcs qui chaque année font ça chez eux, quoi. Est-ce que je peux faire quelque chose sans entrer en conflit directement avec mes voisins?
C'est difficile, ça peut être sans entrer en conflit. Enfin, bah disons que théoriquement, la réglementation dit que l'abattage rituel est autorisé en France, mais uniquement dans les abattoirs.
Donc ils n'ont pas le droit de faire ça chez eux.
Donc ils n'ont pas le droit de faire ça chez eux, très clairement. Donc si vous voyez ce type de problème, vous pouvez appeler la gendarmerie et puis leur demander d'intervenir et de verbaliser, ou les services vétérinaires. À mon avis, ils ne feront rien, hein, à mon avis, parce qu'ils ont plein d'appels, et puis bon, vous savez, les gendarmes, ils vont vous dire j'ai d'autres, vous m'excuserez l'expression, d'autres chats à fouetter. Mais bon, vous pouvez, je sais pas, vous pouvez quand même appeler les gendarmes, écrire au maire, vous voyez, faire...
Étant le seul végétarien du coin, ils seront très bien de sa vie.
Ouais. Peut-être plus efficace d'identifier les peurs. souvent les animaux malades d'ailleurs.
Oui, effectivement, parce que ce qui s'est passé, par exemple, cette année en région parisienne, c'est que dans les deux semaines qui ont précédé l'Aïd El Kébir, on avait le droit de vendre des moutons, je crois, en Île-de-France, mais on avait le droit de vendre des moutons, mais l'éleveur devait obligatoirement savoir où l'animal allait être abattu. C'est-à-dire, il devait... Le type qui allait acheter le mouton devait donner l'adresse de l'abattoir où il allait faire abattre l'animal. Donc, effectivement, on peut se retourner vers les éleveurs. Alors, le ministère de l'Intérieur, on les a rencontrés concernant cet aspect. Bon, ils sont un peu mous. Ils ont dit, écoutez, nous, on a interdit... Parce que nous, on leur a dit, maintenant, on a interdit les sites d'abattage dérogatoires, mais il y a des éleveurs qui continuent à vendre des moutons et à tolérer que les moutons soient égorgés dans leur bergerie, et il faut se retourner vers eux maintenant. Ils ont dit, écoutez, allons-y tout doucement, faisons progresser les choses lentement, les mentalités ne vont pas évoluer du jour au lendemain. Hein. Bon. Mais sur le plan juridique, vous avez raison, les éleveurs sont responsables, de mon point de vue, totalement. Et, ouais, c'est une très bonne idée. Ouais.
Ça peut intéresser
le fisc. Absolument.
Ça peut être quoi?
Ça peut intéresser le fisc. C'est ce que nous a dit le ministère de l'Intérieur. Ils nous ont dit, ils ont coincé un éleveur comme ça par le fisc. Mais ouais, vous avez raison. Ouais, ça peut intéresser le fisc.
Je prends les tours de parole parce que...
Ouais. Sur l'abattage rituel, c'est un débat, c'est un peu comme la corrida, quoi. Tous les arguments ont été donnés dans un sens ou dans l'autre. Donc j'en donne un qui n'a pas été donné là moins aujourd'hui, c'est que... on peut aussi discuter du fait que de... ramener l'abattage dans les abattoirs, c'est une façon aussi de cacher l'abattage lui-même, quoi, et qu'au moins une vertu finalement d'abattage rituel, c'est que ça montre ce que c'est que de tuer un animal, quoi, et que c'est fait au moins sur la place publique, plutôt que de cacher. Je dis pas, c'est pas une position de principe que je prends là en disant par rapport à ce qu'il faut faire, sur le sujet. Comment ? Oui, non, mais je dis pas ce qui. Je prends pas position là, je disais juste qu'il y a aussi ce facteur-là à prendre en compte et que quelque part. C'est une bonne conscience qu'on se donne aussi de se dire les tuer dans l'abattoir, là il n'y a pas de problème. Par contre, de les tuer de manière rituelle sur une place publique, ça c'est pas bien. C'est pas bien parce que ça leur fait du mal, puis c'est pas bien parce que c'est pas propre, quoi. Les enfants voient ça, ils sont partout assaillis, quoi. Et donc je trouve que il y a aussi cette vision-là à donner, quoi, qui est complémentaire de la première. Hein.
Ouais, mais c'est vrai, non mais je suis d'accord. Faut que je prenne le micro. Ah pardon, ça enregistre. Et non, mais c'est vrai que... Et souvent, on est confronté un peu à ces difficultés. Il n'y a pas de solution idéale. Et parfois, les solutions pour aider les animaux peuvent se retrouver des solutions qui, finalement, ne les aident pas. Bon, alors là, ce que je serais tenté de vous répondre, c'est que une fois qu'on aura progressé sur le dossier de l'Aïd El Kébir, qui aura plus du tout d'abattage illégal, eh bien, effectivement, il faudra qu'on aille dans les abattoirs, qu'on filme en caméra cachée, qu'on fasse embaucher des gens dans les abattoirs pour dire... Rêvez pas, les abattoirs, on peut faire en sorte que ça se passe mieux. Enfin, avec 1 milliard d'animaux abattus chaque année en France, faut pas rêver, il y aura toujours des ratés, il y aura toujours un animal qui se réveillera après avoir été étourdi et qui sera égorgé en pleine conscience, etc. Donc il y a ce travail à faire pour auprès du grand public, pour dire effectivement, on peut améliorer le bien-être des animaux, on peut avoir des textes de loi, etc. Mais vous pourrez jamais être sûr à 100% que l'animal que vous mangez n'a jamais souffert. Donc... L'idéal, enfin le mieux, si vous voulez vraiment aider les animaux, c'est être végétarien. Et ça, c'est vous qui pouvez passer ce discours. Je ne sais pas si ça va lancer le débat sur cet aspect, mais nous, on ne veut pas le faire pour différentes raisons. Mais c'est vrai que... Enfin bon, moi, je crois qu'effectivement, la vraie solution, c'est qu'on soit végétarien. Quoi. Bon, si on veut vraiment qu'il n'y ait plus de souffrance, si on veut être certain qu'on n'a pas fait souffrir des animaux, bon, il n'y a pas de souffrance. Quand on voit dans les abattoirs, au niveau des volailles... qu'il y en a plusieurs milliers à l'heure, bon, je vois pas comment on pourrait s'assurer qu'il n'y ait pas à rater. Bon, il faut être réaliste, quoi. Donc,
Dominique. C'est-à-dire la différence entre la viande que les viandistes mangent et puis celle qui est... enfin, les animaux qui sont abattus le jour de la cuillère, etc. C'est que ceux-ci sont abattus par des... comment dirais-je... par des gens qui ne savent rien faire et que ces animaux souffrent particulièrement. Oui. Ils ne sont sûrement pas abattus du premier coup, ils sont dépecés, enfin, ils sont peur, etc. Alors que bon, ben, dans les abattoirs, c'est peut-être pour l'Aïd El Kébir, mais nous, on mange bien, enfin, des fois, les gens ordinaires qui ne sont pas végétariens mangent bien de la viande tous les jours. Donc je veux dire que ça résolverait le problème de l'aïe tel kébir.
Ça c'est vrai, ça c'est très important.
Oui. Ben oui.
Parce que normalement l'abattage rituel est autorisé en France, mais il doit être fait uniquement par des sacrificateurs agréés par la préfecture ou le consistoire israélite pour ce qui est de la religion juive. Et au moins, c'est des gens formés qui ont un vrai couteau bien aiguisé. Et puis, normalement, le Talmud, je ne sais pas comment c'est. Bon, bref, ça doit, même dans le Coran, il dit que ça doit être un seul coup, quoi. Ça doit être bien fait. Bon. Sur l'Aïd el-Kébir, c'est absolument horrible. C'est des gens qui ne
tuent
un animal dans l'année. Bien souvent, les types, c'est bon, faut bien le faire une première fois si on veut le faire. C'est des gens qui ne l'ont jamais fait. Alors, il est déjà stressé parce qu'il n'a jamais fait ça. Et bon, je veux dire, les gens sont quand même pas des sadiques, hein. Je l'ai vu. Ça leur fait quand même pas plaisir. Mais ils sont pas adroits. Et alors, je vous assure que, bon, je m'excuse, je vais pas vous horrifier, mais c'est le mouvement de scie, hein. Moi, je l'ai vu, c'est comme ça, hein. L'animal, je vous assure qu'il passe pas un bon quart d'heure. Donc, au moins dans les abattoirs, sur cet aspect aussi, c'est vrai que c'est aussi important. Ça permet quand même que ça aille un peu plus vite.
Mais non, je voulais juste une précision. Est-ce que nous, on peut faire quelque chose en tant que particulier si on voit un chargement sur les transports si moi, je vois un camion chez moi avec un animal avec une patte qui passe à travers.
Ah oui, bien sûr.
Est-ce que moi, en tant que particulier, ne faisant pas nécessairement partie de la PNL, j'ai le droit d'aller voir le chauffeur et de l'arrêter et de dire vite et d'appeler les flics s'il le faut?
Oui, bah bon, je crois que nous, notre politique avec les chauffeurs déjà, c'est. Moi, j'ai toujours mauvaise conscience de travailler avec l'ennemi, ça me gêne un peu. Mais toujours est-il que je trouve que c'est comme ça qu'on arrive le mieux à travailler, enfin, de mon point de vue. Donc moi, quand je vois un camion avec un chauffeur qui est en infraction, je sors de la voiture, je vais vers lui avec un sourire, je range jusqu'aux oreilles et je lui dis « Salut mon pote ». Et en général, quand ils voient qu'on a un aspect sympathique, bon, ils sont ouverts au dialogue, quoi. Donc je serais tenté de dire, la dernière chose à faire, c'est aller les voir, leur gueuler dessus et les agresser parce que vous n'obtiendrez rien du tout. Et donc vous pouvez aller les voir gentiment en lui disant, excusez-moi, je suis un petit peu inquiet parce que j'ai vu cet animal, vous ne l'avez pas vu, nanani, nanana, je voudrais attirer votre attention parce que de toute façon, vous n'avez aucun droit. Alors bon, autant le prendre en étant aimable et poli et attirer son attention. Bon, alors le type, vous verrez, s'il a la patte qui sort, on l'a vu avec un petit veau il n'y a pas longtemps, hein, le pauvre petit veau... c'était quand on suivait un camion qui allait de Château-Gontier à Vic. Le pauvre petit veau, il avait la patte coincée entre le sol, parce que vous savez, c'est des camions, des sols qui montent comme ça automatiquement.
Ah oui.
D'ailleurs, c'est très bien parce que ça évite que les animaux ils aient à grimper. Bon. Mais il y avait un petit espace assez restreint entre les voies d'aération et le sol, et donc le petit veau, il a été tombé, et il avait la patte qui était, la patte qui était coincée. Et elle avait enflé la patte, parce qu'il ne pouvait plus la sortir. Donc nous, on l'a signalé au chauffeur, bon, il a fait baisser le camion, et bon, le petit veau, j'espérais qu'il s'est redressé, après il est reparti, on ne sait pas trop ce qui s'est passé par la suite. Mais effectivement, vous pouvez aller voir le chauffeur, si le chauffeur n'est pas coopératif, vous pouvez très bien appeler la gendarmerie, ou les CRS, hein, parce que les brigades, soit c'est des CRS, soit c'est des gendarmes, et leur demander d'intercepter, de leur demander poliment gentiment d'intercepter le camion. Moi, je serais tenté de vous dire, s'il vous plaît, par contre, évitez d'appeler les gendarmes ou la police, simplement parce qu'il y a des gens, ils voient un camion avec des animaux, « Oh, c'est horrible, il faut que j'appelle les gendarmes !» Parce qu'on est toujours heurté. Parce que moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que s'il y a trop de personnes qui appellent les gendarmes tous les 5 minutes, chaque fois qu'ils voient un camion, quand nous, on les appellera pour une raison valable, ils ne viendront pas. Parce qu'ils vont se dire, « Oh, c'est encore ces cinglés de protecteurs des animaux, on a autre chose à faire. » Donc faites-le surtout quand vous voyez vraiment un problème, quoi, quand la situation vous paraît alarmante, et que maintenant vous avez cette super brochure où vous avez toute la législation,
oui,
vous savez quand est-ce que il y a, sur le plan juridique, moyen d'agir, quoi. Donc oui, vous pouvez agir en tant que particulier, et...
Mais on peut quand même, donc si le chauffeur n'est pas coopératif, gentiment lui signaler qu'on va appeler la police.
Ouais, moi je vous recommanderais de le faire. Oui, oui, absolument. Et puis vous savez... Je crois que quelque part, le fait d'aller parler au chauffeur, etc., ça contribue à faire évoluer les choses. Parce que d'une manière générale, si les professionnels prennent conscience que le grand public est sensible au bien-être des animaux, que les gens, quand ils sont en voiture, ils regardent les camions et s'ils voient quelque chose qui ne va pas, eh ben, ils viennent les voir, ils appellent les gendarmes, etc., ça contribue à faire en sorte que, globalement, dans le monde agricole, on comprend que le bien-être animal, c'est quelque chose d'important qui touche la société et qu'il faut faire avec.
Et d'eux-mêmes, ils font ce qu'il faut pour sa propre vie.
Exactement.
Je voulais savoir si vous entendiez le terme de ferme dans le sens traditionnel, c'est-à-dire ferme à la campagne, vache poule, ou bien si vous vous intéressiez aussi aux élevages de poissons.
Alors oui, on s'intéresse aux élevages de poissons. Il y a deux espèces dont on ne s'est pas beaucoup occupé en France depuis la... Deux espèces qui me tiennent beaucoup à cœur depuis la création de la PMF. Les premiers, c'est les lapins. Ça, c'est un peu historique, c'est parce que, bon, en Angleterre, ils mangent très peu de lapins. Et comme nous, on a beaucoup d'informations qui viennent d'Angleterre, bon, on n'a pas eu beaucoup de temps de travailler dessus. Cela dit, j'ai trouvé récemment une thèse vétérinaire qui a été faite sur le bien-être des lapins. Et les lapins, c'est aussi... il y a beaucoup de problèmes de bien-être, parce qu'ils sont élevés en cage, etc. Et les poissons, c'est un aspect, un problème qui nous touche aussi beaucoup, parce que, effectivement, l'élevage des poissons s'est intensifié. On a beaucoup de saumons élevés dans des... pas des cages, mais enfin des bacs, des grands bacs, où ils sont entassés... où ils sont entassés les uns sur les autres, ça crée beaucoup de problèmes de maladies, de pollution, enfin, on retrouve les mêmes problèmes pour les espèces en cage plus traditionnelles chez les poissons. Et on s'en est pas encore occupé. Compassion in Wild Farming a publié plusieurs rapports scientifiques sur le bien-être des poissons, et ça fait partie des thèmes qu'on voudrait effectivement aborder prochainement, dans les prochaines années, tout comme le bien-être des crustacés, les crabes, tous ces animaux auxquels on ne pense pas et qui souffrent terriblement quand ils sont ébouillantés. C'est absolument inacceptable. Quand on voit ces crabes et ces homards posés sur la glace dans les magasins...
On va avoir les deux retournés.
Exactement.
Nous, quelquefois, on va les retourner avec Catherine et compagnie.
Ah, c'est bien. Ah, oui. Et c'est absolument honteux et révoltant, et c'est extrêmement agaçant de voir les petits gamins qui regardent, regarde le homard, ou les parents qui disent, regarde le petit, on a envie de leur foutre des baffes. En leur disant, ce serait mieux de leur dire, regarde la pauvre bête, mais bon. Mais c'est vrai que ça fait des animaux auxquels on n'a pas pensé, mais je serais vous tenté de vous dire à la PMF, moi, mon point de vue, c'est que quand on entame une campagne, autant commencer par la campagne qu'on a le plus de chances de gagner. Donc, autant commencer à travailler sur les animaux qui sont les plus populaires, qui touchent le plus les gens, etc. Donc ça, c'est les veaux, les gros animaux. Bon, les gens ne sont pas trop sensibles aux volailles, mais comme on a travaillé, on a gagné nos grosses campagnes là, pour les veaux, les truies, les machins, maintenant on peut venir au poulet de chair.
D'autant plus qu'on en mange de plus en plus.
Voilà. Mais c'est vrai que moi, d'ailleurs, ça me révolte. Quand on tient des stands, je cite toujours cet exemple. Quand on tient des stands, on met toujours nos vidéos. Alors quand vous avez la vidéo sur le transport des animaux, alors ça c'est le gros veau, la grosse vache, hyper sympathique, qui a les gros yeux tout ronds, etc. Alors là, les gens, oh là là, c'est des attroupements sur le stand, on a presque des problèmes parce que les gens sont horrifiés et puis ils bloquent la circulation. Puis les gens hurlent, on est presque embarrassés, enfin bref. Et puis bref, quand la vidéo arrive à la fin, on met la vidéo sur les poules en cage et compagnie. Alors là, plus personne qui est intéressé. Alors c'est vrai que les oiseaux, les poules pondeuses, les poissons, ce ne sont pas des animaux qui touchent beaucoup les gens. C'est vraiment très triste.
Il faut plus expliquer que la poule, il faut qu'elle va pas donner plus d'explications peut-être. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait quand chaque samedi, on distribue pour la BMF avec Karine. Alors on n'a pas trop sur les poules, on en voudrait.
Oui, il faudrait qu'on fasse.
Mais quand on voit ça, on explique beaucoup qu'elles ont besoin de bouger les ailes, qu'elles ne peuvent pas.
Ouais.
Et les gens finissent par comprendre.
Ouais. Bah, globalement, moi, je trouve que je dois dire que on est quand même souvent dans la rue, vous allez confirmer ce que je vais dire. Les gens sont quand même... Il y a beaucoup de gens sensibles au bien-être animal en France. Il y a beaucoup de gens qui sont indifférents. Ouais. Mais moi, je serais tenté de dire que ce soit le bien-être animal, que ce soit l'environnement, que ce soit les problèmes sociaux, enfin... De toute façon, il y a beaucoup de gens qui sont indifférents à tout. Alors. Et moi, je dis toujours, le monde a toujours évolué avec des minorités. Alors, même si on a une minorité avec nous, il faut y aller, on va gagner.
Oui, parce que tout à fait, en plus, ils sont très mal attendus.
On est trop bavards.
Non, mais il y a 3 ou 4 personnes.
Oui, monsieur.
David.
Je veux revenir sur trois points différents. D'abord, sur la PMF, ça reste encore un petit peu. Mystérieux, j'aurais aimé que tu expliques un petit peu plus les trucs simples et pratiques, comme genre combien vous êtes, est-ce que vous êtes salarié, combien vous êtes de salariés.
Bon, je peux donner plus de détails. Ouais.
Oui.
De... 5300
combien?
Bah, je vais.
D'accord, oui, non, bah, excuse-moi. Alors.
Non, non, mais je peux revenir là-dessus. Vous donner notre budget, etc. Il n'y a pas de souci.
Non, non, mais c'est pas par inquisition, c'est juste pour avoir une idée. Mais bon, si ça a été dit, excuse-moi. Oui, bon, bah, alors le deuxième point, c'est que. Bon, la description. De ce que vous faites, enfin, je trouve ça assez insupportable, quoi, de penser à ce qui se passe, quoi. Mmh. Et donc, enfin, je sais pas, je trouverais vraiment bien qu'il y ait 10 000 personnes qui fassent ce que vous faites, quoi. Mmh. Faire appliquer la réglementation que les cochons aient à boire, je veux dire, c'est... en tout cas, moi, c'est un des trucs qui me touche le plus, quoi, d'imaginer, ouais, des animaux transportés comme ça sur des énormes distances et qui meurent de soif.
Ah oui, c'est... quand on leur donne à boire, ça fait de la peine.
Enfin, on a montré les... Enfin, il y a la campagne de PETA sur l'Holocauste, où ça met l'accent aussi sur cette analogie... Par rapport au transport des Juifs vers Auschwitz, ouais, qui est, je crois, un des trucs qui marque le plus, quoi, cette image d'être transporté sans savoir où on va, en ayant soif, en ayant, en étant terrorisé, enfin, à la fois moralement et physiquement.
Ouais.
En même temps, ouais, ça c'est pour dire que j'ai du mal après ça à apporter des critiques à l'action de la PMAF.
Il ne faut pas hésiter.
Mais en même temps, je pense aussi à des associations comme PETA, surtout le fait que la PMAF, si j'ai bien compris, essaye de ne pas apparaître publiquement comme soutenant le végétarisme.
Non.
Et ça... l'évite même. C'est, ouais, je peux comprendre que ça puisse être... qu'évidemment des éleveurs, ils aiment pas ça, ils aiment pas qu'on soit végétarien, c'est pas, ça nous rend pas sympathique envers eux, mais en même temps j'ai l'impression qu'il y a des gens qui le font, quoi. La PETA aux États-Unis négocie avec KFC. PETA a clairement dans ses statuts des choses qui impliquent que PETA est pour l'abolition de la consommation des poulets et donc est pour mettre tout le monde de KFC au chômage, allez vous trouver un autre boulot. Pourtant, ça ne les empêche pas de négocier. Ah bon, de négocier avec KFC, ils n'y arrivent pas. Enfin, bon, ils sont arrivés avec McDonald's, ils sont arrivés avec d'autres trucs. Et que je me demande si cette envie que vous avez, cette hésitation que vous avez à vous montrer, enfin, à le dire, pas forcément à le proclamer, mais à l'admettre que vous êtes pour le végétarisme, si c'est pas une fausse peur que vous avez, quoi.
Possible, on va peut-être évoluer par rapport à ça.
Je trouve que ça serait important et que peut-être que ça n'empêcherait pas le dialogue. Maintenant, c'est vrai, moi, je suis pas sur le terrain, j'ai du mal à être affirmatif là-dessus, mais j'ai l'impression que ça n'empêcherait pas. Je veux dire que vous soyez marqué comme une association qui très ouvertement soutient le végétarisme pour les animaux. N'empêcherait pas, parce que bon, les éleveurs, je pense, les professionnels, ils ont une idéologie, ils sont contre le végétarisme, évidemment, mais bon, si, de toute façon, ils savent très bien que le végétarisme, ça ne va pas être dans 5 ans qu'ils vont être au chômage à cause des campagnes des végétariens.
Ouais. Donc,
à un certain niveau, ils s'en fichent, quoi.
Ouais,
ce qui leur importe, c'est le court terme, c'est ce qui arrivera dans leur vie, et donc qu'on soit végétarien et qu'on milite pour le végétarisme en général, d'une certaine façon, je ne suis pas sûr que ça leur soit aussi important que ça. Enfin, un troisième point que je voulais aborder, c'est l'histoire de l'abattage rituel. Je pense qu'il faut qu'on ait des discussions là-dessus. Je pense que ce serait peut-être un thème à aborder aux prochains estivales. Je pense qu'il y a des façons d'arriver à en parler. sans que ça, ça puisse être soupçonné de racisme. Je pense que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a des gens qui, par racisme, anti-musulmans ou anti-juifs, se focalisent sur l'abattage rituel. Je pense que c'est indéniable que c'est quelque chose qui existe. Mais je pense aussi qu'il y a moyen de traiter ce problème d'une façon ou d'une autre et d'avoir des positions fermes qui ne soient pas du tout en retrait par rapport à l'idée de protéger les animaux pour eux-mêmes et de ne pas tolérer forcément des dérogations sur ce qu'on veut dire par rapport à ça au nom de principe antiraciste. Donc il y a moyen de dégager des positions comme ça, mais que ça demande discussion. Quoi. Enfin voilà, c'était juste un commentaire qui ne concerne pas la PMA plus qu'autre chose. Quoi,
ouais.
Voilà.
Ok, je réponds. Alors, je vais peut-être revenir plus en détail sur comment fonctionne la PMAF. Je vais rentrer un peu dans les détails. Alors nous, déjà, la PMAF, moi je suis le directeur. Bon, je suis salarié, c'est clair. Merci. Je suis salarié. Il faut savoir qu'à la PMAF, si un jour il y a un conseil d'administration qui est constitué de 8 personnes, si un jour ils veulent me virer, moi je suis viré. Si un jour j'ai ma tête qui ne leur plaît pas, bon. Et donc dans le conseil d'administration, il y a 8 personnes, dont 2 administrateurs qui sont également administrateurs de Compassion in Wolfarming. Le président de la PMF, c'est un monsieur qui n'est pas très connu, qui s'appelle Pierre Béret, qui travaille à l'INSEE, enfin qui s'intéresse à la cause animale, bon, etc. Mais qui est surtout, je dirais, président administratif, on va dire. Parce que c'est vrai qu'à la PMF, en général, c'est toujours moi qui apparaît. Bon, tout le monde croit que je suis président, mais non, c'est pas le cas. Bon, alors, donc voilà. Donc il y a un conseil d'administration qui décide les grandes stratégies de la PMF, qui décide de créer des nouveaux postes, de virer des gens, c'est malheureusement arrivé. Etc. etc. Donc voilà. Au niveau du budget, on a un budget de, je parle en francs, qui approche les 2 millions de francs, ce qui n'est pas énorme, croyez-moi, parce que quand on m'aurait dit il y a 10 ans, tu vas avoir à 2 millions de francs, je t'aurais dit, mais moi avec ça, je te refais le monde. Mais quand on a payé le loyer, la pression des brochures, des tracts, les salaires, les déplacements en voiture, les opérations, là, je veux dire. Tous les mois, on a des frais fixes, c'est affreux. Donc on a 5300 membres et donateurs. 30% de nos revenus viennent de Compassion in Wolfarming. Et à savoir qu'il diminue maintenant de 20% la somme qu'il nous donne. Il nous donne 600 000 francs par an à peu près. Hein. Et dans 5 ans, on n'aura plus du tout d'argent de Compassion in Wolfarming normalement, parce qu'il faut aider les autres pays. Et ça, c'est un gros problème pour la PMF, c'est qu'il faut absolument qu'on trouve plus de membres et de donateurs pour continuer à poursuivre l'action qu'on a menée sans régresser. Mais bon, cela dit, on se développe, hein, on a de plus en plus de membres et de donateurs. Donc voilà pour ce qui est la partie transparence, on va dire, hein, parce que là, on n'a rien à cacher. Donc pour en venir au végétarisme. Alors c'est vrai que nous, on est avant tout une association pour le bien-être des animaux. On est là pour améliorer les conditions de transport, d'élevage et d'abattage des animaux de ferme. Volontairement, on ne veut pas parler du végétarisme. C'est vrai que c'est un choix sur lequel on sera peut-être amené à évoluer, hein, parce que c'est vrai que le débat, il est intéressant. Parce que on s'est rendu compte, on a un peu le sentiment qu'en France, les gens ne sont pas prêts pour accepter. Beaucoup de gens ne sont pas prêts à accepter l'argument végétarien. C'est-à-dire ils sont prêts à accepter l'argument il faut améliorer les conditions d'élevage, de transport, d'abattage, ils sont prêts à l'accepter. Si on leur dit il ne faut plus manger de viande, alors là, bien souvent, les gens se bloquent et ne sont plus du tout ouverts au dialogue et nous cataloguent, association extrémiste, pas de dialogue possible. Alors, nous, en se gardant de se présenter ouvertement comme une association végétarienne, c'est vrai qu'on a plus de facilité pour accéder auprès des médias. On garde entre guillemets une certaine crédibilité auprès de. C'est pour ça qu'on arrive sans doute à passer à TF1, à passer à la télé, à être connu pour notre travail auprès de certains journaux, etc. Maintenant, je vous dirais aussi à la PMF, tout le monde, enfin pour être très honnête, il y a un certain nombre de membres qui ne sont pas végétariens. Il y a dans le conseil d'administration des gens qui ne sont pas végétariens. Donc tout le monde n'est pas forcément favorable à la politique, à une politique de promouvoir le végétarisme au sein de la PMF. La plupart des gens le sont, hein, mais y a des gens qui ne sont pas forcément favorables. Alors, ce que l'on peut faire par contre, c'est une campagne, on envisage de lancer une campagne « Manger moins de viande ». Ça, c'est un discours qu'on peut très bien avancer, dire aux gens « Manger moins de viande ». Ça peut aussi avoir de l'impact si on arrive à persuader les gens de manger de la viande 4 jours sur 2. C'est autant d'animaux qui ne seront pas mangés.
Ça, s'il y avait des prospectus là-dessus, c'est super.
Ouais, on va y travailler.
Mais ne pas manger du poisson à la place. Non, parce que
ouais, sinon, effectivement,
les gens l'entendent comme ça,
ouais, c'est
la
vrai.
Viande étant
oui, ouais.
De poisson.
Ouais. Dire, bon, ce qu'on fait aussi parfois dans les tracts, je crois qu'on le marque dans ce dépliant, on marque si vous mangez de la viande, bon, donc ça sous-entend qu'on peut être végétarien. Moi, je pense que je serais assez favorable maintenant, parce que je trouve que depuis la PMF, elle existe depuis presque 10 ans. Les mentalités ont beaucoup évolué, je pense, en 10 ans. On parle plus de bien-être animal. La PMF, elle a quand même donné une image. On sait que maintenant, c'est une association sérieuse qui est surtout s'occupe du bien-être animal. Donc, je pense que maintenant qu'on est reconnu, effectivement, je pense qu'on pourrait commencer à parler un peu du végétarisme. En disant, par exemple, bah, acheter du poulet fermier élevé en liberté. Vous pouvez également devenir végétarien, écrivez à l'Alliance végétarienne ou X pour avoir des recettes végétariennes. Ça, je pense qu'on pourrait le faire sur quelques documents et je serais assez partisan pour que on le fasse. Vous ne me verrez peut-être pas, si un jour je suis interviewé à TFA ou autre, dire il faut que vous arrêtiez de manger de la viande. Ça, je le dirai peut-être pas. Mais bon, par contre, on peut glisser le message dans les documents. Je serais assez partisan de commencer à envoyer ce message. Moi, ce que je voudrais dire aussi, parce que c'est vrai qu'on reproche souvent à la PMAF de ne pas parler du végétarisme, moi, je serais tenté de dire, et j'en ai eu encore un exemple aujourd'hui, que la PMAF a sans doute convaincu plus de personnes de devenir végétarien que l'Alliance végétarienne en a convaincu elle-même. Parce que nous avons accès aux médias, parce que nous avons une image d'association qui œuvre surtout pour le bien-être animal, donc on a une image d'association fréquentable, hein, parce que bon, c'est comme ça, bon ça va évoluer, mais donc on arrive à avoir accès aux médias, à montrer des images horribles à la télé, à envoyer un discours de « c'est scandaleux, il faut améliorer le bien-être animal ». Donc ça, les TFA, ils vont dire ça, on peut le dire. Dire aux gens « c'est scandaleux, il faut devenir végétarien », ça, ils ne voudront pas le dire. Donc, mais après, les gens, ils font leur petit cheminement eux-mêmes dans leur tête et ils se disent « Bon, moi, je vais devenir végétarien. » C'est vrai que là, tu es devenu végétarien après avoir vu des images insoutenables, et moi aussi, et beaucoup de personnes. Et l'autre, mon point de vue aussi, c'est que les personnes avancent par étapes. Moi, je sais que bon, j'ai commencé à faire de la protection animale quand j'avais 12 ans. Et à 12-13 ans, bon, je me posais la question de savoir s'il fallait que je sois végétarien. Très honnêtement, moi, les végétariens, je disais non, ça c'est trop extrême, faut quand même pas exagérer, faut manger de la bonne viande, mais bon. Et puis j'ai commencé, j'ai un cousin qui a une bergerie, je suis allé dans la bergerie, j'ai vu que les moutons c'était hyper sympa, franchement j'ai arrêté de manger des moutons. Après mon cousin il avait un lapin, j'ai arrêté de manger du lapin, enfin bref, petit à petit j'ai mangé moins en moins d'animaux. Et puis je me suis, sur certaines espèces, je mangeais des poulets fermiers élevés en liberté, enfin etc, etc. Donc mon degré de conscience, il s'est élevé progressivement. Hein? Et c'est pour beaucoup de personnes comme ça. Et un jour, j'ai vu des films de Compassion in Wild Farming, j'ai vu l'émission de Brigitte Bardot, là, qu'elle avait fait sur les animaux de boucherie. Et là, petit à petit, je me suis dit, écoute, ça ne suffit pas de manger de la viande d'animaux élevés en liberté ou de refuser certaines espèces. Je pense qu'il faut vraiment arrêter de manger de la viande parce que tout ça, c'est insoutenable. Tu ne peux pas cautionner ce genre de... Et c'est pour ça que moi, je pense qu'une association comme la PMF, elle a sa place, même si elle n'envoie pas un discours végétarien, parce qu'elle permet à certaines personnes de faire un premier pas. Bon, il y a des gens qui sont prêts à passer du jour au lendemain au végétarisme, hein, c'est-à-dire ils voient des images, ils ont été choqués, ils vont au végétarisme. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à faire cet effort, un effort aussi radical. Parce que depuis l'enfance, on est quand même conditionné pour manger de la viande. Hein. Moi, je peux vous dire que j'ai été à Bon-Lorin, par exemple, à manger de la plate charcuterie avec des bols de lait, café au lait tous les soirs. Donc, arrêter de manger de la viande, c'était pas une partie bien facile. Et donc, moi, de mon point de vue, en envoyant dans un premier temps un discours que les gens sont prêts à accepter, donc... manger de la viande d'animaux élevés en liberté, c'est mieux que de l'élevage. Bon, c'est un premier pas qu'ils font et c'est un premier pas vers le végétarisme. Et c'est pour ça que je dis toujours, c'est bien qu'il y ait plusieurs associations, qu'il y ait la PMF qui se positionne comme association, oui, non, on n'est pas là pour le végétarisme, tadadi, tadada, mais après, il faut qu'il y ait une autre association qui prenne le relais, comme le cahier antispéciste, comme l'Alliance végétarienne, qui amène des tracts, etc., qui viennent dire... Il suffit pas de manger que de la bonne viande, j'aime pas ce mot-là, vous m'excuserez, mais enfin bon. Il suffit pas de manger que de la bonne viande, il faut aller plus loin, parce que de toute façon, faut pas rêver dans les abattoirs, il y aura toujours des problèmes, même si on vous dit qu'il y a des bonnes réglementations, etc. Et là, vous pouvez envoyer ce discours dans un deuxième temps, quoi. Moi, c'est ma position, la façon dont je vois les choses. Mais c'est vrai que, bon, cela dit, faut pas exagérer, la PMF, elle pourrait peut-être parler un peu plus de végétarisme... glisser un mot de temps en temps. Après tout, on peut très bien dire, nous, on n'est pas là pour promouvoir le végétarisme, mais le végétarisme, c'est une solution qu'on ne veut pas renier. Après tout, pourquoi le renierait-on? Nous, on n'est pas là pour défendre les éleveurs, on est là pour défendre les animaux. Alors après tout, moi, il y aura des gens qui mangent de viande, mais ce sera pour les animaux. Bon, effectivement, je crois que ça ne serait pas une mauvaise chose. Et maintenant que les mentalités ont un peu mûri, que le végétarisme, moi, j'avais un peu le sentiment, commence à être mieux admis en France, on pourrait, ouais, effectivement. Effectivement.
Il y a Lucie, Dominique, Claire, François, Antoine, Flo.
Tout le monde, pas.
Après Jean-Pierre.
Ah, c'était juste pour revenir.
Donc, Lucie. Oui, moi je vais vous dire ici qu'on a dit, mais sinon, je trouvais que de ce que je comprends de la position de la PMF, qui ne veut pas choquer, ça avait l'air un peu de dire, on n'est pas là pour dire stop, c'est scandaleux, arrêtez la viande. Du coup, il y a des choses intermédiaires, ça ne me semble pas complètement incompatible de ce que j'ai vu des tracts où à la fin c'est qu'est-ce que vous pouvez faire vous. Il y a plusieurs choses dénoncées et je vois très bien dans la liste devenir végétarien et que ça ne serait pas un truc que les gens prendraient ou bloqueraient dessus. Même si en plus de cette liste, même si je ne suis pas forcément d'accord, mais dans votre optique, j'imagine très bien qu'il pourrait y avoir, là je disais des œufs par exemple, si vous mangez des œufs qui coulent avec dans le canard, tout ça, et puis ne pas manger d'œufs. Ça ne me paraît pas un discours qui. Soit vraiment choquant,
oui, c'est
qui
vrai.
Vous met dans une position de dire ils sont extrémistes là,
ouais.
Même si, en plus de ce que vous mettez déjà,
écoutez,
je
sais qu'en Angleterre, Compassion in Wolf Farming, hein, c'est bon, on est la même association, eux ils le marquent sur leur tract, pas toujours, mais de temps en temps, donc acheter free range, hein, free farming en plein air ou autre, ou vous pouvez aussi devenir végétarien, envoyez-nous une enveloppe tabulaire, on vous envoyera des enveloppes. Nous, on n'a pas voulu le faire au début, on s'est dit en France, les gens ne sont pas prêts. Maintenant, encore une fois, les gens sont prêts et je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'on pourrait commencer à le mettre. Je ne dis pas qu'on va le faire, parce que moi, il faut que j'en parle au conseil d'administration, etc. Mais, en discutant, je suis assez d'accord avec votre point de vue. Je pense qu'on pourrait commencer à le faire, ouais, je suis assez d'accord avec vous. Et c'est vrai que si on est assez soft dans... Oui, je pense pas qu'on choquerait. Oui, non, mais vous avez raison.
Et sinon, je voulais juste dire un truc juste par rapport à l'IPLTM, mais bon, je ne sais pas, c'est juste, je ne sais pas tout ce qui se passe, peut-être que je suis à côté de la plaque et qu'en fait, il y a vraiment une énorme horreur là-dessus. Ça ne me paraît pas de ce que j'en vois. J'ai l'impression qu'on se focalise sur un truc un peu facile.
Entièrement d'accord avec vous.
Et que et puis après, je ne sais pas, moi, ça pose d'autres problèmes. Si ça ne se passe pas comme ça, ça veut dire qu'il y a des animaux qui vont être transportés, tout ça. Le transport, c'est un énorme problème. On ne sait rien, c'est juste, pour moi, c'est un gros sac de nœuds.
Moi je suis entièrement d'accord avec vous. L'Aïd el-Kébir, c'est un truc spectaculaire qui concerne un nombre relativement restreint d'animaux par rapport aux autres problèmes liés à l'élevage, au transport, etc. Et je trouve qu'on en fait un peu beaucoup par rapport à l'Aïd el-Kébir, par rapport aux autres problèmes. Le problème qu'il y a, pour être très honnête, c'est que c'est quelque chose qui est horrible, qui est très médiatisé, qui est ceci, qui est cela, et que les gens, les membres. Vous savez, ce qu'on disait tout à l'heure, souvent les protecteurs des animaux n'ont pas une réaction très rationnelle, ils réagissent beaucoup d'une façon émotionnelle. Donc comme il y a beaucoup de sang, c'est en plein air, etc., les gens nous appellent, c'est horrible, il faut que vous fassiez quelque chose, qu'est-ce que fait la PMF, nanani, nanana. Donc nous, un peu sous la pression de nos membres, etc., on a été obligés d'investir beaucoup, parce que bon, c'est aussi nos membres, ils nous donnent de l'argent, on est aussi un peu obligés de faire un peu ce qu'ils veulent, quoi. C'est quand même un peu la même chose. Donc on a été un peu obligés de se concentrer sur ces aspects. Mais moi, je suis d'accord avec vous, c'est un peu le truc facile qu'on voit comme ça, qui tape à l'œil, qui est facile d'être contre, etc. Et puis finalement, les gens, ça les touche direct, ça les touche pas directement. C'est facile de dire, moi je suis contre les kébir, c'est absolument dégueulasse, et de continuer à manger son poulet qui a été ébouillanté en se disant, moi j'ai bonne conscience, moi mon poulet il a été tourné correctement dans l'abattoir. Je trouve ça un peu facile. Mais c'est un peu aussi, c'est pour ça aussi que la PMF ne peut pas s'occuper par exemple des corridas, parce qu'on dit, bon, il y a des associations spécialisées qui s'en occupent, on est absolument contre les corridas, mais ça concerne un nombre relativement restreint d'animaux, peut-être 1000, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais je pense que ça touche peut-être 1000 taureaux par an. Et puis c'est le truc un peu spectaculaire, tout le monde se concentre, c'est horrible, c'est machin, mais bon, moi je regrette, il y a des animaux dans les abattoirs, ils sont peut-être autant, voire plus que... Et il y a beaucoup moins de personnes qui se préoccupent de ce qui se passe dans les abattoirs. Donc je suis un peu d'accord avec vous. Ouais.
Oui, je voulais parler donc de la démarche de la PMAF. C'est vrai qu'ils ne disent pas devenir végétarien. Mais nous, avec Karine, etc., on a deux petits groupes sur Paris et tous les samedis, on distribue donc des tracts de la PMAF à des gens. Puis on parle beaucoup avec eux. Alors actuellement, on le fait devant des monoprix. Donc les gens, ils prennent ce samedi, ils prennent les tracts et comme ils font la queue, ils les lisent pendant la queue. Et il y a des gens qui sortent complètement effondrés parce que d'une part, ils disent, mais on n'était pas au courant, il faut nous dire ça, on ne le savait pas. Et puis d'autres, là, un jeune homme qui dit, ah, moi je ne mange pas de viande ce soir, mais j'espère qu'il en mangera pas non plus le lendemain. Mais en fait, moi je me dis, en riant un petit peu, parce que je dis, cela arrive beaucoup, je dis, mais s'ils sont très très rusés, ils disent, mangez de la viande, mais ils donnent des prospectus tellement durs qu'on se dit, ah ben non, moi je ne peux pas en manger. Finalement, sur beaucoup de gens, donc toi, moi et beaucoup d'autres que j'ai rencontrés, eh bien, ils ne disent pas devenir végétarien, mais les gens, ils le deviennent parce qu'ils ne peuvent plus supporter cette idée de souffrance, parce qu'ils voient les animaux de batterie, et puis ils savent bien que c'est la majorité. Alors que si on montrait une vache paisible dans un pré, on dirait, ben, elle est heureuse, donc bon, il faut qu'elle meure un jour, pourquoi pas. Donc là, il y a ça. Et puis nous, on joint quelques feuilles de présentation qu'a fait Karine, qui est justement la première. Bon, si vous voulez encore manger de la viande, nous vous recommandons, etc. Une deuxième, conseil diététique. Alors, on leur montre que la viande, c'est pas très bon. Et troisième, si vous voulez devenir végétarien. Donc, il y a toute une progression qui fait que les gens, ils lisent les trois. Et puis, donc, à partir de là, et puis, on peut leur expliquer. Et donc, on a des grands panneaux avec un élevage de porc. Mais moi, j'aimerais mieux maintenant un élevage de poulet, je dirais pourquoi après, parce que les porcs, elle, c'est Karine qui l'a pris au mois de Pâques, là, en Bretagne, et donc et avec des grands, alors il y a des photos vraiment très expressives et très dures, et puis l'explication de l'élevage du porc de sa naissance jusqu'à sa mort, notamment avec les truies qui sont sur le côté et qui ne peuvent pas bouger, etc. Et alors on se met par exemple, on a trouvé un truc, il y a un magasin qui s'appelle Attac. Et juste en face des caisses, il y a des grandes vitres. Donc nous, on se met pendant les vitres et les gens, pendant une demi-heure, une heure, ils voient ça. Donc ils sortent et puis ils viennent discuter avec nous. Et souvent, il y a des gens qui nous disent, nous, on ne peut plus manger de viande parce que le choc est tellement grand qu'ils ne pensent pas végétarien. Ils ne veulent plus, quoi. Ils sont dégoûtés. Ceci dit, moi j'ai vu, alors pour parler des poulets, ça c'est autre chose, parce que j'ai vu dans un numéro de Pour la Science qui est ici, là, qu'on peut regarder, que la pyramide de la nourriture avait changé, que tout en haut c'est les viandes rouges, et puis que de plus en plus on mange de poulets, et qu'on voit de plus en plus d'élevage de poulets, et les gens quand ils vont dans ces supermarchés, ils achètent beaucoup de poulets. Moi j'aimerais bien avoir
ça, pas mal
de
d'œufs
sur les poulets, mais c'est un grave problème. Voilà, donc... voilà, je crois que c'est tout ce que je voulais dire à ce sujet-là.
Oui,
voilà.
Parce que...
excuse-moi, je vais rajouter juste une petite chose. Est-ce qu'on fait, tout le monde peut le faire. Allez, le samedi, devant les... ça demande du temps, c'est vrai, mais comme on peut se remplacer, d'une part, et que d'autre part, les gens viennent vers vous, c'est incroyable, devant les monoprix. Ah, on a toujours du monde qui vient vers nous, qui demande des explications. Voilà, donc, et on parle beaucoup, c'est-à-dire, c'est pas tellement c'est distribuer des tracts, mais aussi de parler. Et je pense que Jérôme Bernard Pellet a demandé aussi des vidéos.
Ah, oui.
On va, il y a pas des DVD, etc. Ouais. Donc, si tu peux nous donner des tuyaux. Et on va aussi installer peut-être sur ordinateur portable, ou je sais pas, parce que c'est plus simple, tant que la police ne les pose pas, bon. Et on va installer des vidéos, parce que ça, c'est encore plus choc. Ce que fait déjà quelqu'un qui s'appelle Nathalie Hulot, elle le fait déjà au métro commerce.
C'est super.
Ouais. Et ça, vraiment, ça marque les gens. Hein.
Mais c'est vrai que pour en revenir au poulet de chair, ça serait que moi je trouve ça très attristant. Par exemple, je ne sais pas quelle est votre position, mais moi je suis absolument contre la PMF par exemple. On est absolument contre le discours qui tente à dire ne mangez pas de viande de cheval, il faut arrêter de manger de la viande de cheval. Bon, moi je trouve qu'à cheval, bon moi j'adore les chevaux, hein, mais j'adore aussi les vaches. Et je ne fais pas de différence entre une vache et un cheval. Et en plus, autre problème, c'est que c'est vrai que les gens se détournent de plus en plus de la viande rouge et s'orientent vers les viandes blanches qui paraissent plus saines, moins grasses, etc. Mais moi, je serais tenté de vous dire que je préfère autant qu'on mange un cheval qu'il sera tué. Bon, en plus, c'est un animal que dans les abattoirs, on respecte davantage parce qu'il est noble, nanani, nanana, c'est la grosse bête. Bon, plutôt que qu'on tue 50 ou 200 poulets, qui vont souffrir aussi bien plus, sans doute, quoi. Donc, enfin, l'idéal, c'est évidemment de ne pas manger du tout d'animal.
Voilà, mais quand même, quand les gens voient ce choc, parce qu'on les informe, ils ne sont pas du tout au courant que ça se passe comme ça, puisque justement, l'avantage, entre guillemets, des abattoirs, pour les abatteurs, c'est qu'on ne les voit pas, c'est caché, et que les gens ignorent totalement. Et moi, j'avais vu il y a déjà assez longtemps que les enfants, par exemple, quand ils voyaient le poisson en petit carré, ils ne s'imaginaient pas du tout que c'était un poisson. Si on leur demandait qu'est-ce que c'est ça, ils disaient du poisson, mais ils ne réalisaient pas du tout que c'était le poisson qui était dans l'eau. Donc, de même, les gens, quand ils mangent de la viande, jamais ils pensent qu'il y a des abattoirs et ils ne le savent pas, donc il faut leur dire quoi c'est tout.
Moi, pour l'histoire de l'Aïd, je ne partage pas tout à fait le point de vue de Lucie. Pour moi, c'est important. Évidemment, je suis adhérente. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, j'avais discuté avec David Boubalker, le recteur de la mosquée de Paris, et avec aussi un grand rabbin, j'ai fait un triplé, avec aussi un curé. Et donc j'avais passé les dossiers faits par l'OABA sur l'Aïd El-Kébir, et Boubalker m'avait dit, oui, nous on n'est pas contre l'étourdissement, on peut étourdir les animaux, ça n'est pas interdit dans la pratique musulmane. Donc je trouvais ça bien. J'ai trouvé le rabbin moins ouvert, bon, moi je suis juive, tu le sais, je trouvais que le rabbin il m'a plutôt envoyé sur les roses, il m'a dit... vous êtes végétarienne, c'est votre affaire. On ne fait pas souffrir les animaux de toute façon dans l'abattage rituel. Je dis ça, j'en doute très fort. Donc, en plus,
c'était qui le rabbin
C'était le rabbin Sira, que j'admire par ailleurs, mais là j'étais un petit peu déçue. Quoi. Et ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas comment c'est pour les musulmans, mais chez nous les juifs, quand on est dans un pays, on doit adopter la loi du pays. Quoi. Donc, c'est vrai que l'abattage rituel me pose problème, même en tant que juif. Quoi. Et ce qui me pose problème, c'est vrai, je veux dire, j'ai connu des gens qui ont visité des sites dérogatoires, ils m'ont dit c'est dantesque. Évidemment, c'est aussi dantesque que dans un abattoir. Mais il y a aussi le problème de ces gens qui ne savent pas tuer les animaux dans les sites dérogatoires et qui font ce qu'ils veulent, alors que dans certains pays, l'abattage rituel est interdit. Enfin, pas l'abattage rituel, mais l'Aïd El-Kébir est interdit. Je crois en Suisse, l'Aïd El-Kébir est interdit. Et je t'ai gardé cet article qui est paru dans l'actualité juive sur les polémiques. En Angleterre, il y a une grande campagne qui est lancée contre les abattages rituels, donc, qui vise essentiellement la communauté juive. Et un petit peu moins, les musulmans sont moins présents que les juifs en Angleterre. Quoi. Donc les juifs se sont sentis attaqués, si tu veux. Et moi, je trouve que pour mener des campagnes comme ça, c'est bien d'être entouré de gens de la communauté concernée, pour ne pas être accusé de raciste. Quoi. Alors évidemment, il y a cette campagne PITA aussi, Holocauste. Moi j'ai dit je ne suis pas prête à soutenir, éventuellement, bien que je sois d'accord avec cette campagne, je ne suis pas prête à soutenir dans le fait, enfin, dans l'actualité des choses où la communauté juive est quand même assez menacée en France. Donc je crois que cette campagne ne viendrait pas au bon moment, peut-être plus tard, tu vois. Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, quand il y a eu la tremblante du mouton, je crois que c'est le recteur Boubalker qui a dit on n'est pas obligé de tuer les moutons. Tu vois, on n'est pas obligé de tuer les moutons pendant la
guerre.
Bon. Alors pourquoi on n'est pas obligé de les tuer quand ils ont la tremblante et puis après on est obligé de les tuer? Donc je trouve qu'il y a une sorte d'hypocrisie de la communauté musulmane et sûrement aussi d'autres communautés, je veux dire, mais en l'occurrence il y a une sorte d'hypocrisie. Ils se servent du mouton pour fédérer un sentiment d'identité communautaire et ça me gêne, quoi. C'est toujours l'animal qui fait les frais de cette colle identitaire qui m'énerve, quoi. Enfin bon, bref. Donc oui, c'est vrai que ça me pose problème, l'Aïd, mais l'abattage rituel me pose problème. Ça, c'est sûr, en général, que ce soit les Juifs ou les Arabes, ça me pose problème. Ensuite...
Les musulmans. Pas les Arabes.
Les musulmans, oui. Il y avait autre chose que je voulais dire aussi, c'est Bon, j'en avais déjà parlé avec toi, mais pendant la vache folle, ça m'a vachement affolé le silence des associations. Ça m'a vachement fait mal, quoi, tout ce silence devant tous ces meurtres. Je voudrais savoir si un jour ça se reproduit, je voudrais pas que ça se reproduise de même, ce silence qui a eu vraiment assourdissant dans d'autres pays. Il y a eu des choses qui sont faites en Allemagne, aux Pays-Bas, et chez nous, rien, le silence vraiment assourdissant, pas seulement de la PMF, mais de d'autres, quoi. Donc, je me dis, est-ce que quand même on fera quelque chose si jamais ça se reproduit, c'est massacre.
De la vache folle, bon, si nous on a fait des choses, hein. Par exemple, je me souviens, j'aurais pu me rentrer trop dans les détails, mais au Royaume-Uni, c'était interdit de consommer une certaine partie de l'animal, là, des bovins, je ne sais plus c'était laquelle, le thymus ou un truc dans le genre, et ce n'était pas le cas en France. Bon, moi j'ai écrit à l'Académie de médecine de Paris pour attirer leur attention là-dessus, sur ce point vraiment très spécifique, alors que c'était interdit depuis 2 ou 3 ans au Royaume-Uni, ce n'était pas le cas en France. Et 3 jours après, bon, l'Académie de médecine s'est bien gardée de me répondre, mais 3 jours après, elle a pondu un communiqué officiel disant « l'Académie de médecine demande que soit interdit, comme en Angleterre, la commercialisation du thymus ou je ne sais pas quoi ». Et ça a donné lieu à un grand article dans le Figaro, et puis d'ailleurs, après, ça a été interdit. Bon, donc c'était très bien parce que... Enfin bref. Donc on a fait un certain nombre de choses. Je me souviens plus, ça date un petit peu. On a sans doute réagi par rapport à ces abattages massifs, etc. Le problème, c'est que si tu veux, les journalistes, ils reçoivent un communiqué de presse de la PMF disant la PMF dénonce l'abattage des bovins dans le cadre de la vache folle. Bon, pas franchement une information très excitante, hein, tu vois. Donc nous, nos positions, elles n'ont pas été relayées par les journalistes parce que ça les intéressait pas... Ah, pour la fièvre afteuse. Ouais.
Je veux dire, pour moi, le but, pour la première, quoi, tout ce que j'ai fait, c'est pas grand-chose. Il y a d'autres qui ont fait peut-être des petites choses, mais...
Ah, mais je suis d'accord, ouais.
Par rapport à ce silence. Quand j'en ai parlé à d'autres associations, ils m'ont dit, de toute façon, on les tue, alors c'est pas grave, ils m'ont dit ça, mais de toute façon, on les tue.
Ouais.
Alors, je dis, oui, mais quand même, c'était l'occasion unique de parler de végétarisme aussi.
Oui, absolument.
Là, même des gens de ma communauté qui ne sont pas plus sensibles aux animaux, ils m'ont dit quand on a vu ces charniers, on a pensé à ce qui allait toucher notre peuple. Ça, c'était une occasion perdue pour rebondir sur le sujet.
Ouais. Non, mais pour ce qui est de la PMF, c'est sûr que nous, par exemple, la crise de la fièvre afteuse, on a loupé le coche, quoi. Mais bon, le problème de la PMF, c'est qu'on est quand même une toute petite équipe. En plus, durant cette année-là, on a eu énormément de problèmes avec le personnel à la PMF. Donc ça a vraiment créé beaucoup d'histoires. Et moi, j'ai dû me concentrer sur ces aspects-là. Et donc, bon, et puis en plus, on a les autres campagnes qu'on met en place, qu'on est obligé de suivre. On ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain parce qu'il y a un événement et suspendre des actions qu'on a préparées sur plusieurs mois, etc. Donc c'est vrai que, bon, moi, ça, je suis tout à fait d'accord, on n'a pas été assez présent au moment de la fièvre afteuse. Et s'il y a des crises comme ça, j'espère qu'on pourra mieux réagir. Et nos membres nous l'ont reproché, hein, on a eu beaucoup d'appels de gens qui nous l'ont reproché. Voilà. Enfin, c'est aussi pour ça que la PMF et les autres associations efficaces, il est important qu'elles se développent et qu'elles aient plus de moyens pour pouvoir avoir de ce qu'on appelle, nous, des campaigners, hein, des chargés de campagne, des gens qui puissent... suivre ses dossiers, réagir quand il faut et réagir le jour même, etc. Quoi.
Juste pour finir, tu as dit une petite phrase. Tu as dit on a fait plus de végétariens qu'alliances végétariennes. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est certainement vrai.
Mais c'est pas difficile.
Comment ?
Malheureusement, c'est pas difficile.
Mais paradoxalement, j'entends souvent ce discours de la part de végétariens. Ils me disent oui, mais si la PMF avance, si vraiment les conditions de vie s'améliorent, il n'y aura plus de végétariens. Tu vois le truc ?
Non, mais je suis un peu d'accord avec toi. C'est un problème qui me pose franchement un problème de conscience. Parce que c'est vrai que quand on dit aux gens acheter que de la viande d'animaux élevés correctement, par exemple, en ce moment, on travaille sur un dossier qui fait l'analyse des cahiers des charges de tous les labels de qualité, label rouge et label bio, pour dire aux gens, bon ben voilà, le label rouge, il autorise que les poulets aient tant de mètres carrés dans le bâtiment, qu'ils aient tant de mètres carrés quand ils sortent, il interdit le débécage, tadadi, tadada, pour montrer aux gens quels sont les labels de qualité qui apportent vraiment des garanties pour le bien-être animal. Alors, il est certain qu'il y a un certain nombre de personnes qui vont se dire, moi, j'achète les bons produits, donc j'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai pas besoin d'aller jusqu'au végétarisme. Et qui peut-être ne franchiront pas le pas du végétarisme parce qu'ils se diront, maintenant c'est bon, j'ai fait ce qu'il faut et j'en fais assez. Mais d'un autre côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est là qu'après il serait souhaitable que d'autres associations viennent derrière la PMAF pour dire, non mais attends, les labels de qualité c'est bien beau, mais bon, faut pas rêver quoi, ça reste, je sais pas combien, 30% des poulets commercialisés dans les supermarchés, c'est des poulets label rouge, et tu vas pas me faire croire qu'ils sont tous égorgés sans qu'il y en ait un qui passe en étant égorgé sans être étourdi, c'est pas possible. Mais nous, on peut pas à la fois promouvoir les labels de qualité et dire que c'est pas suffisamment fiable, parce que tu vois ce que je veux dire. Mais je sais pas, oui, il oui, faut aller travailler quand même un peu différent d'une autre. PITA, je pense pas que PITA fasse la promotion des... Est-ce que PITA dit acheter du poulet fermier, le vent liberté? Je pense pas qu'il tienne ce discours, non. Donc nous, on se place encore un peu plus que PITA sur l'aspect vraiment amélioration des conditions d'élevage. On est quand même encore à un créneau un peu différent de PITA. Mais c'est vrai que cela dit, bon, c'est vrai ce que tu dis, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi et ça me gêne un peu. Ça me gêne de dire aux gens... Si vous achetez du poulet fermier élevé en liberté ou du veau élevé sous la mer, eh ben, les animaux seront mieux élevés. Quelque part, au fond de moi-même, ça me gêne, c'est sûr. Mais il n'y a pas de solution idéale, quoi. Je crois que... Bon, et on ne peut pas tenir... Bon. C'est difficile. C'est pour ça que moi, je suis assez partisan de... Les gens nous disent toujours qu'il faudrait qu'il n'y ait qu'une grande association de défense des animaux. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est comme dans l'expérimentation animale. C'est bien qu'il y ait l'association... qui disent moi je suis pour le développement des méthodes substitutives, l'autre qui disent moi je veux l'abolition totale, l'autre qui disent nous on veut pas l'abolition de la vivisection mais on veut améliorer les conditions de vie des animaux dans les laboratoires parce qu'après tout le peu qu'on obtiendra pour améliorer les conditions de vie des animaux pour les animaux dans les laboratoires, ça sera toujours ça, une souffrance au moins pour les animaux. Donc moi je pense que c'est bien qu'il y ait plusieurs associations, chacun fait avancer le schmilblick quoi. À sa façon, et bon, au final, je pense que les animaux s'y retrouvent. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est se taper dans les... C'est se tirer, hein, faut pas qu'on se batte entre nous. Ça, c'est une perte d'énergie, c'est ridicule. Mais bon, enfin, moi, c'est mon point de vue.
Juste pour terminer, je ne sais pas si tu es au courant, il y a un livre qui s'appelle « Manger moins de viande », écrit par, je crois, Garance Lheureux, et dedans, il n'y a que des recettes végétariennes. Quoi. C'est un petit livre qui doit coûter 3 euros. 3 euros.
Ah bah si, édition La Plage, enfin, je l'achète.
C'est pas mal, je trouve que c'est un livre qui marche bien sur les stands parce que le titre n'effraie pas et dedans il n'y a que des recettes végétariennes. Quoi.
Ah oui, bah ça c'est le genre de livre qu'on pourrait
mettre sur ton catalogue peut-être. Ouais. En tout cas, il est sur le catalogue d'Alliance Végétarienne.
Ah, bah, ouais. François ?
Oui. Alors, moi je voulais revenir sur la question des transports qui avait tout à l'heure, qui est apparemment l'action sur laquelle vous. C'est pas mal actuellement. Il y a des réglementations concernant les animaux, mais concernant les routiers aussi, parce que le routier aussi souffre énormément, il y a des lois qui ont été créées pour ça. Absolument. Comment le routier peut faire un trajet de 27 heures? Normalement, alors, ce là déjà, c'est interdit, non?
Eh ben, les chauffeurs ils doivent s'arrêter toutes les 4h30, je crois, avoir 45 minutes de repos, ils peuvent repartir 4h30. Enfin, bon, dans ce cas-là, je crois que le chauffeur il n'avait pas respecté la réglementation, ça c'est sûr. Comment ?
Pour
surveiller. Ah bah de toute façon, je vais vous dire, les gendarmes, ils nous disent, si on arrête un camion, parce que moi, nous, quand on leur demande à Poste Frontière d'arrêter les camions, ils nous ont dit, si vous voulez, je les arrête tous, ils seront tous en infraction. Ouais. Parce qu'ils seront tous en surpoids, sur un camion, on trouve forcément une infraction. Et en l'occurrence, là, au milieu de la route, là, quand on arrive en Italie, au petit matin, il y a le patron du chauffeur qui est venu. Dans le cas de ces voyages qui a duré 27 heures, il y a le patron qui est venu, qui a pris la relève. Mais il était quand même en infraction. Hein, bon. Ouais. Donc c'est vrai que, cela dit, c'est un argument qu'on n'utilise pas assez, qu'il faudrait qu'on passe à utiliser pour à solliciter les gendarmes pour qu'ils sanctionnent les chauffeurs.
Ouais, ça, ce que je veux dire aussi, c'est que si les gendarmes ne sont pas capables de surveiller une loi qui concerne les humains, donc avec lesquels ils sont a priori possibles, s'ils ne sont même pas capables de faire appliquer celle-là, les lois concernant les animaux, elles sont encore bien loin derrière.
Ben, ça dépend, parce que si vous voulez, quelque part, quand les gendarmes, quand vous allez, les gens, ils nous ont dit, soit alors il y a les fans des animaux, il y en a, hein. Notre brochure gendarme, j'ai eu la semaine dernière un motard qui est à Nice, c'est super, il faut absolument que j'aille le voir. Sur l'autoroute à Nice, c'est stratégique parce que c'est par là où les animaux, quand ils vont en Italie, ils passent soit par Nice, soit par le tunnel du Fréjus. Donc c'est vraiment important. Et alors lui, il est hyper motivé, puis il m'a dit, ouais, vous comprenez, la dernière fois, j'ai arrêté un camion qui transportait des animaux et il n'y avait pas d'eau. Alors je lui ai demandé pourquoi, et en fait, c'est parce que le système pour abreuver les animaux était parfait. Alors il l'a réparé devant moi et tout, et puis il me dit, j'ai pris la bouteille d'eau du gars, je l'ai ouvert et je l'ai vidé. Et le gars, il m'a dit, il a commencé à gueuler et tout, et je lui ai dit, mais les animaux, ils ne boivent pas, alors vous n'avez pas besoin de boire. Vous voyez, ça c'est génial. Donc il y a quand même des gendarmes, je veux dire, qui sont sensibles comme nous, quoi, qui sont à fond pour les animaux, qui. Nous on en connaît, on en a quelques-uns, quoi. Enfin franchement, il faut mettre des choses que moi j'oserais pas faire, notamment ça. Voilà, on va pas les engueuler. Hein. Et c'est si vous voulez, nous, la brochure, elle va être adressée à toutes les brigades de gendarmerie. Il ne faut pas rêver, il y a sans doute un certain nombre de brochures qui vont aller à la poubelle. Bon. Sur les 150 000 gendarmes, si on arrive à en sensibiliser 250 qui sont à fond avec nous et qui disent « Moi, ça m'intéresse, ça, je veux devenir dans la brigade de gendarmerie le spécialiste des animaux, parce qu'ils sont, bon, ils sont souvent, ils se spécialisent sur un domaine ou dans un autre, hein. » Eh bien, franchement, on aura gagné la partie. Parce que si on arrive à augmenter ne serait-ce que 10 ou 15% les contrôles de camions qui transportent des animaux, ça sera déjà bien. D'autant plus que bon, on va continuer ce travail. Puis nous, on fait un travail de relationnel avec les gendarmes. Ce qu'on aimerait faire aussi, c'est on va développer d'autres outils. On va faire un site internet qui va être destiné uniquement aux gendarmes et aux CRS pour leur expliquer la réglementation, les informer quand la réglementation elle évolue. On va voir les brigades de gendarmerie quand on se balade. Là. Bon, là, en ce moment, j'ai autre chose à faire, mais quand on vient dans une région, bien souvent, on va voir les brigades de gendarmerie sur l'autoroute, on va se présenter, on va aller leur remettre la brochure, bon, et puis ils sont contents. Vous savez, la brochure, avant qu'elle soit faite, on l'avait fait une photocopie, un projet sur papier, hein, et on était allé à la brigade de Perpignan. On avait rencontré un motard qui n'avait pas l'air du tout intéressé, mais bon, qui, vous savez, une fois, on a envie de leur foutre des baffes, puis ils sont là, comme on a l'impression d'avoir des cow-boys, là, bon. Bon, il n'avait pas l'air du tout intéressé, mais bon, il disait oui, ça m'intéresse, ouais, ok, bon, je verrai ce que je peux en faire et tout. Bon. Une semaine après, on suit un camion, coup de chance, on passe par Perpignan, on appelle une brigade, c'est la fameuse brigade de Perpignan sur l'autoroute. Tous les gendarmes, ils sont venus nous voir, c'était la nuit à minuit, hein. Tous les gendarmes sont venus nous voir, alors déjà notre petit dépliant, là, que vous avez vu, il était affiché sur le tableau dans la brigade, et ils nous ont dit. Ah oui, c'est vous qui avez fait cette petite dépliant là et cette brochure, c'est vous qui l'avez fait, oh, on l'a vu, c'est bien, ça nous rend bien service. Donc je pense que ça peut vraiment avoir un impact. Et je pense qu'on peut vraiment. Alors l'autre chose qu'on peut faire aussi, qu'on envisage de faire, c'est aller faire des entre guillemets des formations. Quand on parle avec les gendarmes, il faut vraiment faire attention. Hein. Parce qu'alors, il y a une chose qu'ils ne veulent surtout pas, c'est que il faut bien faire comprendre que montrer que c'est eux qui ont l'autorité, c'est eux les chefs. Que nous, si nous on vient, on est là, on est tout gentil, et bon, je me suis dit, oui, non mais bien entendu, est-ce qu'on peut faire ça? Parce que si on commence à dire ouais, il faut faire ça, ça, la fait, ça ne met pas. Hein. Donc bon, il faut faire vachement attention à son langage, comment on parle et tout, bon, parce qu'on risque de. Et donc, une chose qu'on veut faire, c'est des formations dans les brigades de gendarmerie, en fait, parce que c'est divisé en départements, en grandes régions, hein, donc faire des présentations avec PowerPoint et autres pour leur expliquer les choses. On voudrait aller aussi faire des formations à l'école de formation des gendarmes de Fontainebleau, parce que ça, ils nous en ont parlé, plusieurs gendarmes nous en ont parlé. Mais le problème qu'il y a, c'est que, parce que moi, de ce que j'ai vu avec les protecteurs des animaux, c'est que souvent, ils veulent aller trop vite. Leslie, elle me disait, elle engueulait tous les gendarmes, là, quand ils ne voulaient pas venir, etc. Elle disait, c'est pas normal qu'ils ne veuillent pas travailler avec nous et tout. Et moi, je lui ai dit, écoute, ils ne te connaissent pas, ils ne nous connaissent pas, il ne faut pas aller trop vite. Faisons nos preuves, montrons qu'on est des gens sérieux, qu'on peut les aider. Une fois qu'ils verront qu'on est des interlocuteurs valables, tu verras, toutes les portes s'ouvriront. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et je pense que. Donc voilà, quoi. Il y a encore vraiment un travail à faire. Et en plus, ce travail, nous, on l'a fait pour le. Spécifiquement sur le transport des animaux, mais bon, il y a des associations, je sais que la Fondation Bardot, ils m'ont dit, mais nous, on pourrait peut-être envisager de faire le même travail sur, par exemple, les cirques, ou sur, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme problème de protection animale auquel que doivent gérer les gendarmes, bah, ne serait-ce que les cas de maltraitance pour chiens et chats. Les gendarmes, bien souvent, ils ne doivent pas savoir dans quel cas on peut considérer qu'un chien est maltraité par rapport à la réglementation, moi j'en sais rien. Mais... Donc c'est vrai qu'on pourrait développer des outils comme ça.
Où est-ce qu'on peut trouver ces informations-là concernant les labels ? Parce que moi j'ai souvent affaire à des gens qui sont même ne serait-ce que végétariens et qui ne se posent pas la question d'où viennent leurs œufs, d'où vient le lait, tout ça. Est-ce qu'il y a des labels qui existent pour ces produits-là ? Et où est-ce qu'on peut trouver les informations ?
Alors nous ce que l'on a fait, c'est que on a pris tous les cahiers des charges label rouge et tous les cahiers des charges agriculture biologique pour voir par rapport au bien-être animal, quels sont les critères qui sont retenus, les critères minimums. Donc par rapport au logement, à l'environnement, à la méthode d'abattage, au transport, et y a-t-il une durée limitée de la durée de transport, par rapport aux mutilations, ce label autorise-t-il de couper la queue des cochons, de couper les dents, enfin, pour les canards, est-ce que les canards ils ont le droit à un bac d'eau bon, pour chaque espèce, on a étudié chaque chose. Et alors attention, ouais, c'est un truc illisible. Enfin, par exemple, le cahier des charges, je ne sais pas, pour les truies, c'est 70 pages avec des termes incompréhensibles sur les vitamines, les machins, les trucs. Enfin bref, c'est incompréhensible. Donc nous, on a passé un temps pas possible à sortir de ces cahiers des charges les informations essentielles, propres au bien-être animal, et on les a mis sous forme de tableau. Alors ce travail, il est pratiquement terminé. On est en plein dedans. On a commencé à faire le design des tableaux, et on va publier une brochure, enfin pas une brochure, une espèce de dossier de presse avec des fiches par espèce qui présentera ben voilà ce que c'est que le bio, voilà ce que c'est que le poulet label rouge ou le veau label rouge, voilà ce qui est positif. Alors par exemple pour le veau label rouge, le veau élevé sous la mer, ce qui est positif c'est que ben, il continue à aller voir la mer régulièrement. Ce qui est négatif, c'est que les veaux élevés sous la mer label rouge, parfois, ils ne restent pas tout le temps avec la mer. Ils sont élevés dans des petits box et ils sont conduits à la mer deux fois par jour. Ce qui, mon point de vue, est absolument inacceptable. Mais bon. Je sais, par exemple, les truies, on va dire, bon, bah, ça fait bien, mais par contre, les truies, elles peuvent être transportées autant d'heures qu'on veut parce qu'il n'y a pas de limitation au niveau de la durée des transports. Donc, ça, il faudra améliorer. Donc, comme ça, les gens, ils sauront si, de leur point de vue, c'est suffisamment acceptable ou pas. Les normes de bien-être animal qui sont présentées, quoi, qui sont exigées par les cahiers des charges, et ils décideront si vous ou non ils peuvent accepter cette viande ou pas. Nous, notre stratégie, c'est de faire comprendre aux professionnels de l'élevage que le bien-être animal peut être un argument commercial pour vendre davantage. S'ils se rendent compte qu'en prenant plus en compte le bien-être animal, ils arriveront à vendre davantage de poulets, de cochons, de viande de dinde, etc., ils vont essayer d'améliorer leur cahier des charges. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire ce travail. Et donc, pour répondre à cette question, cette brochure, elle devrait être publiée sans doute en octobre, novembre ou décembre. Ça sera sous la forme d'une brochure avec des fiches. Et on va aussi faire un petit dépliant de façon à ce que les gens, quand ils vont dans les supermarchés, s'ils veulent acheter... Par exemple, des œufs, bah, qu'ils sachent qu'ils regardent leur petit dépliant, ils voient le petit dessin à eux, ils savent que bon, pour eux, il faut qu'ils regardent est-ce qu'il y a la mention de poulet élevé en plein air. C'est important parce que vous savez, les œufs, souvent on voit des œufs vendus dans des grands paniers avec de la paille. Or, ma mère, ouais, franchement, elle dit oui, j'ai acheté des œufs de poulet élevé en plein air, regarde, je les ai achetés, ils étaient dans un bac sur de la paille. Je dis mais c'est des œufs de batterie, hein, faut pas rêver, ils étaient dans un panier avec de la paille, s'ils n'étaient pas marqués de poulet élevé en plein air. Donc souvent les gens se font avoir quoi. Donc voilà, il y aura aussi ce petit dépliant que les gens pourront avoir quand ils font leurs courses. Et ils pourront regarder ben, pour le porc, ils sauront que c'est le porc fermier élevé en liberté. C'est pas seulement le porc fermier à label rouge parce que là il n'a pas forcément accès à l'extérieur, c'est le porc fermier label rouge, avec mention, élevé en liberté, etc., etc. Parce qu'il y a tellement de labels, on s'y perd. Hein. Entre à tout certifier la qualité, agriculture raisonnée qui est de la véritable connerie, bio, label rouge, on ne sait plus entre le label bio européen, le label bio français, on ne sait plus à quoi faire confiance. Donc voilà, donc on a fait ce travail. Donc là, si tu veux, bah, il faudra qu'on demande à la PMR, on en donnera autant que vous voulez. Et en plus... Ouais, on vous l'enverra. Et en plus, on va sans doute, si on en trouve le temps et les moyens, faire un site internet. Comme ça, les gens pourront y accéder directement, quoi. Voilà, de chez eux.
Oui, il y a 8 personnes qui ont demandé la parole. J'ai trois informations. Antoine.
Oui. Je dois revenir une fois de plus sur le sujet du végétarisme, parce que j'ai parlé un peu tout à l'heure. Ça reste un des sujets importants. En fait, c'est j'ai vraiment bien entendu ce que tu as dit par rapport à ta réflexion sur ce sujet-là actuellement. Hein. Donc, c'est pas ce que je veux faire, c'est que tu ne vas pas être lourd à ce sujet-là. Je voudrais en fait donner quelque chose qui est pour moi de l'ordre de l'information. Donc, je pense que tu as besoin d'entendre pour prendre tes décisions à ce sujet-là. En fait, je fais quelque chose que je n'ai pas vraiment envie de faire, parce que je trouve que c'est injuste ce que je vais faire par rapport à ce que tu as fait pour les animaux en France, peut-être plus que toutes les personnes réunies ici en termes d'effets concrets sur la vie des animaux. Et pourtant, j'ai l'impression que j'ai un devoir de le faire, parce que ce serait malhonnête de ne pas te le dire. C'est-à-dire que c'est presque un problème entre moi et la PMAF. Alors, je te dis qu'est-ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le dis et comme je te l'ai dit tout à l'heure, parmi les gens que la PMAF a rendu végétarien, il a fortement contribué, j'en fais partie. Et la crédibilité de la PMAF, c'est-à-dire le fait que je croyais en ce qui était écrit dans vos documents sur le site web, ça comptait énormément pour moi avant de prendre ces décisions-là. Quoi. Et donc, j'ai eu tellement confiance en ce qui a été écrit, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur le net à chercher d'autres documents pour les confronter, et j'ai rien trouvé de discutable par rapport à ce que vous avez écrit, que ça m'a amené à, donc, ensuite vers le végétarisme et la cause des animaux. Et en fait, c'est là où se trouve du coup pour moi le problème, c'est-à-dire que à un moment donné, justement quand j'ai lu en fait sur vos brochures et sur le site web que pouvez-vous faire, quoi, des choses comme écrivez au ministre de l'Agriculture, je l'ai fait quand j'ai lu ça, hein, je t'avais envoyé la lettre. Si vous achetez du porc, abstenez-vous d'acheter de la viande d'élevage intensif. Donc j'ai été dans des magasins bio, ce que j'avais fait, et puis j'ai acheté pendant 2-3 mois pour la viande de bio. Et puis en fait, à un moment donné, je me suis posé évidemment la question, parce que je suis un gars vachement logique, quoi. Je me suis dit, mais ça sert à quelque chose finalement de les manger, quoi. Honnêtement, quoi. C'était même pas le point d'être végétarien. Moi, je voulais pas être végétarien, c'était des gens un peu bizarres, quoi. Mais j'avais pas envie de, socialement d'être un végétarien, quoi. Pas être part de la société, je suis vachement intégré à la société. Donc, mais, juste, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup d'arrêter de manger les animaux, quoi, ça. Surtout que ça s'appelle végétarien, quand même. Donc, du coup, je me suis renseigné sur le végétarisme. Et là, j'ai cherché d'autres sources. Enfin, j'ai cherché des sources d'informations sur le végétarisme, pour savoir est-ce qu'après tout, ça pouvait être logique de devenir végétarien, et puis aussi, est-ce que c'était mauvais ou pas pour la santé, et puis si ça avait un sens ou pas, quoi. Et du coup, vous étiez tellement crédible pour moi, la PM, que je suis retourné plusieurs fois sur le site web. J'ai relu les trucs en détail, mais vraiment en détail, quoi. Donc je me souviens effectivement de la phrase sur le site web où il y a marqué quelque chose comme « Si vous mangez de la viande, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, sur un des animaux, les bovins, je crois, hein, précisément, si tu me souviens pas. » Bon, c'est le seul truc que j'ai trouvé. Sur le reste, je me suis dit, mais non, mais alors ils disent pas que... Et donc pendant un moment, j'ai hésité, quoi. Et puis après, ça a été trop fort. L'évidence même de l'inutilité de manger les animaux lui paraît tellement flagrante que j'ai arrêté de les manger. Et là, je me suis fâché un peu avec vous. C'est-à-dire, concrètement, j'ai arrêté d'envoyer de l'argent. Je m'envoyais pas mal avant, ça a tourné ma femme. Là, un exemple concret, c'est que vous avez arrêté de recevoir des lettres de moi, quoi. Et pourquoi? Parce que j'ai perdu de la confiance. Je me suis dit, en fait... J'ai tellement cru en ce que vous disiez auparavant, parce que c'était vrai et que vous êtes crédible, et là je me suis dit, il y a un truc où en fait, il n'y a pas de mensonge dedans, nulle part. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous dites qui est faux. Mais en fait, quand on ne dit pas quelque chose, c'est dire quelque chose. Et dans le cas si évident de dire, on parle des animaux, il y a des problèmes de souffrance effroyables que vous connaissez, vous êtes des spécialistes, des experts, une notoriété sur le domaine des animaux, et vous ne dites pas que finalement ce n'est pas nécessaire, quoi. Non pas que vous disiez qu'il faille les manger non plus, mais le fait que vous ne disiez pas que c'est pas nécessaire, éventuellement de parmi d'autres choses, parmi la liste des choses possibles, quoi. Du coup, ça m'a fait croire pendant longtemps que c'était nécessaire. Et je pense que je ne suis pas le seul, en fait, parmi vos adhérents ou des personnes qui ont été touchées par vous. Et en fait, je voulais vous dire, non pas, pour que tu prennes en compte dans ta réflexion par rapport à ce problème. Alors. Juste, pardon, je complète. Par rapport à ce que tu as dit vis-à-vis de savoir, est-ce que parfois, tu as dit, j'ai un vrai problème aussi. Est-ce que quand on œuvre pour améliorer le bien-être des animaux, est-ce que finalement, on ne fait pas reculer le végétarisme parce que les pratiques sont moins horribles et du coup, on va continuer d'en consommer parce qu'on dit que ça se passe bien. Par exemple, c'est plus l'élevage rituel, c'est l'abattoir, il n'y a pas de problème. Moi, en fait, je ne pense pas du tout. C'est-à-dire que du coup, je suis presque, on peut dire, réconcilié de nouveau avec votre démarche. Je suis convaincu qu'à part sur ce problème du végétarisme, je continue de penser qu'il y a un vrai problème. je suis absolument convaincu, c'est ce que j'ai exposé aux autres ici il y a deux jours, que en fait, c'est le fait de parler des animaux pour dénoncer des pratiques révoltantes qui montrent que l'animal, c'est pas juste une machine ou une chose, mais que c'est, par exemple, quand il a soif, il souffre, mais aussi quand on le veau, on l'isole de sa mère, il souffre aussi, et il souffre aussi parce qu'il a des besoins émotionnels, il souffre parce qu'il n'est pas avec son groupe. Donc ça tend à faire prendre conscience que l'animal est un être sensible, complet, et que du coup, quand on comprend ça, c'est ce qui s'est passé avec moi à cause de la PNF, je me suis dit, j'arrête de manger des êtres sensibles, quoi. Donc c'est pour ça que je pense dire que c'est totalement complémentaire, et que le fait que vous vous concentriez sur les pratiques, comme tu disais, les plus révoltantes, que vous ayez plus de mal à parler des poissons qu'à parler des animaux qui nous regardent avec des yeux et qu'on comprend mieux, ben pour moi, c'est, je ne vous le reproche pas du tout, parce que je pense qu'effectivement, c'est ça qui touche, qui crée une révolte, comme sur les parkings des supermarchés, et qui fait que du coup, on passe à l'action, quoi. Donc c'est pour ça que je pense aujourd'hui que c'est complémentaire. Il me reste juste le problème du végétarisme, de ce mensonge par non-dit, quoi. Voilà, c'est tout.
Ouais.
Ça n'a pas vraiment une réponse, en fait.
C'est
juste
que le dire. C'est un cas que j'ai déjà connu, si je puis dire. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on voit souvent des... J'ai connu quelques personnes à la PMF qui ont suivi un peu le même cheminement que toi. C'est-à-dire, les gens arrivent à la PMF, ils découvrent la protection animale et ils se lancent dans le monde de la protection animale. Et ils militent pendant quelques mois à la PMF, 3 mois, 4 mois, ils veulent être correspondants locaux, etc. Tout d'un coup, les gens se disent « c'est pas assez, finalement, le végétarisme, c'est mieux ». Alors, ils rencontrent des copains végétariens, comme nous tous ici, on se monte tous bien la tête pour dire « le végétarisme, c'est super, c'est ce qu'il faut », etc. Puis, spatch, tout d'un coup, ils disparaissent de la PMF, ils se lancent à fond dans l'Alliance végétarienne, ils se battent pendant 15 ans, enfin, pendant un an ou deux à l'Alliance végétarienne, ils engueulent tout le monde qui bouffe de la viande, etc. Et puis souvent, on voit ces gens effectivement revenir à la PMF après 2 ou 3 années. Ça, on le voit souvent. Hein. Donc, ce que je voudrais dire aussi, c'est que, encore une fois, c'est peut-être parce qu'on n'a pas parlé du végétarisme au début que tu nous as perçus comme des gens crédibles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas, est-ce que quand tu t'es intéressé à la souffrance des animaux de ferme, tu étais prêt à entendre le discours végétarien? Parce que, tu sais, il y a des gens, je sais pas, il y a des gens, dès qu'ils voient qu'on parle du végétarisme, ils se bloquent, quoi, ils veulent plus rien entendre. Bon, maintenant, je pense que effectivement, je commence à avoir le sentiment que les mentalités ont un peu évolué, et qu'en France, les gens sont un peu plus aptes à accepter qu'on est végétarien. Moi, je le vois quand je vais au restaurant, je suis végétarien, on me regarde quand même moins souvent avec des yeux... en se disant qu'est-ce que c'est que cette bête curieuse, etc. On n'en est pas au point de l'Angleterre où quand on est invité à dîner, systématiquement on demande « vous êtes végétarien ?» Enfin, pas systématiquement, mais je sais que j'ai des copines quand j'étais en Angleterre qui m'invitaient à dîner ou à déjeuner, et puis leurs parents leur disaient « est-ce que tu as des copines végétariennes ?» Enfin bon, je pense que ça ne nous donne pas l'idée, mais enfin ça va venir.
Je réponds juste sur ta question très brièvement, s'il y a beaucoup qui veulent parler après moi. Si tu dis « est-ce que ça m'aurait changé mon opinion de PMF ?» Je ne pense pas. Ouais. Si ça avait été marqué « devenez végétarien en gros demain, etc. » une destination végétarienne sur un truc un peu particulier. S'il y avait marqué là « que pouvez-vous faire ?» abstenez-vous de l'environnement industriel, d'accord ?» Ou alors tout simplement ne pas manger de viande puisque ce n'est pas nécessaire, quoi. Tu vois, alors ouais. Peut-être encore plus soft que ça, mais ça ne m'aurait pas choqué.
Ouais, d'accord.
Puisque je l'aurais appris, je dis « ah bon, tiens, c'est pas nécessaire, je pensais que... » Tu vois.
Bah, peut-être qu'on pourrait essayer. Moi, je crois que c'est ce que vous aurez gagné au cours de cette réunion. On pourrait effectivement essayer sur les prochains tracts qu'on va éditer, marquer, écrivez à la PMF pour recevoir des recettes végétariennes ou ce genre de choses, ou de... Bon, bref.
Moi, je ne fais pas ça, mais c'est pas nécessaire qu'après on fait sa propre démarche. Moi, à ce moment-là, j'aurais été sur la végétarienne, j'avais bien compris que ce n'était pas le but que de promouvoir le végétarisme. Ça, c'est clair que ce n'est pas l'objet social, parce que j'aime, c'est de faire un mensonge là-dessus.
Mais c'est vrai, oui, je suis assez d'accord. Quelque part, c'est un mensonge. Ouais. C'est un mensonge qui met mal à l'aise parce que quand, si je passe à la télé ou dans un débat télévisé, évidemment, les agriculteurs, ils vont dire mais ce monsieur, ce qu'il veut, c'est que tout le monde soit végétarien, que nous on crève. Et moi, je vais répondre mais pas du tout. On n'est pas une association qui est là pour promouvoir le végétarisme, on est une association pour promouvoir le bien-être des animaux. Donc, c'est un peu gênant de. Alors qu'au fond de moi-même, alors bon, quand moi, ce que je dis, c'est qu'il y a la position officielle de l'association et puis il y a mes positions personnelles. Mais bon. Et
si tu dis à ce moment-là, on est là pour promouvoir le bien-être des animaux, et une manière, c'est d'améliorer les conditions d'élevage, etc., et c'est ce qu'on compte pas. Certes, une autre manière, c'est simplement de ne pas en manger pour ceux qui veulent, puisque c'est pas utile, tu vois, mais ça,
effectivement, oui, c'est vrai que ça peut être une façon de répondre, mais il est vrai que le végétarisme est une des solutions pour améliorer le bien-être des animaux, et je vois pas pourquoi on la rejetterait, on n'est pas là pour défendre les bouchers. Effectivement, pourquoi pas. Oui, non, mais c'est vrai qu'on pourrait... on pourrait essayer, faire une tentative comme ça, ouais. Non, je suis assez d'accord. Ce qu'on fait beaucoup, je sais pas, il y a Claire qui est venue faire le Tour de France de la PMAF. Souvent, quand on fait des actions des Tours de France, quand on rencontre, on demande aux gens de signer une pétition contre l'élevage en batterie ou contre les longs transports des animaux, il nous arrive fréquemment de rencontrer des gens qui sont végétariens, qui nous disent « Ah, moi, je suis d'accord avec vous, de toute façon, je suis végétarienne ». Et là, souvent, on dit aux gens, ah ben, vous connaissez l'Alliance végétarienne, et on distribue des tracts. Bon, moi, je ne le fais pas parce que je suis directeur d'association et j'ai l'obligation de veiller à garder les membres potentiels pour la PMF. Mais bon, je sais que nous, on a toujours des bénévoles, clairs, etc., qui le font, et c'est vraiment de bon cœur qu'on les laisse faire quand ils s'associent aux actions de le faire, pour le faire, quoi. Par contre, la PMF, nous, on a déjà mis un article dans le bulletin pour donner l'adresse de l'Alliance végétarienne. Je pense qu'il serait bon qu'on mette un lien internet vers l'Alliance végétarienne ou les cahiers antispécistes ou vers d'autres, ou d'autres organisations qui promouvoient le végétarisme. Mais finalement, je suis assez partisan de votre point de vue. C'est vrai qu'il serait peut-être temps qu'on évolue. Alors, encore une fois, il y a un conseil d'administration au-dessus de moi et je ne sais pas comment ils répondront à cette demande. Moi, je pense que je vais le faire sans leur en parler, mais...
C'est approprié que ça entre nous, de manière ou d'une autre, vienne par un écrit.
Ça peut être utile, oui, absolument. De toute façon, je leur dirais que j'ai été à une réunion des cahiers antispécistes où on m'a foutu la pression à que je ferais autrement.
C'était un ultimatum.
Voilà.
Il y a beaucoup de personnes qui sont antispécistes ici, mais pas tout le monde, c'est pas l'objectif des estivales.
Ah, d'accord, pardon.
C'est simplement ceux qui ont créé ces estivales sont.
Ah, d'accord, ok.
C'est d'en faire des rencontres de personnes qui, comme toi, d'autres, chercheurs intellectuels, ont différentes visions du problème de la question du mal. Par contre, ils sont tous convaincus que c'est une question de société, donc on doit débattre.
C'est très bien.
Florence. Moi, ça va être plus technique. J'aimerais savoir si vous avez des subventions d'organismes publics.
Non, pas un rond. Pas un rond, on nous a même refusé un emploi jeune à la préfecture de Moselle. Alors, on avait demandé un emploi jeune, en fait, à la direction départementale de l'agriculture, ils y étaient tout à fait favorables. À la direction départementale du travail et de l'emploi, ils y étaient tout à fait favorables. À la direction des services vétérinaires, ils n'étaient pas du tout favorables parce qu'on passe notre temps à dire que les services vétérinaires ne font pas leur boulot. Maintenant, on essaye d'être un peu plus soft parce qu'on travaille un peu avec eux plus souvent, donc... Bon, on le dit un peu plus gentiment, quoi. Quand ils ne font pas leur boulot, on va aller voir en leur disant « Excusez-nous, vous avez peut-être été maladroit là, ou peut-être que vous n'aviez pas vu. » Ouais, on essaye, mais bon, tant que ça peut aller, bon, on reste diplomate. Le jour où il faut gueuler, on gueule. Et donc, à la préfecture de Moselle, ils nous ont refusé notre emploi jeune, ce qu'on a trouvé scandaleux, donc on a demandé un rendez-vous au préfet, on a été reçu par le directeur des affaires interministérielles, qui était très gentil, très charmant, qui sourit beaucoup. Mais qui nous a fait comprendre, vous savez comment sont ces gens-là, qui sortent de l'ENA, etc., en une heure, ce qu'il aurait pu nous faire comprendre en une minute, à savoir que la PMF passe son temps à critiquer le gouvernement, les services vétérinaires, etc., et que dans ces cas-là, ils ne vont pas nous donner le bâton pour se faire battre, et que donc ils n'ont pas voulu nous donner un emploi jeune. Alors, on a essayé de remanier notre présentation, mais bon, ils n'ont pas voulu. Bon, c'est comme ça. Hein.
Ça veut dire que les défenseurs des animaux.
Pardon.
Donc, il y a 30% des revenus qui viennent de l'association Libère, mais le reste, c'est uniquement par des dons. Est-ce que c'est des cotisations, des dons volontaires, des legs? Qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, c'est surtout des dons. Bon, je vous dirais qu'il y a déjà des gens qui nous font des prélèvements automatiques, pour 5 euros tous les mois, etc. Ça, il y a à peu près, je ne sais pas, 500 ou 600 personnes, je crois. Bon, ça fait des rentrées très régulières. Et puis, c'est des dons. On envoie beaucoup de... Enfin, pas beaucoup. Bon, quand on envoie le bulletin, les gens nous aident financièrement. Ils nous envoient des dons spontanément. on fait des appels de fonds. Par exemple, il y a un appel de fonds qui va partir pour présenter la brochure, la gendarme. Parce qu'on a travaillé un an dessus, vous savez, ça a été vraiment un gros boulot. Parce que bon, mine de rien, moi je suis salarié, le temps que j'y passe, il faut bien trouver l'argent quelque part. Et bon, la personne qui a fait le design, c'était aussi quelqu'un qui travaille pour nous, qu'on a payé. Quand on allait voir les gendarmes, c'était beaucoup de rendez-vous, tout ça, ça coûte vraiment très cher. L'impression a été payée, mais bon. Donc on demande à nos donateurs de nous aider financièrement pour soutenir ce genre de projet. Oui, de dons, des adhésions, des legs, nous on peut en recevoir. En Alsace-Moselle, il y a One Voice qui n'est pas très correct par rapport à ça, parce qu'ils disent à tous leurs membres visiblement qu'on peut recevoir des legs parce qu'on est en Alsace-Moselle. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on reçoit un leg en Alsace-Moselle, il y a 60% qui va à l'État. Donc il serait peut-être bon d'être très clair par rapport à ça, que ça se sache, pour pas que les gens soient quand même bernés. Mais nous, par contre, on peut donc recevoir des legs directement, mais il vaut mieux pas le faire, parce qu'on est en Alsace-Moselle. Ce qu'il faut mieux faire, c'est se verser, enfin, si vous voulez nous verser des legs, mais il n'y a que des jeunes ici, donc bon. Il faut passer, nous on passe par France Nature Environnement, qui est une fédération française des sociétés de protection de la nature, qui est reconnue d'utilité publique, qui, bon, comme la PMAF, a aussi un rôle de défense de l'environnement, hein, puisqu'on lutte contre l'élevage intensif, on peut être membre de France Nature Environnement, et là, le France Nature Environnement prend 20%, sur les legs qu'on reçoit et utilise cette somme pour la défense de la nature. Mais bon, à l'heure actuelle, on a eu quoi? On a eu un leg de 6000 francs qui est toujours pas arrivé, qui est en cours, et puis un leg de, on va recevoir 40 000 francs qu'on attend, quoi. Donc ça va pas loin, hein, c'est pas la SPA qui reçoit des millions de francs, ni la Fondation Bardot.
Enfin, c'est quand même un J'ai bien compris que c'est pas suffisant, mais enfin, c'est... C'est conséquent, quoi, ça.
Ah oui, oui, bon, on fait quand même un travail. On fait un gros travail, quoi.
Alors, justement, là-dessus, sur le travail que vous faites auprès du public, est-ce que vous avez des statistiques pour savoir par quels moyens vous êtes le plus connu? Est-ce que c'est la distribution de tracts? Est-ce que vous avez pu catégoriser ça?
Je pense pas qu'on les catégorise. Normalement, à chaque fois qu'on reçoit un nouveau donateur, l'origine est enregistrée dans l'ordinateur.
Pardon, pas spécialement pour les fonds, je veux dire en général pour les membres.
Mais de toute façon, la PMF, elle est très très peu connue du grand public. Les gens qui s'intéressent à la protection des animaux connaissent parfois la PMF, mais on a beau être passé des dizaines de fois à la télé, avoir eu des centaines d'articles dans les journaux, si vous demandez en règle générale au commun des mortels qu'est-ce que c'est que la protection mondiale des animaux de ferme, personne ne connaît. Même à Metz, personne ne nous connaît. Je ne sais pas pourquoi. Et en fait, je pense que pour être connu, il faut vraiment passer et repasser et re-repasser à la télévision et dans les médias. Nous, on a vraiment un problème par rapport à ça. Et c'est très difficile pour nous de trouver des membres et donateurs. On a vraiment un gros effort à faire pour ça. Déjà parce qu'on défend une cause qui est difficile. Bon, tout le monde n'est pas sensible à la défense des animaux d'élevage. Les chiens et les chats, c'est plus facile hein, de trouver des nouveaux membres et donateurs que les poulets fermés. Les poulets, bon. Encore le transport des animaux, ça touche encore pas mal les gens, mais les autres, les vaches, c'est pas trop le truc des gens. Donc bon, bah, il faut qu'on fasse des gros efforts pour trouver des membres et donateurs, quoi. Donc on a, quand on a des journalistes qui nous font des articles, on leur demande de mettre l'adresse de l'association. On écrit aux gens qui signent les pétitions pour leur demander de devenir membre. Enfin, on fait un gros effort. On investit beaucoup de temps dans ce qu'on appelle le fundraising, quoi, la recherche de fonds. Et encore une fois, pour nous, c'est vital pour l'avenir de l'association et pour le développement de nos actions, parce qu'il y a plein d'actions. Moi, j'ai créé la PMF. Quand on a créé la PMF, c'était dans une perspective. C'est qu'il n'y a pas en France une grosse association de défense des animaux d'élevage. Il faut une association qui fasse un peu contre-pouvoir. Excusez-moi, on ne peut pas faire confiance. Bon, je ne citerai pas à certaines aux grosses associations françaises qui, des fois, ont préféré qu'elles se taisent sur le bien-être des animaux d'élevage plutôt qu'elles ouvrent la bouche parce qu'elles tiennent des positions qui sont plutôt du côté des éleveurs que du côté des animaux, de mon point de vue. Mais il serait bon qu'il y ait une association qui fasse vraiment contre-pouvoir face aux éleveurs, quoi. Parce qu'il y a de grosses associations de défense de l'environnement, il y a des gros syndicats pour les travailleurs. Il y a des gros, je sais pas moi, plein de trucs, des gros machins, mais pour les animaux d'élevage, il n'y a pas de gros. Les plus gros, c'était l'OABA, qui, bon, ma foi, était un peu vieillot, hein, avait une façon un peu vieillotte de travailler. Maintenant, ça va mieux, mais bon, c'est le docteur Kiefer qui en a la tête. vétérinaire. On verra ce que ça donne.
C'est
pas logique. Ouais, qui mange beaucoup de viande. Ouais.
Bon, dernière question, est-ce que vous avez des statistiques sur le nombre de bons membres qui sont végétariens?
Non, pas en France. On envisage d'envoyer un questionnaire tôt ou tard à nos membres pour le savoir. Il y en a beaucoup, ça on le voit dans le courrier, hein. Il y a beaucoup de membres végétariens. Il y a beaucoup de membres, quand on parle du végétarisme, en réunion, qui partent et qui disent « moi je suis pas d'accord », bon, ça arrive. Donc c'est pour ça qu'on est aussi un peu assez prudent par rapport à ça. Donc ils veulent pas, veulent bien nous soutenir, mais c'est hors de question qu'on parle du végétarisme. Donc bon. Je sais qu'en Angleterre, à peu près, à Compassion Animal Farming, 50% de leurs membres sont végétariens. Et puis, je ne sais plus quel pourcentage sont végétaliens. Non, moi je suis végétarien. Moi à la maison, je bois que du lait de soja. Enfin, pas que, mais j'achète du lait de soja. J'évite de manger des produits laitiers. Je mange des œufs dans le libre parcours. Bon, évidemment, je ne vous cacherai pas que le fait de manger des produits laitiers, ça me pose un problème de conscience. Donc, je ne serais pas surpris qu'un jour ou l'autre, je sois végétalien. Mais à l'heure actuelle, moi, pour être très honnête, je pense que si j'étais végétalien, ça, moi, de mon point de vue, ça desservirait plus les animaux que ça leur rendrait service. Parce que il m'arrive de me retrouver... Bon, déjà, je suis souvent en déplacement et c'est très difficile d'être végétalien quand on est en déplacement, quand on est invité, etc. Bon, et par ailleurs, je suis souvent amené à dîner avec des journalistes, des machins, des trucs. Si je leur dis que je suis végétarien, ça passe. Je leur dis, écoutez, moi j'ai vu tellement d'animaux maltraités, moi je peux pas avaler la beefsteak. Quand je vois la beefsteak, je vois un animal qui souffre, donc c'est pas la peine. Bon, ça ils comprennent. Si je leur dis que je suis végétalien, alors là, c'est... Oh là là, c'est la secte, là, c'est... Bon, là, c'est terminé. Donc c'est pour ça que je dis que même, je n'ai pas intérêt à être le végétalien strict. Mais cela dit, c'est vrai que je suis tout à fait favorable au végétal, comment on dit, végétalisme. Ouais. Parce que, bon, c'est vrai que moi, quand je vais sur les marchés aux bestiaux, que je vois les tout petits veaux qu'on a enlevés à leur mère pour prendre le lait à la mère, je trouve ça absolument dégueulasse. Et ça me... Bon, là, je me sens vraiment responsable et coupable. Donc ça me pose un véritable problème, quoi. Donc bon, là aussi, on évolue à son rythme. Hein.
Moi, je voulais juste en revenir rapidement sur les transports. Par rapport aux camions, ce qu'on peut faire, nous, si on voit un camion, tu disais tout à l'heure les normes donc, de ventilation. Ça ne se voit pas extérieurement.
Hein. Si, si. Si, les camions qui voyagent plus de 8 heures, il faut faire attention, doivent être équipés d'un système de ventilation mécanique. Alors, normalement, il faut voir, il y a des ventilateurs, quoi. S'il y a pas
sur le dessus des camions, sur les côtés.
Sur les côtés.
Et si vous ne voyez pas de ventilateur, ça c'est la difficulté.
Les cloisons, c'est pour plus de 8 heures aussi.
Oui, mais je serais tenté de dire, si vous voyez un camion en Savoie au tunnel du Fréjus, il y a de fortes chances qu'il ait, parce qu'en général, il vient du Massif Central, ça m'étonnerait qu'il ait voyagé moins de 8 heures. Mais il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gendarmes, hein. Je pense qu'il faut être honnête, il faut dire, écoutez-moi, a priori... Il a voyagé plus de 8 heures. Bon, maintenant, je peux pas le savoir. Et... C'est pas facile à voir, ouais. C'est difficile, sauf si le camion est à l'arrêt. Là, vous pouvez regarder. En acquérant un peu d'expérience, bon, on peut... Bah, dans la brochure, il y a des abreuvoirs qui sont dessinés. On peut... on sait où sont les abreuvoirs, quoi, aux quatre coins des camions, ce qui est aussi une absurdité, parce qu'il y a des abreuvoirs aux quatre coins des camions pour les bovins, mais ceux qui sont au milieu, ils peuvent pas y accéder. Donc.
Quand il roule, sans savoir si c'est plus ou moins 8 heures, c'est ce que tu disais, c'est la cage au milieu des roues derrière.
Oui, c'est la cage au milieu des roues. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Bon, les densités de chargement, ça c'est quand même assez difficile à savoir à vue d'œil, mais moi j'y arrive pas. Faudrait regarder dans le checklist. Vous pouvez voir effectivement s'il y a un animal qui a la patte qui dépasse, s'il n'y a pas des animaux blessés, ce qui n'est pas forcément évident à voir, parce que les animaux se couchent s'ils sentent bien. C'est pas parce qu'ils se couchent qu'ils vont pas bien, quoi. Des fois, c'est parce que le chauffeur conduit calmement, donc c'est bon, ça peut être bon signe. Si les chevaux se couchent, là, c'est inquiétant. Si c'est des bovins ou des petits veaux, là, c'est relativement normal. Ouais, non, c'est assez... c'est pas évident, je pense.
Il faut voir ça à l'arrêt, et en plus, il faut savoir si c'est plus de 8 heures.
Ouais. Vous demandez au chauffeur hein, d'où vous venez gentiment, vous êtes parti quand. Ils vous, en général, ils répondent. Hein. Sauf quand ils sont cons. Quand ils sont désagréables, bon. Réponds.
Oui, ce que je voulais justement demander pour les transports, est-ce qu'on les voit ou est-ce que les camions sont complètement fermés ou est-ce qu'on voit les animaux comme on peut les voir ici à travers les grilles?
En général, si les camions sont fermés, ils ferment parfois à côté du camion.
Oui.
Je ne sais plus trop pourquoi. Bon, c'est un problème de ventilation. Mais en général, il y a les grilles qui sont ouvertes. Donc, il arrive sans doute fréquemment, vous voyez des camions fermés, mais là c'est parce qu'ils remontent
À vide.
À vide, où ils vont chercher des animaux. Et donc pour consommer moins d'essence.
Voilà, puis je voulais revenir, je crois que c'est clair qu'elle avait dit, bon, ben, la PMF, elle travaille un peu à l'envers, parce que quand il n'y aura plus de dommages, dans les, enfin, je ne sais pas si c'est toi qui l'avais dit, dans les abattoirs, quand il y aura une protection plus grande des animaux, les gens recommenceront à manger de la viande, etc. Mais moi, je crois que non, parce que justement, comme tu dis, à la PMF, il y a déjà 50% de végétariens, parce qu'ils ont été choqués, parce qu'ils ont compris, etc. Et que plus il y aura de végétariens, moi je vois, quand on travaille dans nos sociétés, par exemple moi dans ma société, tout le monde voit que je mange jamais de viande, je suis peut-être la seule qui n'a pas un jour de congé maladie dans l'année, ils voient bien qu'il n'y a pas de corrélation, ou au contraire s'il y a une corrélation entre manger de la viande, c'est que ça fait tomber malade les gens plutôt que ça les guérit. Donc ça sera un exemple pour les gens qui diront de plus en plus, tiens, manger de ne pas manger de viande, ça garde les gens en bonne santé, puis on peut leur expliquer en effet les différentes raisons pour lesquelles ça nous garde en bonne santé, les toxines, etc. Non, c'est peut-être pas toi, excuse-moi. Non, je sais pas, non. J'ai dit toi parce que je voulais quand même, voilà, donc... Je pense que même si un jour ou l'autre, ça serait formidable, il n'y a plus d'atrocité d'élevage intensif ou de long transport, il y aurait déjà entre-temps la moitié de la population qui serait devenue végétarienne en voyant justement toutes ces atrocités de long transport, etc. Donc c'est vrai que c'est une voie un petit peu diplomatique, c'est pas clair et net de devenir végétarien, mais il y a des avantages à ça, quoi, en fait. Ah
oui. Oui, bien sûr. Bon, on travaille sur le foie gras. Moi, je vous avouerai que bon, c'est pas un thème qui me motive énormément parce qu'encore une fois, je préfère mener. Si je fais un travail, j'ai envie de le commencer parce que je sais que je peux le gagner. Parce que je trouve que bon, il y a différents problèmes au niveau de. Il y a différents problèmes de protection animale. Autant commencer par ceux qu'on pense pouvoir gagner dans les 10 prochaines années. Et en l'occurrence, le foie gras, je pense qu'en France, c'est vraiment, vraiment un combat difficile. Donc, nous, à la PMF, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un travail, mais qu'on... Enfin, que moi, en tout cas, je vois plus sur le long terme. C'est-à-dire qu'on distribue des tracts contre le foie gras, on en parle aux journaux, enfin, quand on est invité à la radio ou n'importe où, on parle du problème du foie gras, hein, on explique pourquoi on est contre ceci, cela, mais... Enfin, franchement, le foie gras, c'est un peu... On touche au foie gras. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de parler à des gens qui ne s'intéressent pas trop aux animaux du foie gras. Bon, on a l'impression qu'on touche à leur mère. Ils nous font chier avec leur foie gras.
Non, moi, j'ai plutôt l'impression que... Je me trompe peut-être
aussi. Je me trompe peut-être aussi, je vais vous dire pourquoi. Parce que on a fait quand même une action contre le foie gras en 97. Donc on est allé dans la rue et on avait un plat de pâtes, 12 kilos de spaghettis. Et puis on disait, bah, 12 kilos de spaghettis, voilà, c'est l'équivalence qu'avale une oie. Et j'ai été hyper surpris de voir qu'il y ait plein de gens qui nous soutenaient, qui disaient, moi je suis d'accord, je ne mange pas, les animaux, ils souffrent. Donc c'est vrai que je me trompe peut-être. Je dirais que... Dans les milieux décisionnaires, donc politiciens, ministériels, nanani, nanana, quand on parle de foie gras, alors là, on n'a vraiment aucune ouverture possible. Attention, là, on touche à l'image de marque de la France, à ceci, à cela. Et c'est là où je pense que sur l'aspect législatif, on aura vachement de mal, quoi. Donc c'est pour ça, moi, mon sentiment, c'est plus, même les députés... Donc c'est pour ça que mon sentiment, il faut plus faire évoluer l'opinion publique pour le moment et lui faire prendre conscience de ce problème. Donc elle travaille sur le long terme de l'éducation, mais donc on le fait au quotidien, quoi.
Et au niveau de la
Oui, oui, disons qu'à l'heure actuelle, à ma connaissance sur le foie gras, il n'y a aucune réglementation spécifique pour le bien-être animal. Pour le bien-être animal, il n'y a aucune réglementation qui est spécifique au foie gras. À part, par exemple, la convention, non, la directive européenne pour le bien-être des animaux de ferme, qui est une directive très générale, qui précise qu'on doit, je ne sais plus la phrase exacte, mais il y a marqué un truc du style, on ne doit pas nourrir un animal d'une manière qu'il le fasse souffrir, tadadi, tadada. Donc par rapport à cette...
Ah ben par rapport...
On a voulu justement engager un procès par rapport à ça,
par rapport à cet aspect contre le foie gras. Donc on a sollicité notre avocat à Paris qui nous a demandé 250 000 francs. Donc bon, le débat était clos. Voilà. Mais si vous pouvez nous aider à entamer ce combat, alors là on est à fond partant. Hein.
Tant que en juridique, on n'est pas sûr de gagner.
Je paye la consignation, mais il y a pas de problème.
250 000 francs, il ne fallait pas dire.
Mais parce qu'on peut le gagner peut-être sur le plan juridique, mais même si on ne le gagne pas sur le plan juridique, sur le plan médiatique, on peut... Parce que dans les médias, si on apprend la PMF ou je ne sais trop qui, bon, ça peut être d'autres associations avec nous, entame ce combat, je veux dire médiatiquement, il va y avoir un gros article dans tous les journaux, quoi. Parce que, attention, on touche au symbole de la France. Et donc, effectivement, on serait très intéressés pour entamer une action avec vous là-dessus.
Il faut dire grand chose d'intéressant. Je trouve que au sujet du fait de savoir si on met le végétarisme ou pas, si vous le mettez ou pas dans votre acte, je trouve que ce qui est beaucoup plus important, c'est de surtout en parler comme des êtres sensibles, ce que vous faites indirectement. Peut-être on pourrait accentuer ce côté, c'est-à-dire il y a certains animaux qui ne sont pas encore perçus du tout comme des individus, notamment on a parlé des poulets ou d'autres encore. Peut-être montrer en quoi comment ils fonctionnent, leur intelligence, etc.
Ça,
comme le font certains journaux, comme Science et Vie, mais enfin... Ouais. Le lien entre ce qu'ils subissent et ce qu'ils sont pourra d'autant plus favoriser le végétarisme chez les gens, sans que ce soit forcément explicitement...
Je suis content d'avoir cet aspect parce que à Compassion in Wolf Farming, ils viennent de lancer une nouvelle campagne qui s'appelle, je crois, Sentient Beings, donc être sensible. Et il y a un site internet qu'ils ont fait, qu'on va traduire en français, qui présente tout ce que, je veux dire, l'animal à travers ce qu'il est, quoi. Qu'un animal, par exemple, ça présente des petites histoires d'un animal qui fauve un être humain qui est en train de se noyer. Ça présente des petites histoires concernant, je ne sais pas moi, une vache qui a fait 100 km pour retrouver son veau, pour montrer que les animaux, c'est aussi des animaux qui ont des sentiments, pour, quelque part, entre guillemets, humaniser l'animal, quoi, et montrer que ce n'est pas que des morceaux de viande. Et on va raconter sur plein de petites histoires comme ça, puis ils ont demandé à leurs membres, justement, de leur envoyer des histoires comme ça, qui montrent que, bon, les animaux sont vraiment des êtres sensibles. Et on va traduire ce site... On va en faire une version française. Et c'est vrai que ça peut contribuer à amener les gens à être végétariens, parce que dès lors que les gens comprendront que... C'est vrai que moi, que je vois, bon, pour moi, un mouton, je mangeais du mouton, enfin, je prends encore une fois mon exemple personnel, et le jour où j'ai été confronté dans une bergerie au petit mouton hyper sympa, je me suis dit, mais c'est vachement sympa, un mouton, comment on peut manger ça? J'ai arrêté de manger du mouton, quoi. Donc quand les gens, ils amènent à prendre conscience que c'est pas qu'un morceau de viande, c'est aussi des êtres aussi intelligents que des animaux de compagnie, qui sont pas différents, quoi. Ça peut amener les gens aussi, c'est aussi un bon biais pour les amener aux végétaristes. Effectivement, c'est bien que tu m'en reparles parce que c'est un projet qui n'était pas prioritaire, mais c'est vrai que c'est important.
Oui, je t'ai dit brièvement tout à l'heure que je faisais partie de la Fondation Gabriel, donc c'est vrai que c'est une association qui se bat aussi beaucoup pour la défense des animaux. Donc on a sorti plusieurs cassettes, on a fait pas mal d'actions aussi au niveau médiatique, des petits interviews ou bien des spots publicitaires extrêmement violents sur la description justement de l'atteinte animale. Ça pour te situer un peu l'association. part ça, moi, j'ai un problème, disons, c'est pas particulier à toi, mais qui me pose réellement des questions, c'est-à-dire qu'en France, il y a une multiplication d'associations. Dans les pays étrangers aussi, on peut se lier à des tas d'associations. Et malgré ça, en France, c'est un constat, il n'y a pas grand-chose qui se passe de commun. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'associations qui essayent de faire, comme la vôtre, hein, je veux dire, vous êtes totalement sincère dans votre action, c'est pas du tout ce que je remets en cause. Mais justement, chacun travaille dans son petit coin, et ce qui fait que, malgré tout, ça affaiblit la portée générale de vos actions. Donc par rapport à ça, moi je pense qu'il serait quand même urgent qu'en France, il y a un certain nombre d'associations qui essayent de rencontrer les autres, de voir quelle action commune serait possible et de les mettre sur place, sur pied. Par exemple, si on prend, le foie gras, ça paraît archi-évident que là, il y a une multitude d'associations qui peuvent s'investir là-dedans, chacun avec leur particularisme et leur spécificité. Hein, il ne s'agit pas de gommer l'un par rapport à l'autre, mais de même que nous, à la Vigipride, on fait un certain nombre de choses dans la manifestation, des slogans qui sont communs. Je ne vois pas pourquoi, là, on ne pourrait pas trouver un certain terrain d'entente pour la défense des animaux. C'est quand même ce qui nous rassemble tous. Il y a une autre question bon, qui est aussi importante, c'est vis-à-vis des pouvoirs publics, dont j'en ai parlé un peu ce matin. J'ai l'impression quand même que le gouvernement, là justement, de par cette multiplicité d'associations qui tirent un peu chacun de leur côté, le gouvernement, il peut relativement aisément choisir les associations avec lesquelles, disons, il peut plus facilement composé que ceux, je prends une association par exemple comme Prévention Nature contre la chasse, ils se font jeter à chaque fois parce qu'ils ont un discours beaucoup trop radical pour le gouvernement, bien évidemment. Et que je pense que s'il y avait un certain front d'association, au moins sur une base minimale, ben, le gouvernement, il pourrait justement pas tirer l'un contre l'autre, etc., et que ça ferait que profiter justement toujours à la cause animale. Alors je ne sais pas si vous y avez déjà réfléchi dans votre association, ou bien si vous avez des projets par rapport à ça.
Alors, nous on est très partisans. Déjà on a
un principe à la BMF, c'est qu'on ne critique jamais une autre association. Bon, il nous arrive de critiquer entre nous, hein. Enfin, je veux dire, si moi on parle de telle association, si je sais que vous n'êtes pas un membre du public, bon, je vous dirais peut-être, j'aime pas cette association parce que je les trouve incorrects par rapport à ça, bon. Mais publiquement, on ne dit jamais de mal d'une autre association. Ça, c'est déjà un principe qu'on a, et je trouve qu'il serait bon que l'ensemble des associations aient un peu cette attitude. Bon, nous, à la PMF, on a été préservés par rapport aux critiques jusqu'à présent, donc bon, je n'en ai pas appris qui que ce soit, mais bon. Cela dit, on est aussi très favorable à une collaboration avec les autres associations, et on le fait. Par exemple, cette brochure gendarme, elle a été financée par la Fondation Bardot. Bon, ils m'ont appelé ce matin, la Fondation Bardot, en me disant, on a plein d'appels pour le transport des animaux, les gens sont indignés parce que les porcs ont soif, est-ce qu'on peut dire qu'il faut arroser les porcs? Bon, moi je leur ai dit, surtout ne leur dites pas ça, parce qu'il ne faut pas dire ça, parce que si on arrose les porcs, ils ont un choc thermique, ils vont tous mourir. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Donc, si vous voulez, nous, on n'est pas là du genre à garder les informations pour nous, nanani, nanana, vous voyez, on est vraiment assez ouvert. Et on a fait aussi des campagnes en commun dans le cadre de Eurogroupe France pour la protection des animaux, qu'on souhaiterait renouveler. Donc oui, nous, on est favorable à la collaboration avec d'autres associations. J'ai été invité aussi par la SPA nationale de Paris aux assises de la protection animale. Bon, donc voilà. On avait beaucoup travaillé sur les truies, etc. Le problème, c'est que, très honnêtement, Pour deux, les autres associations ne partagent pas forcément nos points de vue. Moi, quand j'entends des associations dire, par exemple, pour le transport des animaux, le problème, c'est pas le fait que les animaux soient transportés sur de longues distances, qu'ils soient transportés pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours, c'est pas le problème. Ce qui est important, c'est que les camions soient bien aménagés. Je me dis, mais où sont les vrais amis des animaux ? Quand même incroyable, ils sont en train de prendre la défense des agriculteurs, et puis en plus ils racontent n'importe quoi parce qu'ils ne sont jamais allés sur le terrain voir les camions qui transportent des animaux. Donc quand ces associations tiennent ce genre de discours, c'est vrai que nous on a du mal après à travailler avec eux. En plus nous on passe après vers le ministère de l'agriculture en tenant un discours plus radical, et on passe vraiment pour des extrémistes, et ça complique un peu notre travail quoi. Bon, alors ce qu'il y a aussi, c'est que pour être très honnête, on a travaillé par exemple dans la campagne pour les truies avec plusieurs associations. Écoutez, on a passé peut-être 3 jours à discuter du texte de 15 lignes pour, qui devait aller sur une annonce qui devait passer dans Libération, je crois. Bon, moi vous m'excuserez, j'ai autre chose à faire que de discuter sur le Poitiers ou la virgule qui est placée avant ou après, hein. Alors c'est pour ça, travailler avec les autres associations, c'est pas toujours évident, et je suis pas sûr qu'on gagne toujours en efficacité. Alors nous, on sélectionne les associations avec lesquelles on peut travailler. On travaille bien avec la Fondation Bardot, pour être honnête. La FPA nationale, je pense qu'on peut arriver à travailler avec eux, même s'ils ont des fois une position un peu trop soft parfois. Bon, voilà quoi. Oui, si, avec qui on travaille. Peut-être assistance aux animaux, ils veulent nous aider. Bon, on pourra envisager de faire des actions avec eux.
La Ligue française des droits de l'animal, ils n'aiment pas du tout.
Ah ben, je vous trompe, excusez-moi.
Je sais pas pourquoi, mais ils aiment bien. Bon, c'est comme ça,
c'est avec. Hein. Enfin bon, je ne réponds pas vraiment à votre question, mais... oui, on a la volonté de travailler avec les autres associations, mais c'est pas toujours facile, quoi. C'est franchement, des fois, c'est un peu difficile. Mais je sais que quand nous, on nous sollicite pour travailler ensemble, on fait abstraction de toutes les rancœurs, de toutes les querelles, les machins. On se dit, bon, il faut travailler ensemble. Tant pis si à tel, il a dit ça sur le dos de la PMAF tel jour, etc., quoi. Il faut un peu oublier les querelles. Et je pense que y a beaucoup d'associations qui oublient parfois la cause, et qui ont un peu leur esprit de colocher qui est en avant-première pour prendre leurs décisions, quoi. Ça, c'est un peu regrettable. Il faut toujours se poser la question, bon, qu'est-ce qui est le plus important pour les animaux ?
Moi, c'est juste un point sur la formulation, un petit peu comme ce que disait David Chauvet sur le fait de rappeler que c'est des êtres sensibles. Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive souvent d'avoir des problèmes pour signer des pétitions, par exemple, de la PMAF en fonction de la formulation. Et je pense qu'un simple changement de formulation pourrait permettre que ça soit plus consensuel par rapport à des personnes qui luttent comme moi contre, enfin, pour l'abolition de la. De la consommation de la viande, et qui partent d'un point de vue antispéciste et qui luttent, disons, sur un terrain plus idéologique.
Ouais.
C'est par exemple une pétition qui dit nous exigeons que l'abattage se fasse, je ne sais plus quel chiffre, mais bon, dans les 10 km, un certain périmètre autour de l'endroit d'élevage. Mmh. Où j'ai pas envie d'exiger que l'abattage se fasse.
Ah oui, d'accord.
Si tu dis nous exigeons que l'abattage ne se fasse pas à plus de 100 km du lieu d'élevage, là j'ai pas de problème. Moi, je suis d'accord pour que l'abattage se fasse pas. Mais je pense que bon, alors ça pourrait être simplement mon désir de pureté ou idéologique personnelle, mais je crois que c'est pas que ça.
Mais ça peut être important.
C'est, voilà.
Dans la conscience, ça peut amener les gens à les faire évoluer dans une direction ou dans l'autre.
Voilà, c'est que ça laisse ouvert. Nous, c'est pas notre problème d'exiger que l'abattage se fasse comme ci ou comme ça. Nous exigeons qu'elle ne se fasse pas dans des conditions à plus de 100 km. Mais si elle se fait, bon, ben, elle se fera, mais pas à plus de 100 km. Tu comprends ?
Ah oui, je comprends. Oui, mais c'est vrai que c'est important. C'est pas notre rôle, quelque part, voilà. De dire... Oui, je suis d'accord.
Il y a
Et de même pour les poules pondeuses, alors c'est peut-être plus compliqué, ça pourrait peut-être devenir tarabiscoté de dire nous exigeons que les poules ne soient pas élevées dans des cages de moins de 700 cm². Bon, plutôt que de dire nous exigeons que les poules soient élevées dans des cages de 700 cm². Ben, c'est juste des questions de formulation, mais pour moi ça a une certaine importance.
Oui, ouais, c'est important.
Oui.
Dominique.
Ce que je voulais dire, c'est ce que je vois souvent revenir dans le discours de Ghislain, c'est le mot travail. Et par rapport aux autres associations, je trouve qu'effectivement, on a l'impression que la PMF un travail vraiment énorme, aussi bien dans les quand ils sont sur le chemin avec les camions de transport d'animaux que quand ils sont en train de regarder les lois, préparer les prospectus pour la gendarmerie. Et ça, je trouve que dans la cause animale, j'en vois pas, les gens n'ont pas l'air de vraiment travailler énormément, alors que là, il y a un travail qui est d'une vitalité extraordinaire et d'un concret, d'un poids vraiment très lourd, enfin très fort, et moi je trouve ça magnifique, hein, je me dis, c'est tout des années, bon, je pense même pas que les autres associations peuvent le faire, c'est-à-dire qu'il y a cette force, et qui est aussi bien au niveau européen, qui est avec les lois, avec toutes sortes de choses, et qui est vraiment très réaliste, et très clair et très net au point de vue aussi de la réception par les gens auxquels on distribue les tracts ou par la gendarmerie. Il y a un souci de clarté qui est vraiment vraiment très, vraiment, moi j'aime bien ça, qui me semble essentiel.
Ah, c'est vrai que ouais, je sais pas trop quoi répondre à ça. Moi, je sais que ce qui me motive, c'est les résultats.
Ben, voilà.
Moi, ce que je veux, je dis toujours, j'aurais jamais. Enfin, bon, je pense que vous ressentez tous un peu la même chose. J'aurais pas le temps dans ma vie de faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, on ne faut pas perdre mon temps avec des conneries. Il faut qu'on bosse et qu'on ait des résultats. Ouais. On y va.
C'est ça qui va se ressentir alors.
Voilà.
Sur votre. Je dis que la prochaine campagne, ça va être sur les poulets de chair.
Ouais.
T'as déjà une idée de. Parce que c'est pareil que le foie gras, après ce que j'ai compris, il n'y a pas non plus de réglementation spécifique.
Non, il n'y a aucune. Si tu veux, il y a une directive européenne pour les poules pondeuses, pour les. Toutes les directives pour les veaux, tout ce que j'ai discuté. Pour les poulets de chair, il n'y a aucune réglementation spécifique aux poulets de chair. Donc, si tu veux, par exemple, le nombre de poulets au mètre carré, c'est pas du tout réglementé. Alors, à l'heure actuelle, on en parle maintenant, il fait tellement chaud, ils mettent jusqu'à 10, 22, voire 25 poulets par mètre carré, ce qui est beaucoup trop. Et tu as beaucoup de poulets. En ce moment, il y a les poulets, ils meurent les uns après les autres à cause de la chaleur. Parce qu'ils ont tellement chaud qu'ils meurent. Et le problème chez les poulets de chair, je vais en dire deux mots très rapidement, c'est qu'ils ont été sélectionnés génétiquement pour atteindre leur vitesse, leur poids d'appâtage en à peu près 40 jours. C'est très peu à 40 jours, normalement. Les poulets, les volailles label rouge, elles sont abattues à 84 jours. Mais 40 jours, ce sont encore des poussins, hein, les poulets. Et donc, en fait, on a sélectionné les poulets pour qu'ils aient la masse musculaire qui se développe très rapidement. Donc, comme ça, ils ont du bon blanc de poulet que les consommateurs aiment bien, etc. Mais le cœur ne se développe pas aussi vite que le corps, ni les pattes. Et ce qui fait que le cœur, il se développe apparemment à une vitesse relativement normale, donc il reste petit. Mais le cœur doit fournir beaucoup d'oxygène à ce corps qui est énorme et qui est complètement difforme. Alors déjà, en temps normal, si tu veux, il arrive que les poulets meurent du symptôme de la mort subite. C'est-à-dire le cœur, il y a le corps qui demande énormément d'oxygène au cœur, là, enfin, le cœur, il bat à toute vitesse, et le cœur, qui n'est pas adapté à ce corps énorme, il pète, quoi, les plombs, et on voit les poulets qui sautent, et puis, pout, elles tombent par terre. Donc déjà, tu as énormément de poulets qui meurent de crise cardiaque à cause de cette débilité d'avoir sélectionné des poulets qui sont complètement difformes. Mais alors, en plus, quand il fait chaud, c'est encore plus grave, le cœur il est encore plus sollicité, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes. Alors une des solutions, ça serait de réduire les densités d'élevage, le nombre de poulets par mètre carré, mais alors là, évidemment ça coûte un peu d'argent, donc ils préfèrent voir leurs poulets mourir et aller réclamer des sous au gouvernement. Mais donc voilà quoi. Donc oui, ta question c'était oui. Alors au niveau de la campagne. Alors nous, ce qu'on a fait, des documents qui sont déjà en place. On a bon déjà, on va faire un petit track spécifique au poulet de chair. On a fait un rapport scientifique qui passe en revue les études scientifiques qui ont été faites sur le bien-être des poulets de chair, qui sera envoyé à tous les députés, les sénateurs, aux journalistes. On a fait une brochure comme ça sur les poulets de chair qu'on peut déjà vous envoyer. Hein, si tu la veux, on pourra vous envoyer ces documents. On a fait une vidéo sur les conditions de vie des poulets de chair. On a filmé dans plusieurs élevages de poulets de chair. Donc ça, on va essayer de la diffuser sur toutes les chaînes de télévision. Et surtout, on a un gros costume de poulet de chair. Donc c'est un poulet à taille humaine, avec un ventre énorme, puisque les poulets, ils ont une poitrine énorme et difforme, qui va se trimballer à travers toute la France et qui va sans doute faire quelques émissions de télé, on espère. Et ça, ça va nous permettre de sans doute faire passer notre vidéo sur des chaînes comme France 3 régionale, etc., ou peut-être nationale, on n'en sait rien. On a des surprises, hein. Un jour, je ne sais pas s'il y en a qui avaient participé à cette action, un jour on avait fait une action contre le commerce des cuisses de grenouille. Mais c'était quand on était au Hall, ouais, ouais. Tu sais que la photo a été passée dans un magazine pour enfants, dans Hibou, en intégralité, tu l'avais vu, ouais. Mais on avait fait une action au Hall aussi, je ne sais pas si tu étais au Hall. Non. Ouais, ouais, la Tour Eiffel, je me souviens que tu étais dedans. Et David, ouais, ouais, qui traversait en caleçon les Champs-Élysées, là, les Trocadéro et tout, c'était drôle. Enfin bref. Et on avait fait une action au Hall contre le commerce des cuisses de grenouilles. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez l'agence de télévision internationale Reuters. C'est une agence de presse internationale TV. Et ils étaient venus, ils nous avaient filmé au Hall en train de distribuer des tracts pour les grenouilles, là. Et on a une membre de la PMF qui habite aux États-Unis, qui nous a appelé quelques jours après en disant « Oh, je vous ai vu sur Fox TV ». Ah, on n'en revenait pas parce qu'on était trois pelés attendus. Et on s'était retrouvés sur Fox TV, qui est une des plus grosses chaînes de télévision aux États-Unis, qui nous avait filmé pour, bon, en fait, avec une petite touche d'humour, parce que c'était les Frenchy, les noms, ce commerce des cuisses de grenouilles, mais où va le monde. Donc c'est drôle, quoi. Comme quoi, non, mais tout ça pour vous dire que des fois, des actions simples. Il ne faut pas des idées, vous savez, il y a des associations qui dépensent des millions de francs pour acheter des pages de pub dans les journaux, etc. Parfois, il faut peu de moyens pour avoir des résultats et un impact, quoi. Il suffit d'être créatif. Hein.
Oui, suffit.
Vous avez l'occasion de faire des procès par rapport au mauvais traitement ?
Non. Non, on n'en a jamais fait parce que quand on a créé la PMF, on s'est dit... On va pas créer une association qui va faire le même travail que les SPA, que la Fondation Bardot, qu'Assistance aux Animaux, qui dépose des plaintes à Tire-Larigot. S'il y a besoin de déposer des plaintes pour mauvais traitement, ces associations peuvent s'en occuper sur leur spécialité. Et spécifiquement aux animaux d'élevage, on s'est dit, il y a l'OABA qui dépose des plaintes pour actes de cruauté, mauvais traitement, etc., mais qui ne fait pas de campagne, grand public. Donc on va boucher le trou. On va faire des actions pour sensibiliser le grand public, parce qu'en France, il y a 10 ans, personne qui parlait des souffrances des poules pondeuses à travers des tracts, ou presque personne, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé la PMF, et qu'on n'a pas voulu prendre en charge cet aspect juridique. Maintenant, c'est vrai que en suivant les camions, on se dit que peut-être qu'on pourrait déposer des plaintes pour mauvais traitement envers les animaux, spécifiquement aux infractions qu'on constate quand il y a un problème au niveau des transports d'animaux. Parce qu'il y a des animaux qui ne sont pas abreuvés en cours de transport, c'est un acte de mauvais traitement ou de cruauté. Je ne pense pas que ce soit cruauté, c'est plutôt mauvais traitement. Hein. C'est un acte de mauvais traitement vers les animaux. Et effectivement, là, on pourrait de temps en temps déposer des plaintes. On l'envisage maintenant. Mais on ne veut pas s'engager dans des tas de procédures juridiques parce que ça va nous prendre beaucoup de temps et ça va nous détourner des campagnes d'information du grand public.
Dernière question pratique, Mathieu, sur la question des vidéos, c'est technique, comment vous faites pour rentrer dans les élevages, tout ça,
Soit on demande l'autorisation, soit on ne la demande pas. Donc soit on pousse la porte est grande ouverte, donc on rentre. On ne reste plus qu'une chose à espérer, c'est qu'il n'y ait personne, qu'on tombe sur personne. Bah, sinon, si vous avez envie d'aller y faire un tour, vous dites « Ah, bah, justement, je vous cherchais, je viens de gueuler. » Bon, bah, ça me fait marcher de temps en temps. Et puis, en général, dans les élevages, vous voyez s'il y a quelqu'un, quoi. Ouais, souvent, les portes sont ouvertes, c'est isolé. Souvent, les portes sont ouvertes. Et donc vous pouvez rentrer. Il faut faire attention par contre, il faut éviter d'aller d'un élevage à l'autre parce que là vous risquez de véhiculer des maladies. Donc il faut mettre des combinaisons. Bon, c'est pas non plus, il faut penser aussi aux animaux, quoi. Aux maladies, c'est aussi un problème de bien-être. Donc, il faut mettre des combinaisons, vous jetez, vous lavez bien les mains, etc. Si vous en visitez plusieurs de suite. Mais voilà, quoi. Donc, soit on demande l'autorisation, soit on ne la demande pas. Bon, bref, vous allez, puis vous dites que vous êtes étudiant en agriculture ou vous inventez n'importe quelle histoire. Hein. Vous êtes intéressé. Ça peut être, on peut essayer à dire que vous n'êtes pas d'accord et que vous aimeriez bien que l'éleveur vous convainque du contraire. Ce qui arrive souvent aussi, si vous tenez des stands, ça vous est peut-être déjà arrivé, c'est que des éleveurs vous disent « Moi, mes animaux sont bien traités, si vous voulez, vous pouvez venir chez moi, vous verrez. » Bon, ça peut arriver.
Il y a une petite question sur l'abattage. C'est pas beaucoup d'abattoir.
Non, on n'est pas trop calé sur l'abattoir, sur l'abattage. Là aussi, c'est parce qu'il y a l'OABA qui s'occupe beaucoup des problèmes d'abattage. Donc, nous, quand on a créé la PMF, on s'est dit on ne va pas faire la même chose que l'OABA. Au pire, on ne peut pas tout faire. Donc, on s'est surtout concentré sur le transport des animaux qui était un domaine négligé par manque de moyens, sans doute, par l'OABA. J'aimerais bien qu'on commence à s'y intéresser, parce que, au moins sur le plan scientifique, parce que un des problèmes qu'il y a, par exemple, au niveau de l'abattage en France, c'est l'ampérage qui est utilisé. Ce qui est con à la PMF, c'est qu'on n'est pas assez nombreux, enfin, au niveau du siège, pour faire ce travail de recherche qui prend énormément de temps. Et en l'occurrence, au niveau de l'abattage des volailles, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, à l'heure actuelle, la réglementation exige que l'ampérage pour abattre les volailles soit au maximum de 40 milliampères. Et ça, c'est je crois que c'est une question de protection des salariés, parce que si l'électricité est trop forte, les salariés peuvent avoir des décharges. Le problème qu'il y a, c'est que pour qu'une volaille soit étourdi et complètement insensibilisé, il faudrait que l'ampérage soit d'au moins 120 milliampères. Donc ça veut dire que les 800, enfin on va dire 900 millions de volailles, presque un milliard de volailles qui sont abattues en France tous les ans, sans doute elles sont égorgées sans être vraiment insensibilisées, donc elles sont immobilisées, mais à mon avis elles ne font pas du tout, elles ressentent la souffrance, quoi. Enfin, elles se vident de leur sang et elles ne sont pas du tout insensibilisées. C'est pour ça quand les poulets labels, là, c'est pareil, ils sont abattus avec 40 milliampères. Bon, c'est pour ça que quand je dis, moi, les poulets labels, c'est beaucoup mieux que l'élevage intensif, mais enfin, c'est pas non plus l'idéal. C'est pour ça que le végétarisme, de mon point de vue, bon, entre vous et moi, ça reste la meilleure solution si on veut vraiment aider les animaux, quoi. C'est pour ça.
Je me souviens plus.
Je redemanderai après. Oui, moi c'était par rapport à une question qu'avait posée Nadiège, en fait, sur la campagne de KFC, où il y a toute une série dans les tracts, enfin la campagne de PETA contre KFC, il y a toute une série d'affirmations sur les tracts de PETA à propos de KFC sur les conditions d'élevage et d'abattage des poulets. Alors bon, je sais pas où KFC en France se procure ses poulets, enfin les poulets qui sont vendus dans les restaurants KFC en France, s'ils viennent de sources internationales ou s'ils viennent nécessairement de la France, en majorité de la France, et que c'est pas clair si ce qui est affirmé dans les tracts soit systématiquement point par point
exact
d'une part et démontrable d'autre part. Tu as parlé déjà de la question de l'étourdissement. Là-dedans, ça parle aussi du fait d'être jeté dans l'eau bouillante, souvent encore conscient.
Ça arrive même quand... ça arrive.
Oui, parce qu'un certain nombre rate simplement,
lève
la tête quand il passe dans le bac.
Voilà, ça arrive que le couteau qui tourne les loupes, donc qui passe à l'étape suivante et qui se réveille, et là, ils sont plongés dans le bac d'eau bouillante, donc où ça arrive.
Oui, je ne sais pas, je vais peut-être pas t'énumérer tous les points qu'il y a dessus, mais ce serait intéressant peut-être d'avoir ta confirmation sur...
Ah oui, je pourrais jeter un coup d'œil, ouais. Bah, pour votre information, on ne l'a pas ébruité, parce que bon, c'est un peu particulier. Mais moi, j'ai eu un rendez-vous avec McDonald's France, en France, il y a quelques semaines. Et parce que McDonald's dit maintenant dans ses dépliants, vous l'avez peut-être vu, on se préoccupe du bien-être animal. Bon. Donc nous, on leur a écrit, encore une fois, très poliment et gentiment, en leur disant, écoutez, on est très heureux que vous préoccupez de bien-être animal, mais qu'est-ce que vous entendez parler? Est-ce qu'on pourrait vous rencontrer pour savoir qu'est-ce que vous faites pour le bien-être animal? Alors, en fait, visiblement, McDonald's a vraiment la volonté depuis quelques années, je pense que c'est depuis le procès, comment il s'appelait, McLibel.
Il y a eu une campagne PETA justement contre McDonald's qui exigeait un certain nombre de mesures, en particulier pour les poulets, d'amélioration dans le bien-être. Apparemment, PETA.
Je dois dire que j'ai pas trop compris la démarche de PETA, parce que, mais c'est peut-être PETA, c'est peut-être aux États-Unis, parce qu'en fait, Ce que les gens que j'ai rencontrés, c'était une politique au niveau européen, McDonald's Europe. Parce que c'est pareil aux États-Unis. Aux États-Unis, McDonald's a pris un certain nombre de mesures pour le bien-être des animaux. Par contre, au Canada, ils n'ont pas du tout les mêmes mesures. Parce que c'est peut-être des franchisés. Enfin bon. Donc apparemment, ça varie d'un pays à l'autre, en tout cas d'un continent à l'autre, visiblement. Je ne suis pas trop posé sur la question. Toujours est-il que ce que je peux dire à McDonald's France. Ils m'ont dit qu'au niveau européen, ce qu'ils m'ont présenté par rapport à leur politique sur les poulets de chair, c'était pas le poulet fermier qui va en plein air, mais il y avait quand même une nette amélioration. Par exemple, ils sélectionnent une souche de poulet qui est abattue à 52 jours au lieu de 40. Alors pour vous, ça signifiera peut-être rien, mais pour le poulet, c'est important, parce que ça veut dire qu'il laisse plus autant au poulet de grossir. Donc le cœur, par exemple, se développe à un rythme plus naturel, etc. Et on évite ces problèmes de crise cardiaque... qu'on a pu voir, enfin, etc. Donc ils m'ont présenté pas mal de mesures pour le bien-être des poulets qui allaient dans le bon sens. Ça va pas assez loin, hein, on est bien d'accord. Mais je trouve que McDonald's, c'est une bonne chose, ils font des efforts qui vont dans la bonne direction. Donc nous, on leur a envoyé une liste de mesures qu'on souhaiterait les voir prendre. Par exemple, je dis un truc comme ça qui vient à l'idée, je leur ai dit, il serait bien que les poulets aient des ballots de paille. C'est comme ça, les poulets, ils peuvent se percher, ils peuvent picorer, et puis il faudrait leur donner des brocolis, enfin des brocolis, ça peut faire sourire, mais des brocolis ou des choux-fleurs, etc. Parce qu'ils peuvent. Parce que ce qu'il faut, c'est que les poulets, ils marchent. Parce que le problème, c'est qu'ils marchent pas beaucoup, parce qu'ils sont trop lourds, et puis parce qu'ils sont trop serrés. Et parce qu'ils marchent pas, ils sont toute la journée sur la litière moite et humide, donc ils attrapent des brûlures aux jarrets qui deviennent des sources d'infection de la viande, etc. Ils attrapent des brûlures aux pattes, ils attrapent des problèmes osseux parce qu'ils ne marchent pas assez, etc. Donc il faut absolument faire marcher les poulets. Et quand on leur met un ballot de paille, ben, ils peuvent se percher, ça enrichit l'environnement. Quand on leur donne du chou-fleur, etc., bon, ben, ils se baladent un peu pour les picorer, etc. Donc ça, ce genre de trucs qui paraissent anodins, ben, ça change la vie d'un poulet. Parce qu'il faut aussi se mettre à la place du poulet quelque part. Parce que si vous étiez entre une pièce où il n'y a rien et puis une pièce où il y a un ballot de paille, une chaise, une télé, enfin j'en sais rien, vous préférez l'autre. Vous savez, ça peut. Bon, auprès du grand public, mais on ne peut pas trop communiquer là-dessus parce que ça paraît un peu comme anodin, mais c'est important pour le poulet. Donc on leur a fait quelques recommandations. Bon, ils nous ont dit qu'ils verraient, qu'ils en tiendraient compte. On reviendra dans quelques années. Enfin, dans quelques mois, on verra. Qu'ils vont faire. Moi, je leur ai demandé aussi que, comme au Royaume-Uni, qu'ils arrêtent de vendre des œufs de poulet élevés en batterie. Ils m'ont dit qu'à l'heure actuelle, à McDonald's France, toutes les sauces qu'ils donnent sont faites qu'à partir de deux de poules élevées en libre parcours. Grande surprise, donc une bonne chose. Je ne sais pas si c'est vrai, mais bon, s'ils me l'ont dit, a priori, je pense que c'est vrai. Et ils m'ont dit qu'ils n'ont pas encore eu le temps de travailler sur les poules pondeuses, parce qu'ils taillent espèce par espèce. Et que quand ils en arriveront à travailler sur les poules pondeuses, ils envisageront sérieusement le fait d'imposer à leurs producteurs de n'utiliser que des œufs de poules élevés en plein air ou en libre parcours. C'est le cas au Royaume-Uni. Donc, il faut voir. Donc, n'hésitez pas à me demander à McDonald's ce qu'il fait pour le bien-être animal.
Des végétariens.
Ouais. Ouais, ouais, il faut... Ils m'ont demandé si j'allais à McDonald's. Bon, je leur ai dit... Ça m'arrive pour prendre le petit déjeuner, hein, mais je vous avouerai que j'ai posé leur parler du menu végétarien, je me dis une chose après l'autre. Cela dit, j'ai vu les affichettes, là, ils font des croque-monsieur, voilà, des trucs sans viande apparemment.
Coca végétarien.
Ah bon, non, parce que je me suis dit pas que maintenant ils mettent de la viande dans le coca, encore ça éliminé, merde, là, c'est bien.
Claire, t'as retrouvé Noël?
Non, mais c'est en privé, je te demande quelque chose.
Mais pour en revenir au point de la BD Voltaire, je pense qu'il pourrait avoir son intérêt dans les transports, parce que manifestement, ce que les gendarmes appliquent, c'est la procédure de l'amende forfaitaire minorée. 90 euros, là, c'est bien une contravention de quatrième classe, hein.
Oui, absolument.
C'est 750 euros maximum. Ce qui veut dire que s'il n'appliquait pas cette procédure à mon forfaitaire minimum, on se retrouverait soit devant une audience au tribunal de police, soit par voie d'ordonnance pénale, à une condamnation bien supérieure, je pense. Alors, qui pourrait permettre d'éviter cette procédure de la montre prédominante et qui est très facile pour les gendarmes, ils ont juste à remplir le petit, ce qu'on a parfois sur le pare-brise des véhicules, là, vous savez,
c'est pas.
S'ils sont obligés de prendre la plainte, là, ils vont faire la procédure complète et ils vont transmettre contre le tribunal. Et là, ils vont
faire
une vraie peine d'amende.
D'accord. Et ça m'intéresserait, si vous pouvez nous faire une petite note. Ça, parce que vous avez le temps, hein,
avec tout ça, vous à la main. Mais, ouais, parce que ça, oui, ça, je savais pas. Je me posais la question, justement. D'accord.
Oui, parce qu'évidemment,
on va tout faire pour qu'ils aient le maximum d'amende, quoi. Parce que 80 euros, c'est plus économique de ne pas abreuver les animaux que de prendre le risque d'avoir une hypothétique amende de 80 euros.
Bon, après, on n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'audience, hein, enfin, c'est comme vous voulez. Après, il est possible de demander des dommages intérêts, mais au moins, ça éviterait la main de forfaitaire minimum.
Donc ça pourrait aller jusqu'à 750 euros.
Je ne pense pas que cette amende soit prononcée, mais les magistrats sont suffisamment sensibles, comme tout le monde, d'ailleurs, je pense, au problème pour prononcer des amendes supérieures. Plus les frais de procédure, et puis les soucis, puis l'avocat.
Il n'y a pas de mobilisation du véhicule.
Je ne sais pas si c'est prévu.
Parce que ça va être... Si.
Ben, quand le camion italien, enfin on a contrôlé un camion italien et il devait payer 80 euros et on a demandé aux gendarmes qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que vous faites s'il n'a pas les 80 euros. Et il m'a dit on immobilise le véhicule parce que c'est un véhicule étranger. Non, absolument. C'est pour ça qu'il faut évaluer toujours au cas par cas. C'est ça, il ne faut pas être figé sur la sanction, parce que bon...
Tout à fait. Mais là, bon, c'est plus
gros. Ben, on ne demanderait pas mieux, oui. Ça peut être une nouvelle source de financement. Ça vaut peut-être le coup, moi j'avais rencontré. Ouais, bah oui, peut-être que ça pourrait être intéressant. En plus, je vais vous dire, alors là, c'est comme les. C'est comme quand on se met sur l'autoroute, les gendarmes ils se mettent sur l'autoroute pour donner des amendes, c'est sûr qu'ils en auront quelques-unes. Hein. Nous, quand on se met sur l'autoroute pour voir les camions qui sont en infraction, c'est sûr qu'on en aura quelques-uns. Alors, au moins, ça vaudra le coup, c'est que ça peut être un bon moyen pour récupérer des sous. Malheureusement, ils ne respectent pas la législation dans bien des cas.
Voilà, il n'y a plus de tour de parole, 8h, tu vas rentrer
aussi
ce soir.
Ouais, moi je repars à Lyon. À Lyon, je m'arrête à Lyon. Ouais.
Je
ne
sais pas s'il y a des cuisines à laquelle tu es en charge. Ok, tu peux manger là, normalement, à 8h, c'est la cellule. Normalement, on se met les lits sur la table.